et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi sur le circuit de Yas Marina. Ils étaient quatre à en rêver vendredi, mais vous le savez, la F1, c'est comme Highlander, il ne peut en rester qu'un. Et dimanche, au bout du destin, au bout de la stratégie, c'est Vettel qui est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire, hein, si vous n'étiez pas au courant, puisque tous les médias en ont parlé. Pour ce grand événement, quoi de mieux qu'inviter nos auditeurs à la fête ? Mais attention, car il faudra batailler, il va falloir croiser le fer, car un seul finira l'émission avec nous. Alors, qui sera le Christophe Lambert du SAV ? Bonjour Bouchard, bonjour Vilo, bonjour Sato Kamikaze, et bien sûr, bonjour Dino.
Bonsoir.
Bonjour.
Non, je dirais pas bonjour, j'ai pas envie.
Oui, il est en mode grognon, oui. Disons-le. Comme d'habitude, on commence un peu l'émission sur un peu l'impression générale hein, sur le Grand Prix.
Mais tu te fous de la gueule, l'impression générale sur ce Grand Prix.
Bon, outre le résultat d'un pilote en particulier...
J'ai beaucoup aimé la course de Bruno Senna.
Sérieusement, le Grand Prix a été plutôt intéressant avec des stratégies différentes. C'était un beau Grand Prix d'Abu Dhabi.
Ouais. C'est ça, c'est un beau Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est bien précisé.
Ouais, Abu Dhabi.
La seule chose qui m'a intéressé, c'est quand Kobayashi a essayé de double Barrichello. C'est tout.
Comme par hasard.
Comme par hasard.
C'est tout. Non, dis non, on te demande pas.
Il y a eu, moi, c'est vrai que, comme le dit Bilo, ce qui m'a plu, c'est qu'il y a eu un peu de stratégie, donc ça a été intéressant. Mais, je pense que tout l'effet dramatique a été rajouté par la course au titre. En dehors de ça, Abu Dhabi.
Oui. Oui.
Alors Dino, j'ai une question à te poser. Étant donné que t'étais à la fois pour Vettel, fan de Vettel, et à la fois pour Ferrari et Alonso, est-ce que tu t'es dit comme Weber depuis le début du Grand Prix, il aurait eu quasiment aucune chance d'être titré, est-ce que ça t'a pas enlevé du stress étant donné que ce serait soit Vettel soit Alonso?
C'est vrai que je suis fan de Ferrari, donc forcément des pilotes Ferrari, et fan de Vettel parce que c'est vraiment un pilote que j'adore et je suis très content pour lui. Mais il a quand même fallu attendre que dans ma tête, je me dis, voilà, c'est mort, c'est foutu. Hein, pour tout vous dire, j'étais au SMS avec Enzo, et donc je me suis dit, voilà, c'est foutu, c'est mort. Et j'ai commencé peu à peu à rentrer dans le processus de me dire, chouette, Vettel va être champion. Et ça, c'était à 10 tours de la fin seulement. C'était un peu long.
Oui, j'imagine.
On va peut-être expliquer comment va se passer la compétition.
Ce qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'il y en a un qui restera pendant l'émission, et les deux autres devront se faire harakiri pendant l'émission.
Hein?
Oui, t'étais pas au courant, ça te gagne gaz. Désolé,
t'étais pas au courant.
Oh, j'ai pas au courant.
Bon, c'est pas grave, on va espérer que tu gagnes.
En fait, plus simplement, bah, on va vous poser des questions qui vont rapporter des points. Et puis, bah, fort logiquement, c'est celui qui aura le plus de points qui va gagner.
Oui.
C'est assez simple. Tout le monde a bien compris.
Oui. Bon, jusque là, ça va, j'arrive à suivre.
Ça va?
Ouais.
Alors, vous dites, est-ce qu'ils ont fait des rubriques spéciales, des jeux particuliers, des trucs un peu fous? Est-ce qu'ils ont passé des heures? Eh bien non.
Des gros vendeurs.
C'est normal.
Et c'est là que vous devez commencer à pleurer. Parce que si on n'a rien préparé, vous savez par quoi commencer l'émission?
Oh non.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait méride. c'est pas drôle en fait.
Donc les événements du 14 novembre, on va remonter au 14 novembre 1851, l'apparition d'un livre, l'apparition de Moby Dick, qui je le rappelle n'est pas un livre porno sur un chanteur d'électro new-yorkais, mais bien un chef-d'œuvre de la littérature. Oui, il faut comprendre un peu l'anglais pour comprendre la blague.
Mais j'ai bien compris ta blague.
Le 14 novembre 1888, c'était l'inauguration de l'Institut Pasteur, qui existe encore aujourd'hui et qui fait de la recherche hein, pour tout ce qui est vaccins, santé. En 1907, c'est un peu la fête des louveteaux. C'est la naissance du mouvement scout. Plus proche de nous, en 1928...
Allez les gars, sortez vos opinels.
Ouais. C'était l'ouverture du stade de Roland-Garros pour la finale de Coupe Davis de l'époque.
Ça, c'est un chiffre intéressant.
Voilà, ça a été construit pour la finale de Coupe Davis, je crois, entre la France et les États-Unis, qu'on a dû remporter, parce que c'est la grande époque des mousquetaires, comme on dit.
Quelle précision.
Le 14 novembre 1940, un fait de guerre assez important, c'est les bombardiers allemands qui lancent une violente attaque contre la ville anglaise de Coventry. Donc la ville va être ravagée. Il faut savoir que ça va donner un terme, entre guillemets, parce qu'on va parler de coventrisation. Donc la coventrisation, c'est simple, hein, c'est en gros raser une ville à coups de bombe.
Voilà. Ferrari a été coventrisé ce week-end.
Ouais, on peut le dire. Le 14 novembre 1990, c'est la signature à Varsovie entre l'Allemagne et la Pologne d'un traité garantissant le respect de la frontière germano-polonaise. Ça paraît anodin. Non, mais le problème, c'est qu'avec la réunification, une des grandes craintes, c'est que l'Allemagne commence à réclamer tous ses territoires, dont les territoires qui ont été cédés à la Pologne après-guerre. Donc c'est un traité important, entre guillemets, pour la paix en Europe, justement en aplanissant les relations entre les deux pays. En 1993, c'est le lancement du moteur de recherche Google. Par contre, je crois que eux, comme date d'anniversaire, ils prennent en compte la date du dépôt de Google.com, qui est pas exactement la même date. Le 14 novembre 1994, Casio présente le premier appareil photo numérique.
Wow.
Avec écran à cristaux liquides, qui montre l'image en temps réel et sauvegarde le cliché en mémoire. Ça paraît banal aujourd'hui, mais vous imaginez, en 94, ouais, on avait encore des pellicules. Les naissances du 14 novembre, il y a la naissance de Claude Monet, le peintre français. Il y a la naissance de Charles de Gaulle, le 14 novembre 1948. Ah non, oui, Charles de Gaulle.
Charles de Gaulle.
Ça fait De Gaulle en 48.
Non, oui. Mais il y a une coquille. C'est Charles de Gaulle.
Qui Charles de Gaulle?
C'est qui ça?
Bah, c'est le prince Charles. Mais oui. Les célébrations du jour, c'est la journée internationale des diabétiques. Ça tombe bien avec ces affaires de médicaments en ce moment.
Ils ont vraiment une journée nationale.
Internationale.
Internationale.
C'est pire. Eh
oui. Oui, en Colombie, c'est le jour de la femme colombienne. Et en Inde, c'est la fête des enfants.
C'est ça, c'est rigolo qu'en Colombie, il passe un jour de la femme, tu sais, du Boukistan. C'est la journée de la femme du Boukistan.
Ça s'appelle comme ça, le jour de la femme colombienne. Et puisqu'on est en Amérique du Sud, on va passer à ce qui s'est passé un 14 novembre en F1. Alors je dis Amérique du Sud parce qu'on va aller au Chili. Puisque le 14 novembre, c'est la naissance d'un pilote qui n'a pas fait une grande carrière en F1, qui a même pas du tout fait une grande carrière en F1. Et là, attention, parce que là, c'est une question qui compte. Et c'est une question qui compte 3 points. Le 14 novembre est né Eliseo Salazar, donc pilote chilien. Et la question est toute simple, c'est pour quel fait est connu Eliseo Salazar?
Je sais. C'est en fait l'année de domination des McLaren de Senna et Prost. Le Grand Prix d'Italie avait vu la victoire de Ferrari pour la seule fois de la saison. Parce que Eliseo Salazar, en se faisant prendre un tour par Nelson Piquet, l'a gêné et donc il s'est fait percuter par Piquet. Et Piquet en est venu aux mains pour le boxer après leur accrochage.
Alors, exactement, c'était en Allemagne 82.
Ah, dommage.
Mais pour tout le reste, il a raison.
Oui, mais c'est faux quand même, il a pas trouvé le bon Grand Prix.
Non, mais je me suis trompé, pardon. Oui,
le fait marquant, c'est qu'il s'est pris un pain par Nelson Piquet.
Mais il a dit Italie, alors que c'est Allemagne.
Mais on s'en fout que c'est en Italie, c'était une chicane.
Non, il s'est trompé, il avait tout bon, mais ça peut pas passer.
Sato,
aide-moi.
Pourquoi je te donne? De toute façon, moi j'ai rien à gagner.
Alors, vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube, elle est très facilement trouvable. Ça dure quoi? Une minute, hein, pas plus. Et en effet, donc t'avais Piquet qui devait être en tête de la course, qui double pauvre Salazar, qui est sur une voiture très moyenne. Et là, en effet, il se percute. Alors, ce qui est drôle, c'est que le choc est pas forcément très impressionnant, mais il se percute quand même. Là, c'est drôle parce que sur la vidéo, on voit Salazar, bon ben, il sort, puis bon, c'est un peu comme on voit souvent, hein, quand un pilote sort, bon, voilà, il s'apprête à repartir au paddock. Et là, il y a Piquet qui sort. Dire.
Le mec s'assoit dans sa voiture, tu sais, il a le petit panier pique-nique, la petite nappe en jacquard, en disant, tu sais, voilà. Je m'habitais à m'arrêter sur le bas-côté, autant que je pique-nique. Hein.
Et là, il y a Piquet qui sort, et lui, par contre, il est pas content. Et en effet, il y a eu cette... Ah ouais, il se met en mode Jeff Gordon, pour ceux qui ont vu la NASCAR il y a 2 semaines. Moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que... Parce que quand Piquet met la baigne, hein, Salazar il a encore son casque.
Ah mais je l'ai vu cette vidéo.
Mais oui, il a dû avoir mal Piquet.
Dans F1 la une, je crois que c'était en 2008, ils avaient montré les faits historiques dans des Grands Prix d'Allemagne et il y avait cette vidéo notamment.
Donc c'est vrai que c'est rare de voir des pilotes s'énerver encore plus en F1.
Oh non, c'est pas rare, ça arrive de temps en temps, hein, tu sais.
Oui,
On a eu un exemple dimanche.
Non, mais les gars, arrêtez là.
Non, non. Attends. toi.
C'est du harcèlement ou quoi, là?
Putain, on a dit qu'il n'y a pas
de tout. Le méchant espagnol.
J'ai le souvenir aussi, mais alors je ne sais plus du tout quelle course c'était, d'un Schumacher extrêmement énervé.
Pas 98.
Qui, mais alors,
oui, oui, qui, je crois que c'est, oui, il va, je crois que c'était Coulthard ou un truc comme ça. Là, dans le paddock, on voit remonter le paddock, pouf,
c'est en Belgique, je crois.
Mais lui, je crois que,
je sais.
Ouais. Bon, il y a aussi le fameux épisode Schumacher Senna.
Il y a pas aussi une engueulade entre Irvine et Schumacher et Senna?
Et après, il a, Irvine a porté, enfin, il a voulu porter plainte et tout, bon.
Voilà. Oh là là. Alors, sinon, par rapport au, à la F1 un 14 novembre, faut savoir que, au niveau des grands prix, souvent, il y a 3-4 grands prix qui ont eu lieu le même jour, hein, parce qu'on en est à 800 et quelques. Eh bien, faut savoir que le 14 novembre, ce week-end, c'était la première fois qu'il y avait un grand prix le 14 novembre.
Oh.
En gros, si tu regardes un peu les dates et les grands prix, c'est vrai que passé le 7 novembre, entre le 7 novembre et la fin de l'année, tu dois compter 10 grands prix sur 860.
Bah,
l'an prochain, oui, il y en aura sans doute un. Dans la dizaine, en effet, on trouve surtout Afrique du Sud, Australie aussi, bien évidemment, puis aussi un peu États-Unis, je crois. Pour,
oui, tout ce qui
voilà.
Hémisphère sud, oui, forcément.
Voilà, forcément, oui. Et donc, je l'ai dit, Vettel, c'est peut-être le plus grand fait marquant un 14 novembre pour l'instant. C'est que Vettel est le plus jeune champion du monde de l'histoire.
Ouais, mais pas beaucoup, je crois, de quelques mois.
Eh bien, justement,
oh,
la question qui va coûter un point.
Oh,
et là, c'est une question à la chidi, c'est une question d'enculé.
Un point, c'est vache, attends.
Bon, on va en mettre deux.
Allez.
Tout simplement, c'est de combien Vettel a battu ce record.
Oh,
et quand même, pour indice, je vous indique que l'ancien record d'Hamilton, donc, en 2008, était de 23, donc il a été titré à 23 ans, 9 mois et 26 jours.
5 mois.
5 mois et 24 jours.
Non.
7 mois et quelques.
Attends, t'as dit combien, Lewis?
23 ans, 9 mois et 26 jours. 10. Et vous êtes pas très loin.
4 mois et 15 jours.
Un peu moins de
7
mois. 6 mois et 20 jours.
5 mois et 15 jours.
Bonne réponse.
Oh, bon.
Ouais,
il était déjà à 5 mois et 25 jours. Il était pas très loin.
Mais je savais que Vettel, c'était, 23 ans, 4 mois et 11 jours. Ça, je le savais.
Ouais, c'est ça. 23 ans, 4 mois et 11 jours pour Vettel.
Juste à faire...
Et c'était vraiment la dernière chance pour Vettel d'être le plus jeune.
Ouais. Ah bah oui.
Bon, est-ce que vraiment Hamilton, il en a quelque chose à faire d'être le plus jeune champion de l'histoire?
Ouais, ça, je crois qu'ils en ont rien à battre.
C'est surtout être champion.
Exactement, ouais.
Être le plus jeune à conduire une Formule 1, ça c'est la classe. Enfin, quoi que sur une ligne droite, là, le Malaisien qui a testé la Lotus.
Ouais. Et en course, ça reste
un
curseur.
Ça, c'est pas conduire une Formule 1.
Bah, en fait, sur ligne droite, ça sert un peu à rien. C'est comme conduire un dragster, mais
ouais.
Sur circuit, ça doit le faire quand même.
Mais là, Vettel, il a quasiment tous les records de précocité. Hein. Bon, pas celui d'entrée, puisque maintenant, c'est Alguersuari, mais les premiers points, la première victoire, la première pole. Et donc, j'ai une troisième question qui une conséquence, on va dire, de dimanche. T'as parlé pour rire de l'an prochain. Mais l'an prochain, on va avoir 5 champions du monde. Alors déjà, 4, un plateau avec 4, c'était pas mal. Un plateau avec 5, c'est assez exceptionnel.
C'est un beau plateau.
Et donc, la question, c'est un beau plateau de fromage. Et encore, Kimi n'est pas revenu.
Oh, Kimi, mais arrête avec ton Kimi.
C'est un V6.
Oh,
il est très bien, WRC.
Voilà. Il est très bien à exploser des bagnoles en WRC.
Voilà,
ma question qui est un peu historique, c'est de savoir quand la dernière fois on a eu un plateau avec 5 champions du monde, qu'il l'était au moment, bien évidemment, où je parle. Hein. Pas, bien évidemment, des pilotes qui s'avéraient 3-4 ans plus tard être champions du monde.
86.
Ah, bon, je vous préviens, pour cette question, les seules réponses auxquelles je répondrai, c'est si vous me dites un pilote, et je vous dirai si justement il fait partie des champions du monde de cette année-là.
Prost?
Non.
Lauda?
Non.
Senna?
Non.
En fait, je crois qu'on cherche trop tôt, ça se trouve, c'est dans les années...
Rosberg?
Non. T'as dit quoi, Bilo?
Surtis?
Oui, Surtis, oui.
65?
Non.
66?
65?
On va faire un an.
Allô?
Gigi?
J'ai dit que je répondais pas aux autres questions.
Ah, d'accord.
Même si on fait des propositions d'année, tu nous diras...
Si vous faites la bonne proposition d'année, je vous le dirai, oui, mais...
69?
Non, mais il faut dire des pilotes. Hein.
Ah.
Et comme je les connais
bien
pas...
Bienvenue dans le monde pourri des règles de Shinji.
Oh, c'est bon. Justement c'est pour éviter de donner toutes les dates.
Il y a Surtis, et on en a pas cité d'autres. Il y avait qui à son époque? Brabham.
Brabham, oui.
Il.
Oui, il.
J'en reviens pas, c'est moi qui donne des indices aux auditeurs sur l'histoire, là, et pas...
Je le répète, je suis nul à l'histoire de la F1.
J'étais ouais. pas né en 69, dans les années 60, j'étais pas né, c'est pas facile.
Brabham, il avait été titré en 66, et Hill en 68.
Alors, 1970.
C'est 1970.
Ouf. Et... Joué, donc ça fait combien de fois ça, j'ai dit? Ça fait combien de points?
Ça fait un.
Un point.
Hein?
Parce que je suis un enculé.
Je le confirme, mon Shinji.
Ah, mais oui, c'est clair.
J'aime bien comment
ouais,
il a voulu.
Ouais, ça va encore, hein. Les kilos, par contre.
À noter qu'il y avait aussi Dennis Hulme, qui avait été titré en 67, et Jackie Stewart, qu'on associe plus aux années 70, mais son premier titre, c'est en 69. Donc voilà, c'était tout pour mon éphéméride et ces questions d'enculé.
Ah, c'est ouf.
C'est bon. On a passé le chiant. Oui.
Et donc, celui qui dégage,
non,
j'ai...
Non.
Et moi.
Non, 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 il y a une deuxième manche, les mecs.
Bah oui.
Et moi, je suis généreux en points. Pour le moment, on a Bilo avec 4 points. On a Bûcheur avec 2 points.
Et Sato 0.
On a Sato qui a l'équivalent de... Bah, il a, non, mais il a autant de points que Shandok, par exemple, ou Yamamoto.
C'est vrai.
Autant de points que Nakajima l'an dernier.
Ouais. Sans faire de course, ben quoi. Alors. C'est bien.
On remarquerait que je fais quand même mieux qu'au mois d'août, quand même.
Ah, ça c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Oui, j'imagine.
Moi aussi.
J'imagine Bilo qui s'est entraîné, tu sais, en portant des livres et tout. En courant comme rookie, en montant des marches et en disant des années de titres. Voilà.
Mais je pense que ce qui m'aide, en fait, c'est que c'est des questions sur la vraie F1. Parce que vos questions sur le SAV, là.
Ah oui, c'est vrai que t'avais vu que le début, toi.
Ne remue pas le couteau,
non. Oui, c'est vrai.
Oui, j'ai mal.
D'ailleurs, je crois, Shinji, que tu as oublié une question.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié cette question.
Ah, ça vaut 3 points, là, Shinji.
Ah ouais, oui, là. Parce que faut trouver, ça va être... Oh. Donc, revenons maintenant sur, quand même, on peut dire, c'est le grand surnom de Vettel. Moi, personnellement, ça m'énerve, on l'appelle tout le temps Baby Shumi. Hein. Faut dire que Vettel et Shumi partagent beaucoup de points communs, ce qui avait été soulevé par notre cher ami Enzo. Voilà.
Ah, je l'ai lu l'article.
Hein.
J'ai lu l'article.
Souvenez-vous, quand Vettel avait gagné pour sa première fois, il avait fait le parallèle. Un parallèle qui s'avère extrêmement juste. Il rappelle que Schumacher avait commencé en 91 chez Jordan pour faire une course, puis avait fait 6 courses chez Benetton. En 2007, Vettel avait fait une course chez BMW, puis 8 courses pour Toro Rosso. L'année suivante, en 92, première victoire de Schumacher sous la pluie à Mont Aspa. En 2008, première saison complète aussi, première victoire de Vettel sous la pluie à Monza.
Pas des circuits de merde.
En plus, 93... Deuxième victoire de Schumacher à Estoril. Deuxième victoire de Vettel en Chine, en 2009. Quatrième année, 94, premier titre pour Schumacher. Quatrième année, 2010. Et Enzo, à l'époque, disait, Sébastien Vettel attendra-t-il jusque-là? Finalement, il n'avait pas eu tort, puisqu'en 2010, Vettel est champion du monde. Ils ont tous les deux été champions du monde pour leur quatrième année. Mais en cette année, ils avaient aussi un autre point commun. Lequel est-ce?
Tellement.
Outre le fait qu'ils étaient allemands. C'était un peu trop facile quand même.
C'est pour combien de points, Shinji?
Ils sont battus
points.
Contre deux membres d'une équipe.
Non, c'est pas aussi... Faut aller chercher loin,
non,
ça.
Dis, oui, juste, oui bah, non, Shinji, les aide pas.
Ils se sont battus.
Les deux ont gagné le titre lors de la dernière course.
Oui, mais ça, c'est un point de commun qu'ils ont avec beaucoup d'autres pilotes.
Oui, avec beaucoup d'autres pilotes, oui.
Ah, ils ont abandonné... merde, ils ont abandonné combien de fois? Enfin, ils ont abandonné le même nombre de fois.
Non, globalement, on peut dire que c'est pas sur les résultats.
C'est sur c'était le chouchou de l'équipe, enfin, entre guillemets. Oh,
Vettel était pas tant que ça, hein.
Ouais, Vettel c'est pas tant que ça, mais bon.
J'aime bien le discours. Oh, Vettel était pas tant que ça, le chouchou.
Pas tant que ça.
Non, tu m'excuseras la différence qu'il y avait entre Schumacher et Barrichello, champion du monde, et Vettel et Weber.
C'était pas Barrichello à l'époque, 94.
Ah, 94,
oui.
Non.
Oui.
C'était sur Benetton, c'était Herbert. Enfin,
Herbert,
non.
Herbert peut-être, ouais. Oui. Mais c'est pas ça.
C'est quoi alors?
Bah, cherche.
Ah, je sais.
Ouais. Cherche.
Je sais. Enfin,
genre, bah, on va vous donner la réponse.
Chose, ouais. Leur équipe, à la base, c'est pas un constructeur. C'est.
Alors, c'est vrai, mais c'est pas ça. Comme quoi, oh. C'est dingue, on en trouve plein des points communs.
C'est un autre point commun, c'est.
Ils ont tous les deux gagné avec un moteur Renault.
Non, 94, c'était pas Ford pour Benetton.
Ouais, 94, c'est Ford.
Ouais.
Ils se sont tous les deux battus contre un Anglais, entre autres.
Oh, mais il y en a plein des gars qui se sont battus contre des Anglais en F1.
Ah, mais en fait, tu veux dire que c'est un point commun qu'ils partagent que tous les deux?
Pas que tous les deux, mais
pas que tous les deux, mais...
C'est un nouveau clin d'œil du destin, quoi.
Ah, voilà. Ils ont mené le championnat après la dernière course.
Non.
Non,
c'est vrai.
T'as pas lu le SAV, toi? Il y a quoi? Il y a une demi-heure.
Ah oui, c'est vrai. Il y avait pas Schumacher à la liste.
Ça tient plus de l'anecdote, hein. C'est un point commun qu'ils ont eu pendant toute l'année.
Pourquoi Schumacher aussi a donné un nom de fille à sa voiture?
Non.
C'est là où c'est ça.
Je sais rien, moi. Qu'est-ce que
c'est un rapport avec la voiture. Et c'est tout le long de l'année.
Ah, la voiture était bleue et verte.
T'as vu beaucoup de verre, toi, sur la Red Bull, cette année?
Parce que justement, il boit du Red Bull et donc il boit du verre.
Bleu et jaune. Enfin, la voiture, elle est, c'est les mêmes couleurs.
Non, mais Benetton, de toute façon, ils avaient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, alors.
Oui, ça c'est un rapport avec un sponsor?
Non, mais vous vous approchez quand même.
Ça pourrait être un parfum.
Ah, tu peux me refaire, là, s'il te plaît.
C'est un énorme indice que vous avez donné là.
Je viens de comprendre.
Mais j'ai compris direct.
En même temps, c'est un indice pourri.
Regarde, comme Shinji, dis-nous, il nous mène en bateau depuis tout à l'heure, ouais. Espoir.
Mais généralement, c'est ce qu'on fait quand on est deux, mais c'est, on le fait l'un à l'autre, là, on a l'occasion d'être complices et d'en prendre trois au piège.
Voilà. Ah, je sais, elles étaient pas conformes toutes les deux, elles avaient un doute, la Benetton, on pensait qu'elle était pas conforme.
Oui, mais la moitié des voitures championnes du monde, non.
C'est pas ouais. Oh. La Benetton, c'est pas quelque chose de technique.
Oh. Pensez à mon indice, ça aurait pu être un sponsor, un parfum. Un parfum à l'odeur de coco.
Moi, j'en dirais que ça sort.
Je savais pas que tu connaissais ce parfum.
Ah, bah, quand même. Qu'est-ce qui coûte?
Je suis même pas sûr que ça existe, pas grave.
Je sais pas, la déco du casque.
Non, c'est vraiment sur la voiture.
Mais en même temps, on peut dire que c'est quelque chose qui leur est rattaché. C'est-à-dire que c'est quelque chose, leurs coéquipiers ne l'ont pas.
Un sponsor spécial, quoi.
Ouais, enfin, c'est pas vraiment un sponsor. Il a utilisé le terme de sponsor, mais dans son indice, mais c'est pas un sponsor. Mais
c'est un genre de petit message, quoi.
Je crois même qu'ils partagent le même point commun avec le mec qui est passé avant Patrick McGowan.
Ça rien, on va leur
moi, je connais la réponse, donc oui, c'est pour ça que je me marre.
Et là, on est en train de roncher, là, mais c'est pas...
Quand ils vont savoir la réponse...
Oh, je sais. Ils avaient le même numéro.
Aha.
Ils avaient le numéro.
Le numéro 5.
Oh, bravo.
Mais j'avais Chanel depuis tout à l'heure, mais je voyais pas à quoi ça correspondait.
Vous comprenez maintenant les blagues de Dino.
Ah, d'accord. Et... Oh, je marque un point.
Oui.
Alors, on l'a plus qu'à quel point? À celui qui a parlé du numéro ou celui qui a dit le bon numéro?
On va voter à main levée.
Je suis sûr que Bûcheur y a levé la main.
Ah oui, moi.
Donc moi je vais les départager si vous voulez.
Allez, on donne 2 points. Enfin, je sais pas, c'était 3 points.
C'était 3.
On donne 2 points à toi, Lucas, et 1 à Bûcheur.
Ouais, ça me paraît juste.
Ça me paraît juste. Ça me paraît.
Oh, putain, mais le truc tout con.
Non, je vais le truc tout con.
Ah merde.
Voilà, c'est sur leur voiture, leur
petit. Je savais pas pourquoi Shinji il était mort de rire là.
Mais oui.
Allez, on peut me mettre senior et on va mettre un autre point en jeu. Si vous êtes capable de dire qui a été le dernier champion du monde avec le numéro 5.
Vettel.
Non.
Avant
Vettel.
Oh, bravo, Bûcheur.
Alonso, et tu te souviens en quelle année? Bon, c'est pas compliqué, il y en a que deux.
Bah, je dirais, 2004.
Bah non.
Je sais jamais qu'il a été champion du monde.
Ah, Schumacher. 2004.
Depuis 2000, quoi.
C'était en 2005, hein, puisqu'en 2006, il a gagné avec le numéro 1. Forcément.
J'ai un demi-point.
Non.
Oh, non.
C'est pas juste.
Allez, on va passer à ta rubrique, Dino.
Et au classement, ça nous fait donc 4 points pour Bûcheur, 4 pour Bilo, et 2 pour Sato Kamikaze.
Oh, vous voyez? Ouais.
Et puisqu'on est dans les chiffres, moi je propose c'est qu'on continue dans les chiffres.
Ouais.
Et que comme Shinji, sa partie c'est plutôt l'historique, on va plutôt s'intéresser à cette saison 2010, qui est une saison désormais historique.
Ouais.
Et donc je vais vous donner des petits chiffres, comme faisait à l'époque Shinji dans le chiffre inutile, je vous donne des petits chiffres et essayez de deviner ce que c'est.
153!
Non.
Non.
Non, là ça serait donner trop de points à Bûcheur.
Non, d'ailleurs il y a Fab qui est connecté.
Ah.
Fab qu'on salue parce que il devait venir et puis malheureusement sa connexion a été plus forte.
Bah, c'est ce qu'il m'a dit, j'ai la connexion qui est pas stable du tout, donc je vais éviter d'apporter mes problèmes techniques. Mais c'est mon 153.
Tous les points qu'il gagne, il est de la plus fort.
Voilà.
Il y a 153. Bon, apparemment, on n'arrivera pas à joindre.
Bah, la connexion pas stable.
Non, il va passer à la tentation. Il refuse de répondre.
Alors, mon premier chiffre, messieurs, ça serait le chiffre 2.
Ah, c'est le deuxième pilote allemand à avoir remporté un titre.
Tu crois vraiment que je vais donner 3 points aussi facilement? C'est des chiffres un peu bilan.
C'est le nombre de points qui sépare Vettel Alonso.
Non, c'est 4.
Ah, c'est 4.
2 victoires de Button.
Non. Ah oui, mais non. C'est pas ça.
Oui.
C'est le numéro de Massa chez Ferrari.
Non. Ah non, chez Ferrari, Alonso est numéro 1 et Massa est numéro 17.
Il est même derrière Jules Bianchi. T'as vu? J'ai bien dit ça.
2.
C'est le droit de me poser des questions auxquelles je répondrai par oui ou par non.
Ah oui, c'est vrai, toi t'es pas Shinji.
Ah voilà.
C'est
vrai.
J'ai répondu aux questions.
Est-ce que c'est un détail technique?
À part les questions pilote et année, je suis désolé.
Alors non, ça n'est pas un détail technique, Bucha.
Vettel est le deuxième, enfin je veux dire, il a été deuxième l'an dernier et premier cette année.
Effectivement, mais c'est pas ça.
Puisque c'est la question en rapport avec 2010.
Oui, c'est vrai.
On a quelqu'un qui vient d'outre-temps qui vient de se connecter.
Ah.
Bonsoir.
Ah, bonsoir. Bonsoir, 5-3.
Bravo Fab, tu as 3227 points.
Merci, merci, merci.
Ça va Fab?
Ça me touche. Bah ça va et vous?
Bah, bah écoute, là il y a Bouchard qui est en train de pleurer parce qu'il est un peu triste. Donc on s'est dit, on t'a vu, on s'est dit, allez, on va lui faire un petit...
Oh, c'est touchant. Ouais, je viens juste faire un petit coucou. Hein. Alors, je veux pas interférer.
Comment tu vas faire pour mettre ça dans l'émission, Dino?
Deux. Bon, on va se débrouiller.
Bah oui.
On mettra des sous-titres. Donc, tu nous quittes quand tu veux, Fab. Tu participes autant que tu veux et tu nous quittes quand tu veux.
Voilà.
Puisque je suis là, je vais rester un peu. Hein.
C'est là où
il fait chaud, il fait chaud chez vous, donc ouais. Moi je vais
rester. Prends une bière. Parce que là, ils sont sur une question où ils doivent répondre à qu'est-ce que c'est que le chiffre 2. Oui. Ils ont pas fini.
Très bien. Je vais écouter ça, quand même.
Donc,
est-ce que ça a un rapport avec une écurie en particulier?
Oui. Il se trouve que ça a un rapport avec une écurie en particulier.
Ça a un rapport avec un parfum?
Non, ça n'a pas de rapport avec un parfum.
Ça a un rapport avec
votre chienne.
Avec l'équipe de chienne.
Et Fab, y a du vin chez toi?
Fab, attache-moi la houle! Il habite dans le Groenland, Fab.
Fab, vire un tribord, vire un tribord!
C'est possible en plus que ce soit moi.
Attention à la vague, attention à la vague!
Non mais tant que ça, arrêtez, vous faites peur.
Ah ouais, sinon...
Ah oui, oui.
Ah là, ça va mieux, c'est bon.
Bon, très bien, je vais vous quitter, mais c'est comme ça.
Non!
Non!
Je vois pas, je vois pas.
C'est le problème.
Felson, il attend qu'on le supplie pour qu'il reste, tu vois.
Non mais toi, Sato, je sais que tu me supplieras jamais. Bon allez, bon je vous laisse les gars, bonne chance à tous.
Oui, merci.
Même
merci,
à Sato.
Ouais.
Et puis, bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée, ciao. Bonne soirée.
Ciao.
Ça fut bref, mais intense.
C'était Fab 007 ouais. En direct des studios du SAV. Non mais si ouais,
bon,
chiffre
2. Chiffre à la con, 2.
Ah, ça y est, c'est le nombre de minutes où Fab 007 vient de faire son apparition.
Bonne réponse.
C'était le numéro de sa voiture d'Hamilton, non?
Non. Je me rappelle, ça a rien avec les
ça pilotes. Ça va être le numéro qu'aura Weber l'an prochain.
On sait pas si Weber sera encore chez Red Bull l'année prochaine.
Bah, si, non.
Il a un contrat, mais il y a des rumeurs qu'il l'annonce chez Renault, non. Même oui. Chez Ferrari. En tout cas, c'est la grande interrogation. Ouais. Weber va-t-il rester? Alors qui sait qui va se passer? Il était déjà pas favori cette année, il va pas être favori l'année prochaine.
Rappelle, si Weber il se barre, Buemi passe chez Red Bull, et chez Toro Rosso c'est Jean-Éric Vergne. Normalement. Ouais. Ou Daniel Ricciardo.
Ça sera plutôt Ricciardo.
Mais c'est ouais. Vergne, le Ricciardo,
troisième pilote. Ricciardo, c'est le troisième pilote, mais il n'y a aucune loi qui dit que c'est le troisième pilote qui monte. Hein.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que...
Daniel Ricciardo, c'est le plus, entre guillemets, vieux, le plus expérimenté dans le Red Bull.
Ah, ça fait un bail qui essaie de le placer.
Ouais. Mais il y a Gare Ferry qui s'est amélioré.
Oui, j'ai d'ailleurs une statistique le concernant, je vous la dirai plus tard.
Oui. Si tu restes.
Oui.
Le mec qui met la pression.
Je viens la bourse à la fin. Tu restes.
Deux titres pour Red Bull.
Ah, c'est simple ça, Bilo, arrête. Oh. Je suis tordu quand même.
Ça dit que t'étais gentil. Alors.
Oui, je suis gentil. Ouais.
Gentil mais tordu.
Mais tordu, voilà. Allez chercher dans la saison de Red Bull, quel est le fait marquant de la saison de Red Bull.
Weber a été considéré comme un numéro 2. Il s'est plaint d'être numéro 2.
Oui, mais ça, enfin,
il a dit pas mal.
Ça résume un peu, enfin disons que ça a un rapport avec quelque chose, un fait marquant de la performance des Red Bull cette année.
Il y a que deux pole positions qui n'ont pas fait.
C'est un rapport non. Avec les qualifs.
Les premières lignes, le nombre de premières lignes.
Deux premières lignes.
Si. Ils n'ont pas fait que deux premières lignes.
Non, ils ont fait beaucoup plus.
Les deux qualifs où aucune des Red Bull n'a été en première ligne.
Non, c'est pas ça.
Deux, c'est pour signifier deux fois plus de pôles pour Vettel que pour Weber.
Pour vous aider, disons que Weber et Vettel sont les deux seuls à avoir réussi à faire quelque chose en qualif.
Battre le record de la piste.
Non.
C'est les deux seuls à être passés sous une barre, genre sous la barre des 1.40 ou un truc comme ça.
Bah à Monaco, tout le monde passe sous la barre des 1.40.
Non mais je veux dire sous... genre tu vois, il y avait par exemple une X et ensuite il y avait une... Ouais non, c'est tombé.
Oui, laisse tomber.
Est-ce que le 2 signifie que ce sont les deux seuls pilotes à avoir fait ce quelque chose?
Voilà, c'est les deux seuls pilotes à avoir fait ce quelque chose. Quelque chose d'ailleurs qui n'avait pas été fait l'année dernière.
Et j'ai pas la moindre idée là.
Ah, ils ont collé 2 secondes au troisième?
Non. C'est dit, je les perds, là.
L'écart le plus faible, c'est deux, l'écart le plus faible avec les Red Bull, c'est 2 centièmes, quand ils étaient en pole.
Quel est l'objectif de la pole position?
Bah, faire la pole.
Faire le meilleur temps.
Faire la pole, oui, mais avant de faire la pole, quel est l'objectif?
Se qualifier.
Se qualifier.
De se qualifier. Ah, c'est les deux seuls à avoir été en Q3 tout le temps.
Eh, bravo, Bilo, qui marque donc 3 points. Ce sont les deux seuls pilotes.
C'est vraiment de la merde, tes questions.
Ce sont les deux seuls pilotes à avoir, un taux de présence de 100%. En Q3. Ils ont pas fait une seule erreur. En comparaison, par exemple, Hamilton a raté 2 fois la Q3. Alonso l'a raté 3 fois.
En même temps, en Malaisie, déjà, t'avais les deux McLaren et les deux Ferrari qui pouvaient plus prétendre à ce record.
Voilà.
Donc déjà, et il y avait plus que Kubica, à Abu Dhabi.
Ouais. Donc, à savoir quand même que dans le classement, ils ont aussi, je peux aussi vous donner, si vous voulez, les positions moyennes sur la saison. La position moyenne de Vettel, c'est 2. La position moyenne de Weber, c'est 2,5. Et leur plus proche poursuivant dans la position moyenne en qualification, c'est Lewis Hamilton, avec 4,9.
Oh la brave.
Donc c'est terminé.
Et qui est le plus proche de 17? C'est-à-dire la place du con.
Plus proche de 17.
C'est 18.
On a Al Gershwari qui est à 15,7. Et Kovalainen qui est à 19,3. En position moyenne.
Là, je m'attendais, c'est Kobayashi, moi.
Bah, donc Dino, rappelle-moi, c'était combien de points pour cette question points. C'était 3. Ouais. Et donc c'est ça.
C'est pour
Bilo. Non, c'est Bilo, c'est Bilo.
C'est excuse-moi.
C'est pour Bouchard.
C'est pour Bouchard.
Non, c'est pour Bilo.
Il fait pas bien.
Moi, je note, Dino me dit, je note.
On l'attend pas à protester à Bilo. Hein.
Alors, j'aurais une petite question pour un point. Est-ce que vous savez, derrière les deux pilotes Red Bull, quel pilote a le plus fort taux de présence?
Kubica.
Oh putain, il est en forme.
Bah oui.
Ah, mais c'était pas si. On sait tous, avec Malbro, qu'il a répété des fois et
ah,
des
putain,
fois.
C'est clair.
Kubica n'est pas Q3.
C'est pour ça que je donne qu'un point.
Ah non.
Mais 3 points, c'est cher. Oui. 1 point, c'est pas cher. Bah, bon. Effectivement, c'est Robert Kubica, donc Shinji, ça fait 1 point de plus pour Bilo.
C'est pour Bilo.
Qui n'a raté qu'une seule fois la Q3, c'était ce week-end à Abu Dhabi.
Ouais.
Voilà.
Et d'une place.
Et qui a une position moyenne de, et en plus par son coéquipier. Et qui a une position moyenne de 7e sur la grille.
C'est bien. C'est pas mal. Renault.
Oui.
À savoir, donc, je vous l'ai dit dans les indices, l'année dernière, personne n'avait, tous les pilotes avaient au moins échoué une fois à se qualifier en Q3.
En 2008, seul Massa et Kovalainen avaient été tout le temps en Q3.
Ah bah.
Voilà. C'est deux sources sûres. FA Racing.
Si c'est FA Racing. Bah là, oui. Faut que je les appelle. Et donc, messieurs.
Mais tu l'as toujours pas fait?
Non. Alors, j'aurais une troisième petite question pour un point. À savoir, bon, vous êtes sur, bon, on a parlé de la place du con. Vous en avez même, vous-même parlé tout à l'heure. J'aimerais savoir quels sont les deux pilotes des petites écuries qui ne comptabilisent pas un taux de 100% de présence en Q1. C'est-à-dire ceux, les deux seuls pilotes qui ont réussi.
Kovalainen et Glock.
Alors, Kovalainen, on va donner un point, un demi-point à Sato Kamikaze. Et Glock, on va donner un demi-point. Non, demi-point.
Oh, la question, on t'en reçut en 2 secondes.
Un Bilo.
Et moi, que dalle.
Effectivement, c'est Kovalainen et Glock qui sont rentrés 2 fois en Q2.
Ouais, à cause de la pluie, là, en Malaisie, là.
Belgique, avec Petrov et les deux sauveurs qui se sont éliminés.
Ah ouais, bah donc.
Non, les deux sauveurs étaient en Q2.
Donc ça va sans doute être Belgique et Malaisie, effectivement.
Voilà, ça doit être ça.
À noter donc que l'écurie HRT est la seule écurie à ne jamais avoir dégagé son cul de la Q3, de la Q1.
La Q1.
La Q1.
Et d'ailleurs, les 4 HRT, les 4 sont les 4.
Oui, Flynn, Senna, Yamamoto et Charles.
Le 23e, c'est Di Grassi avec 22,1 en position moyenne sur la grille. Et ensuite, c'est les 4 HRT. Senna 22,8, Clean 23, Yamamoto 23,3 et Shandong 23,4.
Mais à noter qu'au classement constructeur, c'est Virgin qui finit dernier et pas HRT.
Ouais.
Parce que Virgin, ils ont souvent abandonné. Et d'ailleurs, Branson et Fernandez avaient fait un pari. Celui qui perd.
Branson a reçu sa tenue et normalement, enfin, vrai. Alors, je pense qu'il va falloir regarder le site de Erasia parce que je pense qu'ils vont en faire une pub.
Ah, j'ai hâte.
Ouais, je crois que
apparemment, ils vont faire un concours pour faire gagner des places à bord de l'avion.
J'aimerais.
Je crois que ça va être un long de Kuala Lumpur, quelque chose comme ça. Donc en plus, un long courrier.
Oh, pauvre Richard.
Il a bien précisé, Fernandez, qu'il devra tout faire, notamment nettoyer les toilettes.
Nettoyer les chiottes.
Donc voilà, c'est tout pour ma première question, ma première grosse question. Maintenant, j'aurai un deuxième chiffre à vous suggérer, messieurs. Mmh. Ce chiffre, c'est 23,6. Et ça vaut 3 points.
C'est le nombre moyen de points ramassés par Red Bull à chaque Grand Prix?
Non.
C'est technique.
Pas avec les qualifs.
Et la course?
Pas avec la course.
Est-ce que c'est technique?
C'est pas technique. J'ai pas entendu Bilo, c'est quoi?
Un rapport avec les essais libres?
Non, pas un rapport avec les essais libres. C'est pas affecté ni à la course, voilà, c'est un chiffre qui a un rapport avec tout le week-end.
En moyenne, il y a 23 000... C'est pas ça.
C'est une somme?
C'est pas une somme.
En fait, à chaque fois, à chaque Grand Prix, il y a 23,6.
Bah, disons que quand on fait les comptes en fin de saison, la moyenne, moi, j'ai obtenu le chiffre 23,6. En faisant mes petits chiffres.
Au total sur la saison ou c'est une moyenne sur la saison?
C'est pas une moyenne sur la saison. C'est-à-dire que j'ai fait un total sur la saison. Ouais. Et dans mon analyse du total, j'ai trouvé le chiffre 23,6.
C'est un produit?
C'est pas un produit. Enfin, c'est une forme de produit. C'est un pourcentage. Je peux vous le dire, c'est un pourcentage.
C'est 23,6%.
C'est 23,6%.
D'accord.
Ah. Il y a eu 23,6% de chances de pluie.
Non.
Est-ce que ça a un rapport avec une écurie en particulier?
Oui.
Est-ce que cette écurie est espagnole? Il y a un châssis d'Alara?
Oui, non, elle n'a pas un châssis d'Alara.
Une écurie espagnole qui n'a pas de châssis d'Alara.
Ouais. Ah, excuse-moi, écurie espagnole, c'est, je l'interprète à ma manière.
D'accord. Massa a été devant Alonso 23,6% du temps.
Alors c'est presque ça, Massa a été devant Alonso 2,36% du temps.
Et puis d'ailleurs, dès qu'il était devant, de toute façon, on lui disait de repasser derrière. Alors.
Oui.
Felipe, Fernando is faster.
C'est le nombre de tours en tête par une Ferrari?
Non.
C'est ça, le pourcentage de victoire de...
C'est pas sportif.
Il y a Fabi vient de m'envoyer, supplie-moi. Attends, 23,6.
C'est 23,6% d'un total de quelque chose et ça concerne Ferrari.
C'est le temps d'antenne de...
Oh non, c'est plus faible. C'est surtout Red Bull qui... Il faudrait y avoir 95% de Red Bull et le reste c'est... c'est Ferrari.
C'est fait trop.
C'est fait trop fou.
Est-ce que ça a un rapport avec la compétition?
Oui, c'est un rapport avec l'ensemble de la compétition, mais ça n'a pas un rapport sportif, c'est pas un chiffre en rapport avec des résultats sportifs.
Je sais pas, c'est sur le budget total et des écuries d'affaires, Ferrari représente 23,6%.
Non, mais c'est un rapport avec une somme.
Alonso représente 23,6% du budget de Ferrari.
Oh non, c'est 75% du budget de Ferrari.
C'est pour ça qu'un voiture pas super bien marché.
Mais c'est du pognon.
C'est du pognon.
Ah, c'est les droits télé?
C'est pas les droits télé, non.
Putain, mais comment on chie, là, cette question?
Alors, c'est 23,6% d'une somme totale de 311 018,5 €.
C'est le, il représente ça en pénalité?
Oui.
Total infligé, aux écuries?
Oui, voilà.
Les amendes infligées
aux écuries. Tout à fait, bravo, Bouchard, tu marques 3 points.
Bravo! Ouais.
La pénalité. Ouais. Alors, c'est pas les pénalités infligées à Ferrari, c'est la pénalité infligée à Ferrari. représente à elle seule 23,60% du total.
Ah, ok.
C'est surtout que tu m'aurais dit, pour moi, les 100 000 $, ils représentaient, je sais pas, 80% des amendes totales.
Ah non.
Bah attends, regarde, il y a acheté pour Monza.
Et donc effectivement, c'est 23,6%. Alors c'était 100 000 $, mais en fait, converti en euros, c'est 73 410 €. Parce que, alors les pénalités, me demandez pas pourquoi, il y a des pénalités financières données en euros et des pénalités financières données en dollars.
Bah, il y en a qui peuvent pas payer.
Pour les pays de la zone euro? Mais ça, c'est pour les pays de la zone euro et tous les autres.
Ah, mais ça a eu lieu en Allemagne.
Ça a eu lieu en Allemagne. Et les trucs qui ont eu il y a eu des pénalités à Yas Marina qui ont eu lieu en euros. Donc, je sais pas pourquoi.
C'est dommage qu'il y ait pas de grille pour les pénalités sportives durant les, pour telle infraction.
Oui. C'est justement ce qui manque. Ah.
Mais ils ont relevé à 250 000, je crois, pour l'an prochain.
Oui, c'est une ambition. Ils vont augmenter leurs tarifs sur toutes les pénalités. Voilà.
Donc Ferrari va claquer 250 000 la prochaine.
Et là encore, ils ont envie de faire l'investissement, tu vois. Donc ça nous fait 3 points pour Bouchard, et donc j'aurais une autre petite question. Malgré tout, vous avez Bouchard, tu l'as dit, tu pensais que c'était 80%, et effectivement, Ferrari, la consigne de Ferrari ne représente pas la part la plus importante des pénalités. J'aimerais savoir quelle est le type de pénalité infligée aux écuries, qui représente la plus grosse source de revenus pour la FIA, à savoir 42,16% des pénalités infligées au total.
Excès de vitesse,
les excès de vitesse au stand.
Non, c'est pas les excès de vitesse au stand, puisque les excès de vitesse au stand, c'est soit 71 800 euros, soit 23,09%.
Je sais, c'est la roue qui se barre, c'est ça?
Non, c'est pas la roue qui se barre.
Oh merde.
Mais c'est lié.
Ah, c'est Renault qui lâche le Kubica trop tôt.
C'est effectivement l'ensemble des pénalités infligées. Donc effectivement, il y a Renault qui avait relâché plusieurs fois, je crois que c'est deux fois, Kubica un peu trop vite. Il y a Ferrari qui avait pris 10 000 euros d'amende parce qu'ils avaient relâché, ils avaient fait sortir des stands, je crois, Alonso trop vite qui était passé devant Weber, il avait failli avoir un crash. Et donc tout l'ensemble de ces pénalités, ajoutées les unes aux autres, pour la même raison, c'est 131 126,5 euros.
Virgule 5.
Je l'ai dit, il y a des conversions en euros. Donc... voilà. Je me retrouve avec des 66 centimes, etc. Et c'est plus rien. On a parlé, la première cause, c'est les sorties de boxe dangereuses. La deuxième cause, c'est les consignes d'équipe, 73 000 euros. Excès de vitesse, c'est 71 000 euros, donc à peu près équivalent. Alors les excès de vitesse, là, il y en a énormément. C'est la principale cause en termes de nombre de pénalités. C'est la pénalité qui est le plus souvent donnée. Il y a provocation d'un accident évitable, 7 341 euros. C'est Sutil, je crois, en Corée, qui avait fait copé de 10 000 euros.
C'est énorme, ça. Ils font payer plus cher un excès de vitesse au stand qu'un crash.
Ouais.
C'est vrai.
Il y a tentative de retour au stand avec une voiture accidentée. Alors là, il y en a un qui a raqué 7 341 euros. Donc 2,37% de la somme totale. Et puis je crois qu'il y en a un qui avait pris des places sur la grille d'après. Donc comme quoi, effectivement, il n'y a pas de grille. Oui. Hein, puisque des fois on donne des places, des fois on donne du pognon. Voilà, c'est un peu comme on veut. Il y a usage de couverture chauffante en dehors du box. Pour 5000 euros, ça c'est HRT.
Non mais attends, ils l'utilisent tous avant le...
Mais en fait, alors apparemment, alors je sais pas si HRT ils étaient sortis avec la voiture. Avec les comment ça s'appelle, les couvertures chauffantes. Tu vois le mec qui roule sur les couvertures chauffantes.
Moi je vois que ça.
Non, mais même si non, je pense que c'est
rouler une voiture avec des couvertures.
Bah non,
c'est pas ça. Je pense que regarde, si tu vois les images qu'ils font les changements de pneus pendant la course, les pneus ils sont pas sous des couvertures, ils les gardent pas sous les couvertures chauffantes. Je pense que c'est là qu'ils ont pas le droit.
Ah, okay,
ils ont pas le droit de garder les couvertures jusqu'à ce que la voiture arrive.
Je vois pas pourquoi ils ont pris ce risque, hein. Comme si ils avaient, ils pouvaient être aussi rapides que les Virgin ou
5000 euros, c'est quoi? C'est 5% de leur budget?
En cherté? Non, c'est 30%.
Et enfin, on a ex aequo, hein, avec 5000 euros, usage non autorisé d'un set de pneus durs en essai libre.
Ah. Quoi?
Usage non autorisé d'un set de pneus durs en essai libre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des pneus durs que vous n'avez pas le droit d'utiliser le vendredi, mais que vous devez utiliser à partir du samedi.
Ah, oui.
Et en fait, vous avez utilisé...
Ah, c'est pour ça qu'on s'est fait ça dans les 2010.
Voilà. Ah. Et bien évidemment, il y a aussi la pénalité infligée à Lewis Hamilton au Canada. Pareil, je crois que ça avait été 10 000 euros, je crois, par contre, pour Lewis Hamilton. C'était la pénalité, vous savez, pour de quantité d'essence...
Absence
d'essence au moment du... Il s'est arrêté en piste, etc.
Il était tombé en panne, ouais.
Hamilton, il n'a pas reçu une amende parce qu'il avait fait le con en Australie aussi.
Non.
Ah oui, c'est pas vrai. Il avait fait un avertissement.
En début d'année, il a fait plein de conneries, il a rien.
Quand vous regardez la liste, des fois, vous avez des pilotes qui font la même erreur et il y en a un qui a une réprimande et il y en a un qui a une amende. Alors justement, comme je vous parle de pilotes, pour un point, quel est le pilote le plus pénalisé de la saison?
En pognon.
Pognon.
Donc.
Sutil. J'aime bien ce mot.
Bravo, putain, il est en forme, Bilo. C'est Sutil qui a
les trois en forme.
18 082 euros. Devant Clean, 12 400 euros. Alors je crois que Clean, il a eu une pénalité. Et c'était pour un excès de vitesse dans les stands. Il a pris 12 400 dans un direct.
Oh, direct. Il est bien voulu ou quoi?
En plus, les pénalités pour les excès de vitesse, elles sont proportionnelles à l'excès de vitesse.
À l'excès.
Ah oui.
Oh putain, lui, alors lui, il devait vraiment...
Il a oublié le limiteur, lui.
Ah, noté. Mais...
Oh. J'ai fait 12 000 en un coup?
Ouais. Alors, je crois qu'il s'est en deux coups. Mais c'est dans le même week-end, il a pris un coup 4000 et un coup 5000, je crois.
Bon, en même temps, ils peuvent pas lui mettre des pénalités, hein. Il est déjà dernier. Ouais. On va pas lui mettre 5 places.
Ouais, parce que chez toi, 4000 et 5000, ça fait 12000, hein.
Oui, non, mais je sais pas, j'ai pas le détail précis, voilà, j'ai pas pensé à 12000 dans ma tête, quoi. Tu vois, c'est 6000 et 6000, quoi.
Voilà, ouais.
À noter, par exemple, que il y a 19 pilotes qui ont reçu des pénalités financières, sur 27 au total, et que le champion du monde n'a pas été une seule fois pénalisé financièrement. Vettel n'a jamais eu à payer d'amende.
Même il a jamais été pénalisé. Ah si, non pardon, j'allais
si,
dire.
Il y a le... j'allais dire... Oui.
J'allais dire qu'il avait jamais été pénalisé en fait en tout quoi. Non, j'ai oublié la honte.
Alors vous ferais-je l'affront de vous demander quelle est l'écurie la plus pénalisée pour 0 points?
Ferrari.
Ferrari. J'ai bien tout mon sujet. Ferrari. Il y a 0 points les mecs.
On s'en fout. C'est une question réponse.
On vient de prendre 3 points chacun.
Et par contre pour 1 point je vous demanderai quel est le grand prix qui a coûté le plus cher en termes de pénalité?
Hockenheim.
C'est pas Hockenheim.
Hockenheim.
Je donne un point donc c'est que c'est pas Hockenheim les mecs.
Corée.
Pas la Corée.
L'Australie.
Pas l'Australie.
Singapour.
Pas Singapour. Singapour est troisième avec 45 423 euros.
Spa.
C'est pas Spa. La Belgique est 4 400 euros seulement. Réfléchissez bien, on en a
pas. La Chine.
Pas la Chine.
Bahreïn.
Pas Bahreïn.
Monaco.
Pas Monaco.
Valence.
Non. Pensez à ce que j'aime.
Monza.
Non.
Hongrie.
Oh, Bilo, il est fait. Bilo, il est sur l'autoroute là.
Ouais.
C'est l'Allemagne. C'est énervant, hein.
Alors Ferrari, c'était 74 400. L'Allemagne, c'est 74 410 euros, dont 73 000 euros pour Ferrari. Et la Hongrie, c'est 80 210 euros parce qu'elle est deux pénalités de 50 000 euros, enfin de 50 000 dollars. Vous savez pour les Mercedes et Renault par rapport à l'incident du pneu.
Ah oui. Relâché, oui. C'était n'importe quoi ces amendes.
Comme quoi, hein, aux deux premières places, on a deux grands prix qui ont eu des pénalités un peu connes.
Ouais.
Enfin, c'est toujours le point de vue. À noter que la plus forte pénalité infligée à un pilote, c'est 7600 euros pour excès de vitesse. Un excès de vitesse, 7600 euros.
C'est quand même plus cher que sur la route, hein.
Cette vitesse, ouais. C'est-à-dire que, faut savoir que les HRT ne vont pas vite en piste, mais dans les stands, elles cartonnent.
Ben, elles vont aussi vite que sur la piste dans les stands.
Donc Chini, ça nous fait quoi au classement pour le moment?
Alors, sur l'épreuve même, hein, sur ton épreuve même, Buchor a fait 3 points,
ouais.
Sato a fait 1 demi-point, et tu l'as dit, Bilo, c'est même pas une autoroute, c'est une ligne droite de Monza, il a fait 7,5. Et au total, on a Sato à 2,5, Buchor à 7, et Bilo à 11,5.
Oh.
Ah putain, ils m'ont mis...
Tu te prends un vent là, tu te prends une
veste. Ouais.
Ils m'ont mis une ligne droite de Corée là.
Mais rassure-toi, cela, on arrive dans le Money Time, la dernière manche, le dernier chiffre. Et ce chiffre, il est simple, c'est 19. Sur un tout autre sujet.
19 Grand Prix.
Non. 19 Grand Prix de la saison.
Non, pas 19 Grand Prix.
Par rapport avec un pilote en particulier?
Non.
Avec une écurie en particulier?
Non.
Est-ce que c'est un rapport avec les SAV de la F1?
Non.
C'est un rapport avec les pénalités?
Non.
Avec les circuits?
Non. Enfin, quoique les circuits jouent un rôle, mais non, ça n'a aucun rapport avec les circuits.
Est-ce que
j'aime bien faire ce genre de petites réponses avec
moi. Ah, un nombre de dépassements?
Oh putain, il est en force, ce
jour. Oh putain.
Alors, nombre de dépassements. Alors, faudrait que tu précises. Alors, d'office, tu vois, t'as un point, cadeau. Il en reste deux. Si vous me trouvez, pourquoi le chiffre 19?
Bah, 19.
Ah, le nombre de dépassements au Brésil?
Non.
Hamilton.
C'est le record de dépassement effectivement sur une
course. Alors c'est pas le record de dépassement sur une course et ça c'est pas le record d'Hamilton.
C'est une moyenne de dépassement de cette saison par les grands prix.
Non, c'est pas une moyenne de dépassement.
Ah je sais. Kobayashi il a fait 19 dépassements.
Non.
On sait jamais.
Oh. Il en a fait 14.
Ah c'est le plus grand nombre de dépassements sachant que ce pilote concerné est de la 19e place.
C'est pas un nombre de dépassements.
Ah, la voiture numéro 19 a été dépassée,
non.
A été le plus dépassée.
Non. Je vais vous dire, cette saison, il y a eu 534 dépassements au soir du Grand Prix du Brésil, puisqu'on n'a pas encore les chiffres, j'ai pas trouvé les chiffres d'Abu Dhabi.
Donc c'est pas 19 dépassements.
C'est pas 19 dépassements. Mais c'est un rapport avec les dépassements.
C'est pas un dépassement, mais c'est un rapport avec les dépassements.
J'aime bien ce genre de petite réponse à la con, tu vois.
C'est le nombre.
C'est ça, mais c'est pas ça.
C'est le nombre de pilotes qui se sont pris le plus grand nombre de pilotes qui se sont pris un tour par le premier.
Non, cherchez peut-être l'unité de ce 19.
Seconde.
Non.
De mètres.
Non. Celui qui trouve l'unité marquera le deuxième point sur les trois possibles.
19.
Ouais.
Non.
Ce sont des points. Tours. Ce sont des non. Tours.
Est-ce que c'est une date?
C'est pas une date.
Est-ce que c'est une distance?
C'est pas une distance.
Est-ce que c'est un temps?
C'est une durée.
Ouais, j'ai dit. Ah, non, c'est minute à la
non,
c'est minute à la j'ai pas des heures.
Non.
Et secondes.
Non.
Centièmes.
Non.
Des heures.
Des heures, non.
Des trains de pneus.
Non. Vous connaissez pas beaucoup de durée, messieurs, hein.
De jours.
Pas de jours.
De mois. De semaines.
Pas de mois.
De semaines.
Pas de semaines.
D'années.
Ah, bravo, Bilo, d'années. Ça nous fait un deuxième point pour Bilo.
Oh putain.
Allez, pour le troisième point.
Ça fait 19 ans qu'il n'y a jamais eu autant de dépassements.
Voilà, c'est le record de dépassement depuis oh. 19 ans. Voilà, donc ça fait un point pour Sato Kamika, donc deux points.
Pour sauver l'honneur.
Pour Bilo et un point pour Sato Kamika, Shinji.
Ouais.
Et donc effectivement, avec 534 dépassements au total de, sur l'année jusqu'au Grand Prix du Brésil, il faut remonter à 1989 pour retrouver plus de dépassements, à savoir 547. C'est un forum fait par des fans britanniques ou américains, des fans de Formule 1 qui analysent chaque Grand Prix, qui analysent le nombre de dépassements. Donc vous avez des tableaux, des analyses, vous avez les dépassements dans les premiers tours, etc. C'est super enrichissant et on découvre plein de choses. À savoir que ces 534 dépassements sont des vrais dépassements. C'est pas des dépassements de retardataires, c'est pas des dépassements dus à l'entrée des stands, etc. C'est pas des dépassements dans le premier tour. Le premier tour est automatiquement retiré des statistiques. Voilà, c'est des dépassements en course, 534 en course. Voilà. Soit une moyenne par Grand Prix de 29,67 dépassements. L'année dernière, c'était 14,35 dépassements par Grand Prix. Voilà. Et faut remonter à 1991 pour flirter avec ce genre de chiffres, puisqu'en 91, on avait eu 30,94 dépassements. Bon, faut dire qu'entre-temps, il y a eu l'entrée en vigueur des ravitaillements, qui ont fait qu'il y a eu de plus grands écarts, donc les dépassements ont diminué jusqu'à, je crois que la faiblesse, c'est 2005, 10,74 dépassements par Grand Prix.
Sur les 534 dépassements, est-ce qu'il compte le dépassement, enfin, entre guillemets, d'Alonso sur Massa?
Ben, c'en est un, hein.
Bah, techniquement, c'en est un, c'est-à-dire que...
Il est très aidé par l'écurie, mais c'en est un.
Il le laisse passer, mais c'est un dépassement.
D'accord.
Bon, c'est un dépassement sur 534.
Ouais. Oui, mais qui a coûté cher, celui-là.
C'est très cher.
Bon, de l'autre côté, si c'est pour passer de second à premier, je pense que Ferrari serait prêt à sortir le chiquier plus souvent, hein.
Ouais.
À noter qu'il y a une année record. C'est 1984, avec 666 dépassements.
Le chiffre,
soit le chiffre astronomique de 41,63 dépassements. Alors, allez, c'est cadeau, pour un point. Quel est le Grand Prix qui détient cette année le record de dépassements?
Suzuka?
Non.
Corée?
Non.
Valence?
Canada?
Non. Ni Valence, Canada.
Australie?
Hongrie? Pas la Hongrie.
Non, pas la Hongrie.
Hongrie?
Qu'est-ce qui favorise les dépassements?
La pluie.
Oui,
c'est... Malaisie.
Non, pas la Malaisie.
C'est pas?
Non.
Il y a quoi d'autre sur la pluie?
Ça me rassure, vous l'ayez oublié celui-là.
La Chine.
Bravo,
je l'ai dit.
Qui c'est qui l'a dit?
Moi?
Ah, j'ai pas entendu, désolé.
Donne le point à qui? Tais-toi, tu me laisses le point.
Peut-être qu'au montage, je me dis, ah oui, c'est vrai, merde, on a été injuste, mais...
Parce que tu sais, j'ai dit Chine, on a fait, non.
Ah oui, quand on dit non à Sato Kamika, moi je pensais que c'était pas la Chine, c'est pour ça que j'ai pas
dit. Non, le point ira comme un bûcheur.
Bilo, aide-moi.
Et donc effectivement, c'est la Chine avec 82 dépassements sur l'ensemble du Grand Prix. Alors à noter que effectivement, sur les 5 premiers du classement, les 5 premiers du Grand Prix du classement, sans Abu Dhabi, puisque j'ai pas les chiffres d'Abu Dhabi. Sur les 5 premiers, il y en a 4 qui sont c'est les 4 grands prix sous la pluie qu'on a eu cette saison. À savoir la Chine en premier 82, la Belgique 67 en deuxième position, l'Australie en quatrième position 41, et la Corée en cinquième position 37 dépassements. À noter que derrière, par exemple, le Brésil, qui a pas forcément été super passionnant, est un grand prix sur le sec, qui se classe sixième avec 34 dépassements. Le plus faible, c'est...
Abu Dhabi.
Monaco.
Monaco. Ah. C'est bah, Monaco, effectivement. Mais là, il n'y a pas de points à gagner. Et ah, Monaco, juste devant Monaco, vous avez le Japon avec 8 points. Enfin, 8 dépassements.
Et la Hongrie. Juste Kobayashi.
Oui, je pense que dans le Japon, il va y en avoir.
Il y a 5 de Kobayashi en tout.
Et donc, je vous ai dit que sur les 5 premiers Grands Prix, en termes de dépassements, il y avait 4 Grands Prix sous la pluie. Il y a donc un Grand Prix sur le sec. Qui totalise, qui se classe 3ème avec 65 dépassements. Lequel? Pour 1 point.
Eh ben, allez-y.
Non.
Hongrie,
Spa.
Alors la Malaisie c'est 10e avec 24 dépassements. Spa c'était sous la pluie. Et la Hongrie, on a dit que c'était 16e avec 8 dépassements.
Canada.
Oh, il est en forme, Bilou. C'est Canada, le Canada, 65 dépassements.
j'ai pas vu la course, moi.
Ah, bon, ah bah voilà.
Moi, j'étais voté à prendre du gros.
Donc ça nous fait un point de plus pour Bilou. Allez, messieurs, pour entretenir le suspense, maintenant, qui est l'auteur du plus grand nombre de dépassements du côté des pilotes? Et tout ça, c'est pour gagner 5 points.
Alonso. Kobayashi.
C'est pas Alonso, c'est pas Kobayashi. Alonso, c'est, il est deuxième avec 40 dépassements.
Salut, Alonso, c'est
Kubica. Kubica.
C'est pas Kubica, c'est pas Alguersuari.
Chumi.
Pas Chumi.
Rosberg.
C'est pas Rosberg, c'est pas Yuji.
Button.
C'est pas Button.
Hamilton.
C'est pas Hamilton.
Weber.
C'est pas Yuji. Il a déjà dit Yuji en plus.
Vettel.
C'est pas Vettel.
Weber.
C'est pas Weber.
Soutil. T'as dit pas
Bilou? Petrov.
J'ai pas entendu Bilou.
J'avais dit Buemi et après Soutil.
Ah, t'as dit Soutil?
Oui, je l'avais dit. Non.
Qui c'est qui?
Non, moi aussi j'ai dit. J'ai dit.
Non, j'ai dit quand.
C'est quoi, pose une autre question?
J'ai dit tellement que pilote. Je sais plus.
Eh ben, c'est effectivement Soutil, hein, le pilote le plus pénalisé en termes d'argent et aussi celui qui a fait le plus de dépassements. En même temps, quand on sait que l'un de ses dépassements lui a coûté très cher. Effectivement, c'est celui avec 47 dépassements.
Oh putain.
Les records de la saison. Et bon, tout le monde pense à Hamilton dès le départ. En fait, Hamilton, il a fait que entre guillemets, 32 dépassements. C'est autant que Barrichello.
Alors attends, Dino, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Que t'as dit 32 dépassements. Et il me semble bien qu'après les 4 premiers Grands Prix, c'est le nombre de dépassements qu'il avait, Hamilton.
Non, je crois qu'il en avait un peu moins.
Kobayashi, il a combien de dépassements?
Alors Kobayashi, il en a fait 19, dont la moitié au Japon.
Ah,
et ce qui est étonnant, c'est quand vous regardez les derniers en fait, quand on regarde les derniers, ça nous fait Clean, il en a fait 0. Yamamoto, il en a fait 0. Senna, il en a fait 1 sur toute l'année, un dépassement à la régulière.
Shandok,
sur toute l'année, Shandok, il en a fait 2 à la régulière.
Donc, mais précise même pas la régulière, ils vont pas dépasser des retardataires, hein, ceux-là.
Non, mais en fait, ils ont gagné des places, parfois.
Ouais, contre,
voilà, ils ont gagné des places. Quand les mecs ravitaillaient.
Non, mais quand la voiture est dans le bac à gravier, ça compte pas.
Voilà, non, mais c'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, quand ils ont gagné des places, non seulement ils étaient abonnés à la dernière grille, mais quand ils étaient abonnés à la dernière grille, ils ont très rarement dépassé, ou quand ils dépassaient, c'était Senna qui dépasse Shandok, et Shandok qui dépasse Senna. Et en fait, quand ils ont réussi à monter plus haut, c'est parce que les autres abandonnaient devant. Et donc, on a Trulli, 7 dépassements, Di Grassi, 8, Heidfeld, 10, Kovalainen, 11. Et alors là, juste devant Kovalainen, on a Kubica, 13.
Kubica.
Ah ouais.
Button, 14. Et Glock, 15.
Glock, 15.
Glock,
et
Glock est exécuté.
Avec la Virgie, putain.
Et Glock, il exéco avec Rosberg.
Rosberg, c'est pas étonnant. Hein.
Parce que Rosberg a 15 dépassements, Schumacher en a fait 26.
Non. Wow. Tu t'es trompé, Rosberg, 13, c'est le nombre de secondes où il était à l'antenne sur toute la saison.
Donc voilà, c'était tout pour ce petit bilan en chiffres, ce gros bilan en chiffres sur la saison 2010. Et nous avons donc, je pense, un vainqueur, Shinji.
Ouais. Ah non, merde, c'est pas moi.
Donc, les derniers points, tu les attribues à qui?
Parce que c'est vrai que,
à Bilou.
C'est Bilou qui a trompé.
Franchement, tu pouvais pas les donner à Bûcheur. Ah.
Bah, allez, à Bûcheur.
Faut qu'il ait pas l'air.
Allez, Bûcheur, faire, je te donne les points.
Celui qui a l'air con pour l'instant, c'est moi.
Ouais, mais d'un autre côté, tu partais pour pas gagner de points.
On m'amusait.
Voilà.
Déjà,
Oui.
Mais chez la main, t'es rentré dans le jeu.
Alors, Sato a marqué 3 points et demi.
C'est plus que...
C'est moi ce qui est génial, c'est que le demi, ça me fait passer à la Malaisie 2009.
Ouais. C'est pour dire qu'il avait des circonstances atténuantes, tu vois.
Bah, tout le monde les a, les demi-points, non?
Non, vous êtes deux.
Non.
Bah non, vous êtes que deux à avoir des demi-points.
Ah, mais
ouais, Bûcheur n'en a pas.
Parce que Bûcheur, il a combien de points, Shinji?
Il est à 13.
13, ouh!
Ouais, enfin, en même temps, on lui a donné 5 points.
Qu'il ne mérite pas.
Voilà.
Ouf, je me suis pris.
Et Bilou, il est à 19.
Oh. Ah ouais, il y avait de la marge quand même.
Encore, ça va, on a donné 5 points.
Oui. Sinon, il y aurait 8 à 24.
C'est gentil, Shinji. Grâce à toi, je suis moins ridicule.
Mais t'es pas ridicule, il y a moi pour ça.
Donc, bravo, Bilou.
Bravo, Bilo.
Je l'avais dit que j'allais manger.
Tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission.
Bon, allez,
petit pédale. T'es pas couché?
Ça, c'est sûr.
Demain, j'ai... Là, il regrette, en fait, il dit merde, putain, non.
Non, c'est ça, je reste. Je reste. Je reste. Allô?
Oui.
Oui.
Pardon. Non, mais c'était drôle de te laisser parler tout seul, on trouvait ça drôle. Tu sais, ça avait un petit peu Vettel dans son casque, bah là, il y avait Bilo dans son casque.
Pleure! Vas-y, pleure!
Après, le monologue de Dino, le monologue de Bilo.
Et Shinji n'a pas la parole.
Non. Bah, il va pas l'avoir ce soir.
Oh oui.
Bon. Je crois que c'est l'heure de quitter l'émission.
Oui. Faire allez, dégagez.
Ah,
oui.
Oh, ouais,
Bichard, tu diras bonjour à Fab, hein.
Ouais.
J'y manquerai pas.
Tu Fab, tu nous as déjà dit bonjour.
Il ouais. Y a Fab qui vient de se connecter.
Ouais, ouais.
Allez.
Je crois qu'il attend le supplément, là.
Le supplément, hein. Le supplément, hein. Supplément. Le supplément de FA Racing. Et un peu pour les kiosques.
Ouais, bon.
Allez, vraiment... Allez salut les gars.
Bonne soirée à tous.
Joyeux Noël. Bonne année.
Ouais,
l'année prochaine.
Plein de bonheur.
Et bon courage, Bilo. Et Shinji aussi, tu vas en avoir besoin.
On va pas reprendre le cours normal de notre émission.
Oui.
On va passer au Grand Prix et on va passer à la qualif.
Pas de question avec tu qui passe inaperçu.
Ah bah non.
Je crois pas que t'as déjà assez répondu à des questions ce soir.
T'en as pas marre, ça fait 1h40 que tu réponds à des questions.
Et saluons notre dernière place du con. On aurait dû faire un classement de la place du con.
Oh non, bon, arrête.
Mais non, mais l'an prochain, on a juste le nom, puis... Mais
l'an prochain, il y aura peut-être pas de con.
C'est vrai.
Ça serait rigolo qu'année prochaine, il y ait que les Ferrari, les Red Bull et les McLaren qui restent coincés derrière.
Ouais. HRT, j'aurais dit que, ouais, ils auraient pu quitter le fond de grille jusqu'à hier, je crois, où j'ai vu que HRT n'aurait pas de châssis Toyota. Et là, je me suis dit, bah,
ah oui.
ils vont rester derrière.
Bah, malheureusement, ouais.
Et donc... Non, vas-y.
Ouais, donc juste pour dire que la place du con, parce que tu parlais de Toro Rosso, c'est Sébastien Buemi, cette semaine.
Ouais.
Alors que ces dernières semaines, on avait plutôt l'habitude de voir les Force India, et bien Buemi, 1:41.824, il est passé à la trappe.
Il s'est fait dégager par Alguersuari d'ailleurs.
Par Alguersuari. 17ème, ça laisse son joueur commencer la course qu'il a fait après. Ouais. Et donc en pole, encore une fois, encore et toujours, c'était sa 15ème pole position.
Y'en a marre.
La 20ème pour Red Bull, je suis trop content. Et Red Bull, vous vous rendez compte, 20ème pole, faut dire qu'ils ont toutes faites cette année.
Ouais.
C'est quand même impressionnant. 175ème pour Renault à une moyenne de 201,163 km/h. Donc, qui partait, on va dire, à la base, dans de bonnes dispositions pour essayer d'aller chercher le titre. Partir en pole, tu peux pas faire mieux.
Il a fait son boulot, hein.
Il a fait son boulot. Notez aussi Hamilton, puisqu'on se souvient, Hamilton, finalement, c'est celui qui devait le moins se prendre la tête. C'était gagner et prier.
Ouais.
Ben, il partait deuxième. Là encore, bon, ben, si Vettel est, enfin, il y a que Vettel qui a réussi à être devant. Donc, c'était pas mal. Alonso 3. Ce qui, à la sortie de la qualif, nous paraissait, on va pas dire que le titre était dans la poche. Mais potentiellement, c'est vrai que samedi, après-midi, on se disait qu'Alonso était quand même dans une très bonne position.
Ah oui, mais ça...
Et Weber surtout, dans une mauvaise.
Et Weber, ah, oui. Voilà. Weber cinquième, on se disait que ça sentait quand même bien le roussi pour Weber. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire justement sur la qualif?
Bah, la stratégie de Red Bull quand même, c'est assez... Enfin, je sais pas, c'est important quand même. Enfin, ils ont compris. Je vais quitter l'émission.
Non, mais exprime-toi, profite-en.
T'es l'animateur d'un jour.
Non, mais je veux dire, cette stratégie-là, partir avec un seul run, c'était une bonne stratégie pour Vettel, qui est quand même un habitué de faire ces coups-là, d'être concentré vraiment sur un tour. Alors que pour Weber, voilà, quelque temps, Weber, il est un poil moins bon en qualif, et ça se voyait que c'était très serré avec les Ferrari et les McLaren. Du coup, Weber avait des pneus qui allaient s'user au fur et à mesure, donc ils ont fait cette...
Et moi, je pense qu'en fait, il a un peu l'erreur qu'a fait Alonso en course, c'est de trop regarder Weber. Je pense que Weber s'est calqué sur Vettel en se disant, finalement mon rival le plus dangereux, c'est Vettel, parce que par rapport aux dernières courses, à la fin de saison que fait Vettel et à la fin de saison que fait Weber, ils sont sur deux trajectoires différentes. Et je pense que oui, je pense même qu'il est venu avec l'état d'esprit de se dire peut-être qu'il sera pas champion, quoi, que il faut que l'homme à bloquer, c'est Vettel. D'abord, s'il arrive à éliminer Vettel ou en tout cas à rester près de lui, bah ça me mettra peut-être en bonne disposition pour Alonso. Mais Alonso est devenu son problème secondaire, je pense.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ok, son principal objectif c'est Vettel, mais le truc c'est que pour rivaliser avec Vettel, je pense pas qu'il aurait dû prendre les mêmes armes. Je pense qu'il aurait dû prendre des armes meilleures que Vettel. Parce que là, franchement, se qualifier avec une plus neuf aurait été une bonne possibilité pour lui.
Oui, mais justement, c'est justement sa promesse, c'est que je pense que son discernement a été obscurci par le fait que il a cherché à concurrencer Vettel avec les armes de Vettel. Sauf que c'est pas le genre de choses que tu fais avec Vettel, puisque Vettel, quand il utilise ses propres armes, il est imbattable.
Voilà.
Oui.
Sa plus mauvaise qualif depuis Bahreïn, il me semble.
Oui, parce qu'il a une bonne position. Bah, je crois qu'il avait, j'avais déjà dit 2,7, je crois, de position moyenne.
Et à noter, hein, comme tu l'avais dit, Petrov qui se qualifie devant Kubica.
Il était très bon tout le week-end, Petrov. Même aux essais, il était bon, Petrov. Mm. Il était un cran, il était un poil au-dessus de Kubica. Alors, est-ce que c'est parce que Petrov sent que c'est sa dernière course, la dernière occasion pour vraiment montrer sa valeur, ou est-ce que c'est parce que Kubica, pour qui maintenant tout est joué ou presque, on connaît Kubica, hein, on se rappelle du final de 2008 où il avait un petit peu, fini la saison un peu en roue libre, je dirais. Mmh. Est-ce que Kubica a pas fait un week-end un peu en roue libre?
Je pense pas, parce qu'il se battait avec Rosberg pour le championnat quand même. Il y avait un objectif.
Ouais, mais est-ce que vraiment Kubica, lui, ce qui l'intéresse, c'est de se battre pour la place de Rosberg?
Il a montré des choses quand même en course, donc il avait pas l'air démotivé en course.
C'est pas forcément démotivé, mais je pense que Kubica, il a cette tendance à être à 100% tout le temps. Mais quand il sent qu'il y a plus grand chose, il y a plus grand intérêt, et ben il est à 90%.
Ouais.
Donc il a toujours l'air à fond en fait, mais la petite différence qu'il fait d'habitude, elle se ressent plus. Alors je sais pas, hein, c'est vrai que c'est quand même assez étonnant que c'est pas la première fois, mais ça en qualif, c'est assez étonnant que Petrov devance ainsi à la régulière sur tout le week-end Kubica.
Faudra lui demander.
On va l'inviter l'année prochaine, il sera animateur.
Oui, ah, d'accord.
Pendant les courses.
Pendant les courses.
Mais il devra répondre à des questions. Sur Petrov.
On passe à la course. On passe au top 10.
Oh non.
Et Dino, tu vas être... Alors, pour un dernier classement de la saison, tu vas être super content.
Oh, il y a 3-4 ex aequo entre nos jardins.
Ah oui, là, ça finit en beauté.
Oh la vache.
Oh non.
Puisqu'on a... Notre top 10 est un top 11.
Oh bah non, non. Je crois qu'il y a plusieurs ex-aequo. Non, il y a deux ex-aequo.
Non, en tout, il y en a 5.
Ah d'accord, ah oui, non mais... Il y a 11 pilotes, mais il y a plusieurs... Ah d'accord.
Oui, enfin... Ah, la vache. Disons que, quand je dis un top 11, en fait, on a une 9e place ex-aequo. Mais donc, avec 3 personnes. Ah oui, on finit en beauté cette saison. Puisque donc... À la 9e place, je vais commencer par celui qui revient, entre guillemets, il y a Nick Heidfeld, que j'ai mis 9e, et que les auditeurs ont mis 9e. Je vois aussi Bilo, d'ailleurs tu l'as mis 9e.
Ah oui.
Apparemment tu l'as mis avec beaucoup de conviction.
Ah oui. Donc, enfin, à ce que j'ai vu des commentaires, Heidfeld a souvent été mis parce que c'est vrai qu'il a fait plutôt une bonne course, qu'on a cette image, voilà, de Heidfeld qui revient à la course et qui fait des trucs pas trop mal. Sur le peu de course qu'il a fait, il se fait quand même un peu déchiré par Kobayashi. Bon, ça, c'est un autre débat.
Ah, d'accord. Ah ben oui, non, depuis qu'il est revenu, Heidfeld, il a quand même été dans le rythme de Kobayashi 2-3 courses, hein, quand même.
Ah parce oui, qu'il... dans le rythme, mais il fait moins bien.
Ouais, enfin, il s'est pas fait déchirer, quand même.
Ah non,
il fait c'est sur le global. Heidfeld, c'est une valeur sûre, tu sais qu'il va fonctionner, qu'il va faire de bonnes qualités, qu'il va faire de bonnes courses.
C'est aussi un peu le...
Une équipe, malheureusement, honnêtement, moi, je le vois pas en 2011 en Formule 1, quoi.
Heidfeld, c'est le phénomène Rosberg, hein. C'est Rosberg avant Rosberg, hein. C'est le type qui fait une bonne course, mais qu'on voit pas.
Ah oui. Et encore Rosberg, tu sens le potentiel, alors que vraiment, oui. Moi, j'ai l'impression que Heidfeld, c'est un bon pilote. J'ai l'impression, si tu veux, que c'est pas un pilote, c'est un professionnel, voilà. J'ai pas l'impression que c'est un compétiteur.
C'est vrai que pour l'instant, il se retrouve sans baquet.
Là, vous le voyez, donc toi, tu le vois pas en 2011, l'an prochain?
Non.
Oh, moi, je pense qu'il pourrait quand même rebondir, mais alors, dans une des petites équipes, hein, faut pas rêver.
Mais le problème, c'est que, moi, je pense, c'est que, il y a un pilote qui vient de se libérer, c'est Hülkenberg. Qui lui représente l'avenir et qui a montré une solidité, une marge de progression. Que il y a tout de même Petrov qui a montré de bonnes choses, qui a des sponsors, qui a du budget, qui pourrait aussi être disponible et occuper une place.
Puis on voit qu'il y a on voit qu'il y a des Maldonado et tout ça qui arrivent en plus.
Et voilà, qui eux arrivent avec du pognon, et on sait très bien, par exemple, chez Williams, le nerf de la guerre en ce moment, c'est l'argent. Malheureusement pour Heidfeld, c'est un pilote qui est une garantie de résultat, mais parce que c'est une garantie de résultat, c'est aussi des exigences salariales, c'est aussi un pilote à qui tu peux pas demander d'apporter un budget, puis qui a plus l'âge d'apporter un budget. Enfin, il a apporté quoi comme sponsor, comme De La Rosa? De La Rosa, ce qu'il a apporté comme sponsor, c'est Burger King pendant deux courses. Voilà, à cet âge-là, les mecs-là, non, mais c'est vrai qu'à cet âge-là, les mecs-là, ces mecs-là n'attirent pas les sponsors, parce que un sponsor ne mise pas sur un mec qui a 35 ans, sauf s'il s'appelle Schumacher.
Ouais.
Non mais,
non mais c'est vrai, non, t'as tout à fait raison.
Mais moi je pense vraiment qu'on le reverra pas.
Bah c'est dommage quand même, parce qu'il montre franchement il a pas démérité aux côtés de
Il s'est même montré parfois meilleur que Kubica alors qu'on faisait que des éloges pour Kubica.
Ouais.
Ah bah la moitié du temps il était devant. C'était 50-50 hein. Ouais.
Alors autre neuvième, et là c'est ça va faire plaisir à Dino. Oui, parce qu'en fait il l'a mis pour une raison bien précise.
Si c'est celui auquel je pense, j'ai rien à dire sur lui, sauf un truc.
Voilà. Puisque Bruno Senna marque deux points.
Oui. Juste pour la raison toute simple. Alors j'ai vraiment donné mon top 10 à l'arrache à Chimie, juste avant l'émission. Et j'avais vu les statistiques en fait de HRT qui celle dont on a parlé, HRT qui est tout le temps en fond de grille, qui a pas gagné de place, etc. Et c'est vrai que quand on pense à la saison d'HRT, ils ont eu le mérite de se sauver à quelques semaines du début de la saison, de présenter une voiture à l'arrache, une voiture qui, on le sait, n'a pas évolué d'un copec sur toute la saison, qui présentait un aileron type Monaco sur tous les grands prix de la saison. et voilà, ces mecs-là, ils sont venus avec une voiture qui bouge pas, qui évolue pas, ils se sont battus chaque week-end. On était sûr qu'ils feraient pas la moitié de la saison. Ils sont encore là. Ils sont encore là, sans doute pour l'année prochaine. Enfin, espérons-le. Voilà, moi, et quand je vois en comparaison Virgin qui est arrivé avec beaucoup de prétention, disons on va révolutionner la F1 avec la CFD, quand je vois Bronson, c'est Ranson, parce que il a quand même posé son nom sur une voiture où il donne que quelques millions.
Oui.
Voilà, alors que c'est une équipe qui avait beaucoup d'ambition et beaucoup de prétention. Bah au final ils finissent dernier au classement du championnat, et j'avais pas envie d'avoir un ex-écho dans le championnat en me disant voilà que HRT ils ont même mérite que Virgin. HRT ils ont foiré leur saison alors que Virgin ils ont survécu, et ils ont bien survécu.
Bah, HRT survit aussi.
Oui non ouais. HRT pas
mélangé.
Ah oui, c'est miraculeux qu'ils soient encore là hein. On savait même pas s'ils feraient une saison complète hein.
On sait même pas s'ils seront là l'année prochaine. C'est
oui.
Donc voilà, c'est pour ça que je voulais les récompenser.
Pourquoi mis Yamamoto alors?
J'ai mis Senna parce que bah voilà, c'est celui qui est resté le plus longtemps dans l'écurie cette saison.
C'est vrai. qui est resté le plus longtemps dans un baquet. Shandok, il fait toujours partie de l'équipe. Il roule plus, mais il fait toujours partie de l'équipe.
je crois que HRT tire ses pilotes au sort le jeudi.
Ouais, non, au poker, au poker.
Oh putain, Bruno, t'as de la chance, hein.
T'as de la chance.
Et au Lyon.
Au poker, c'est un gros score pour Senna. Les Shandok, il n'y arrive pas.
Avec des cartes fabriquées par Umbratel, c'est plus facile.
Oui.
Et donc, je vous ai dit, il y a trois personnes qui sont à la 9e place.
Une première cette saison, je crois.
C'est une première. Et là, attention, les gars.
Ah oui, alors là.
On passe par. Ah. Franchement, l'an prochain, il me faut un jingle, le gros morceau de l'émission. Puisque il est 9e, mais méritait-il d'être mieux que 9e? Bien qu'il ait fini mieux que 9e.
Lui, il méritait d'être mieux que 9e.
Oui, on va dire que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a vues qui ont peut-être compté. Et puis des choses que lui n'a pas faites, mais enfin bon.
Mais de qui parlons-nous là? C'est déjà un doute.
On parle de celui qui encore, jusqu'à la dernière course, pouvait gagner le titre chez le SAV, et qui définitivement, vous l'aurez compris, ne le gagnera pas.
T'es un enfoiré, j'ai dit. Avant l'émission, je t'ai dit, écoute, bon, si jamais Senna, parce que j'ai donné 4 points à Senna, donc j'ai dit à Chimie, écoute, Shinji, si jamais tu vois qu'avec 2 points, Senna, il est quand même dans le classement, bon, tu me le dis, puis comme ça, je mets Alonso 8e et je mets Senna 9e, parce que moi, mon but, c'est juste de mettre Senna dans le classement. Donc j'avais mis un peu plus haut qu'Alonso pour être sûr qu'il y soit. Et il m'a dit, oh non, tu te regretterais cette arme. Moi, je me suis dit dans ma tête, ah, ça se trouve, Alonso, il est champion. Eh ben non, que dalle. Ah, ma foi, il t'a dit.
Eh oui, 9e ex aequo, c'est le vice-champion du monde, Fernando Alonso, que j'ai mis personnellement 10e. Dino, tu l'as mis beaucoup plus haut puisque tu l'as mis à la 9e place.
Ouais.
Et les auditeurs, globalement, l'ont mis à la 10e place. Mais on peut noter, Sato l'a mis 9e, Bouchard l'a mis 9e, Globen l'a mis 9e, Maël l'a mis, je vois, attends, 10.5e. Et pour les autres, c'est simple, ils méritaient même pas d'avoir des points. Alors non, que c'est vrai que quand on y pense, alors, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est ses stratèges?
Je laisse Bilo répondre.
Pour moi, Alonso, on n'arrête pas de dire, ouais, c'est un double champion du monde, il motive l'équipe, il sait ce qu'il fait. Je vois pas pourquoi un double champion du monde, comme ça, du coup, obéirait tout de suite à son équipe.
C'est ça qui est étonnant.
Voilà, je comprends pas.
Mais moi, en fait, j'ai pensé à un argument. Alors, c'est vrai que je partageais tout à fait votre point de vue, et au départ, j'avais décidé de pas mettre Alonso. Et je sais plus avec qui j'en parlais, et ça m'est venu à la tête. Alonso, lui, il ne sait pas que Rosberg et Petrov, ils viennent de ravitailler.
Alors, ça il le sait, non, mais
attention. Ferrari le sait maintenant. Est-ce que Ferrari a pris la précaution de dire à Alonso le nom de ceux qui avaient ravitaillé au moment de la safety car dans le premier tour? Je suis pas sûr que Ferrari ils aient pris la précaution de dire à Alonso. Donc,
oui,
je
mais pense que Alonso, vas-y.
Je pense que Alonso, quand on lui a dit, écoute, il y a Weber qui va ravitailler et que on se calque sur Weber. Je pense que Alonso, lui, ne savait pas que dans l'équation rentraient en jeu Rosberg, Petrov et Kubica. Et je pense que, voilà, parce qu'ils étaient derrière, lui, il les a pas vus rentrer au stand. Il les a pas vus sortir. Donc, il a sans doute pas calculé ce qu'aurait dû calculer l'équipe. Parce que l'équipe, elle aurait dû, elle, tenir compte du fait qu'il y avait Petrov, Rosberg et Kubica qui avaient ravitaillé et qui pouvaient être des dangers. Alonso, lui, dans son baquet, il peut pas forcément le savoir. Et s'il le sait pas, quand l'équipe lui dit on se calque sur Weber, il dit d'accord, les gars, on se calque sur Weber.
Oui, mais donc, par exemple, il faisait des temps de mieux en mieux. Il était au top à ce moment-là. Ça, il s'en rendait bien compte.
Même Adrien Newey, je trouve, a eu une bonne analyse là-dessus, puisqu'il a dit, et c'est là où finalement, on a critiqué leur choix au Brésil, et c'est un choix qui s'est avéré judicieux, parce qu'en fait, ils ont entretenu 2 poulains, et dans l'esprit de Ferrari, ils ont forcé Ferrari à choisir l'un des deux. Et ils ont forcé Alonso à choisir l'un des deux. Et Alonso a choisi le mauvais cheval. Il a choisi Weber. Il s'est fixé dans la course de choisir, de prendre Weber. La stratégie, elle est pas mauvaise. Du point de vue comptable, elle est pas mauvaise.
Mais ça veut dire, dans ce cas, qu'il y a aucune flexibilité dans la stratégie de Ferrari. Parce que justement, ils auraient pu se dire, ah, tiens, eux, ils viennent de ravitailler. Est-ce qu'il faut
c'est ça le truc, c'est
ajuster, entre guillemets.
C'est ça le truc, c'est que je distingue Alonso de Ferrari, et je me rappelle avoir fait des commentaires sur, je sais plus quel pilote, où je disais, bah oui, il aurait dû s'imposer. Et finalement, quand on y pense, le pilote, est-ce qu'il sait vraiment tout de ce qui se passe en piste? Est-ce qu'il sait vraiment tout de la stratégie? Est-ce que, voilà, il y a forcément un tri des informations qui sont faites, parce qu'Alonso, il a quand même montré un esprit de stratégie et d'initiative et de pression sur l'écurie, qui est quand même surprenant, justement, de ne pas voir Alonso, pour se battre sur le titre, Alonso dire à l'équipe, d'accord, je rentre.
Oui, voilà, c'est surprenant, je l'ai pas suivi, ouais.
Alors que, honnêtement, moi, au moment où Alonso rentre, je suis incapable de dire que si c'est un bon ou un mauvais pari. Moi, je me dis, voilà, il se calque sur Weber, c'est pas bête. Et c'est juste après, je me suis dit, ah ouais, mais les mecs, ils sont rentrés, ils ont chaussé des durs. Est-ce que, ma première réflexion, c'est, est-ce que les durs vont tenir toute la course? Et d'ailleurs, pendant 10-20 tours, plusieurs fois, les commentateurs ont dit, est-ce que les durs vont tenir la course? Et ils essayent même d'entretenir à la fin du suspense en disant, attention, parce que on n'est pas à l'abri d'un deuxième ravitaillement pour Petrov et Rosberg, parce que peut-être que les durs vont pas tenir. Moi, je pense que c'est un pari stratégique qu'ils ont pris, et je pense que, sans excuser Ferrari, mais je pense que, comme souvent, les paris, c'est soit tu gagnes et t'es le roi du pétrole, soit tu perds et t'es un con. Et quand on compare, par exemple, tout le monde a critiqué Red Bull la semaine dernière en disant, mais c'est quoi cette stratégie de pas laisser passer Weber, etc. Aujourd'hui, la stratégie, mais elle a été géniale. Parce que finalement, ils ont entretenu 2 poulains, ils ont semé, Newell a dit, ils ont semé chez Ferrari le doute. Qui je regarde? Quel lièvre je suis? Et il a suivi le mauvais lièvre.
Moi, c'est vrai que ça m'a étonné même qu'il fasse puis je passe la parole, Bilo, qu'il fasse une stratégie de suivre quelqu'un. Ça m'a étonné qu'il fasse pas quelque chose de plus défensif, par rapport à la 3e place. C'est-à-dire, en gros, finir le premier tour à la 3e place, essayer d'être dans le rythme des deux premiers, mais sans aller les chercher, et vraiment garder la troisième place. Je te laisse la parole, Bilo.
Non, mais t'as tout à fait raison, Shinji, c'est ce que je voulais ajouter. C'est qu'Alonso, quand il est arrivé à Abu Dhabi, il a dit, moi c'est simple, mon objectif c'est premier ou deuxième. Et dans ce qu'il a dit, c'était l'évidence même, on se disait, ben voilà, il a compris comment gagner le titre, il fallait être premier ou deuxième. Ses titres en 2005 et 2006, il les a récoltés en arrachant la position qu'il fallait sans compter sur les deux.
Mais justement, il a lu la course au soir de la qualif. Au soir de la qualif, il s'est dit, bah maintenant, je suis troisième sur la grille de départ, Weber est cinquième, j'ai juste à rester devant Weber.
Ah, mais non, je pense justement, le première et deuxième place, c'était s'assurer le titre, alors que la quatrième place, voilà, c'était un peu plus, c'était pas vraiment s'assurer le titre, parce que on a vu, s'il était resté en piste, il serait dit, voilà, je vise les deux premières places, Hamilton et Button étaient juste devant lui, franchement, il commençait à être le plus rapide, il suffit, voilà, ça l'aurait, sécurisé la deuxième place, quoi qu'il arrive.
Il n'aurait pas dû faire une stratégie de suivi sur Weber, mais une stratégie, comme je dis, défensive, plutôt en se focalisant sur le fait qu'il soit troisième.
Non, mais il y a un truc faut pas oublier, c'est que là, on analyse parce qu'on a vu la fin de la course.
Bien sûr,
mais
bien sûr.
Dites-moi, au moment où Alonso rentre au stand, dites-moi honnêtement ce que vous avez pensé.
J'ai quand même trouvé qu'il rentrait super tôt.
Honnêtement, Dino, quand j'ai vu Weber rentrer si tôt, je me suis dit, ah ben il a un problème, ça y est, sa course elle est foutue parce qu'il va repartir derrière Rosberg et Petrov. Ça se voyait qu'ils avaient dépassé tout de suite les retardataires et tout. Ils étaient dans le rythme et je me disais, Weber il va repartir derrière Petrov. C'est la bonne pioche pour Alonso, il a plus qu'à continuer. Weber c'était plus un danger. Là j'ai vu Alonso rentrer, je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Parce que c'était évident qu'il allait repartir derrière. Je me disais, voilà, Rosberg et Petrov ils ont déjà ravitaillé, ça allait être un gros problème.
Les commentateurs, le premier truc qu'ils disent, c'est que effectivement, ils commencent à s'inquiéter du greening, de dire que avec le changement de température, les pneus tendres depuis le début du week-end, ils tiennent pas trop, et que bah, peut-être qu'il y a déjà des pilotes qui vont rentrer au stand. À ce moment-là, Weber frotte le mur et rentre au stand derrière. Est-ce que dans le schéma de Ferrari, ils se disent pas à ce moment-là? Et moi, c'est comme ça que j'ai dit, ben ils prennent le pari, ils prennent en dur, ils se calquent sur Weber. Au pire, ben tous ceux qui sont en tendre, leurs gommes vont se dégrader. Et ben le pari, il est gagnant.
Ben moi, honnêtement, je veux pas faire celui qui a tout vu et tout, mais franchement, Rosberg et Petrov, on a vu qu'ils étaient, on savait qu'ils ont mis des durs, qu'ils avaient mis des durs. Et franchement, l'arrêt de Weber. Quand j'ai vu Weber s'arrêter, j'ai dit, il va être derrière ces deux-là, qui de toute façon, ne devraient plus s'arrêter, et donc il devait les dépasser en vitesse. Et Alonso, pareil, lorsqu'il est arrêté au stand, j'ai dit, ben, voilà, il va devoir dépasser Petrov et Rosberg.
Bien sûr qu'on s'est pas dit, il a perdu le titre. Mais c'est vrai que sur le coup, ça faisait bizarre, parce que, oui, on voyait qu'il s'arrêtait tôt.
Mais en tout cas, Ferrari devait avoir cette inquiétude. Enfin, Henri dit,
Par contre, ça, je suis tout à fait d'accord. C'est là où, pour moi, Ferrari, finalement, ne mérite pas d'avoir un pilote champion du monde, parce que quand tu fais tout un pataquès en Allemagne et que tu ternis ton image en laissant passer ton pilote pour qu'il se batte pour le titre, le prétexte, c'est ça, c'est de se dire, voilà, on a quand même un pilote qui peut se battre pour le titre, on veut lui préserver ses chances. La moindre des choses, c'est quand ce pilote arrive pour se battre pour le titre, tu regardes la course, quoi. T'as un écran avec la position de tous les pilotes, avec les écarts. Oui. T'as des stratèges. Oui. Tu payes des mecs des milliers d'euros. La moindre des choses, c'est que ces mecs-là prennent la bonne décision. Tu peux pas demander au pilote dans la voiture de dire oui ou non, alors que lui, tout ce qu'il a, c'est une vision extrêmement personnelle de la course, puisque ce mec-là doit s'occuper de piloter, de regarder dans son rétro et de regarder devant lui. C'est tout ce que fait un pilote. C'est Steph Corr qui le dit souvent sur le blog. Les mecs sont extrêmement dépendants de la radio et de ce qu'on leur dit, des informations personnelles qu'ils reçoivent, etc. Et moi, honnêtement, c'est pour ça que au départ, j'étais décidé à pas mettre Alonso, puis au final, je l'ai mis. Je pense vraiment qu'Alonso, il a été trompé par son équipe et l'erreur de Ferrari en est d'autant plus grande.
Moi, je pense que Alonso, voilà, c'est un double champion du monde, on n'arrête pas de le dire. Bah oui, mais fallait qu'il prenne c'est lui qui joue le titre, c'est Ferrari l'aide dans sa tâche. Mais Alonso aurait dû se renseigner quand même.
Oui.
Je pense que les pneus vont pas tenir sur un stand à tel tour. C'est à ce moment-là qu'il aurait dû dire, est-ce que je vais pas repartir dans le trafic, voilà, et tout ça. Alors que ça, par contre, c'était évident. Par contre, chaque écurie le fait à chaque fois qu'il y a un arrêt au stand planifié. Oui, mais regarde le trafic.
On a dit que Ferrari avait peut-être été un peu optimiste et peut-être une haute opinion d'elle-même. Je pense que Ferrari, McLaren et Red Bull dans les dernières courses, elles ont toutes les trois une très haute opinion d'elles-mêmes en se disant, voilà, on n'est pas là par hasard, on peut pas être devancé par un tel et un tel. Et moi, je reste toujours convaincu que la pole au Brésil d'Hülkenberg, elle est due en fait que les mecs se sont regardés et qu'ils se sont pas occupés du petit Hülkenberg qui venait de signer le meilleur temps et qui l'a gardé jusqu'à la fin de la qualif. Ils s'en sont pas préoccupés parce que eux, les seuls mecs qu'ils voyaient dans leur tableau, c'était, voilà, leur rivaux.
Oui, oui, tout à fait.
Et c'est ça, je pense que Ferrari a été aveuglé. Sur cette course, c'est tombé sur eux, parce que c'est eux qui sont tombés à ce moment-là, qui ont pris la mauvaise décision. Je pense que ça aurait pu être une mauvaise décision prise par les autres. Voilà, sauf que bah, c'est tombé sur eux.
Mais Alonso, on est en partie responsable, quand même, en n'assumant pas son rôle de leader, en fait.
Oui, c'est vrai qu'il en est en partie responsable, mais... Faut aussi remettre en contexte Alonso qui est dans son baquet, qui est en train de gérer une course, qui sait ce qu'il fait, et justement il est peut-être aussi aveuglé du fait que c'est un double champion du monde, qui croit savoir faire ce qu'il fait, et qui a une confiance totale en son écurie. Voilà, pourquoi tout d'un coup Alonso se met à plus jouer le patron?
Bah oui, voilà, c'est pour ça que
c'est ça, pourquoi il le joue plus? Moi je pense qu'il le joue plus parce qu'il a une confiance aveugle, et c'est son tort, c'est d'avoir une confiance aveugle dans ses ingénieurs, mais que je pense aussi à un moment donné que si t'as pas une confiance aveugle dans tes ingénieurs, tu formes pas une équipe.
Tout à fait, mais bon, il aurait quand même dû se renseigner un petit peu.
Ouais.
Je vous propose de passer à la 8ème place.
Ah, ça fait un beau départ. Mais...
Oui. Mais on n'en a pas fini avec Alonso, je vous rassure.
Bon, non, c'est bon, ça y est. Non, mais c'est bon, ça y est, on a, bon, oui, d'accord, il y aura des drafts room. Bon, c'est ouais. Bon,
Tu casses mes effets, t'es gentil.
Ah, mais oui, non, mais c'est bon, là. On arrête de parler de Ferrari, ça y est, on a parlé de Ferrari. Et maintenant, on passe à la suite, hein, d'accord? Vous voulez pas m'énerver sur cette émission.
À la 8ème place, il y a notre chouchou japonais, Kobayashi. Oh. Eh oui.
Qu'est-ce qu'il fout, là?
Non, là, je comprends pas, là.
Moi, je l'ai mis 8ème, c'était vraiment pour compléter, parce que c'est vrai qu'à un moment, il était devant. Bon, et les auditeurs aussi l'ont mis 8ème. Mais faut dire aussi qu'il a été mis 8ème parce que Globen l'a mis 6ème quand même.
Le bordel, Globen, hein.
Il a fait une dino.
Il a supprimé.
Et Steph Core aussi l'a mis 7ème. Oui, c'est pour ça que ça l'a fait un peu grimper. Voilà. C'est vrai que Kobayashi, on l'a vu un peu devant, mais c'était avant qu'il fasse son arrêt au stand. Donc on savait qu'avec l'arrêt, il repartirait à l'arrière.
Je me rappelle, il a fait un dépassement, ou il a tenté un dépassement sur je sais plus qui.
Oui,
je
c'est ça.
Tiens, Kobayashi, faut que je le garde en tête. Et puis en fait, par la suite de la course, j'avais complètement oublié.
Mais c'est ça, parce que je crois que c'est quasiment le seul moment où on l'a vu réellement.
Moi, il me semble que je l'ai mis. Et pour la simple et bonne raison qu'en fait, il a tenté des dépassements, et il a dépassé des pilotes. Je crois à un moment donné, je sais plus, Hamilton ou quelque chose comme ça. Mais où Hamilton était juste derrière.
Ouais,
mais il va provoquer un accident juste devant lui, ça va pourrir un peu.
Ah oui, dans l'épingle.
Finalement, ben il a été très très propre, il a bien dépassé par l'extérieur et tout. Franchement, c'est pas dit ouais voilà, c'est la lutte pour le titre, donc je reste dans mon coin. Voilà, il s'est bagarré. Mais sans foutre le bazar, quoi.
Il a toutes les qualités d'un pilote japonais, un sens de l'attaque inné, mais en même temps derrière, ben une propreté et une efficacité qui en fait pour moi aujourd'hui l'un des grands pilotes d'avenir de la Formule 1. Pas champion du monde, mais
il commence à être trop tu penses qu'il est trop grand pour Sauber, ou Sauber ça serait bien pour lui?
Pour le moment, Sauber c'est bien pour lui.
Ouais. Oui.
Je sais pas si le fait qu'il puisse comme ça taper des gros bras, on l'a vu l'an dernier avec Button, on le voit encore cette année, il a aucun complexe face aux gros bras. Je me demande si cette capacité vraiment à oublier totalement cette pression de l'adversaire va pas l'aider justement lorsqu'il se battra, j'espère qu'il se battra pour le titre un jour, mais lorsqu'il se battra pour le titre face à cet adversaire, est-ce que finalement ça pourrait pas devenir un gros danger pour des mecs comme Alonso, Hamilton, Vettel? Ça pourrait être intéressant.
C'est aussi une qualité que je remarque chez Petrov. Moi j'ai l'impression que Petrov, quand il est face à un champion du monde ou à un top pilote, il se transcende.
Ouais.
On l'a vu face à Hamilton, on l'a vu face à Alonso ce week-end. Faudrait voir toute la saison de Petrov, mais les plus grands moments de Petrov, c'est quand même quand il est face à un champion du monde.
Il fait peut-être partie de ces gens qui ont besoin de la pression finalement.
Ouais. Et c'est vrai que ce que tu dis, Bilo, ça sera intéressant de les voir justement se battre à égalité d'armes, en tout cas à égalité de circonstances avec eux, si vraiment c'est inné ou si c'est juste parce qu'ils sont transcendés et que bah finalement ils ont rien à perdre dans la bataille.
Espérons que l'an prochain ils soient pas trop pénalisés par le fait que c'est vrai que l'équipe va un peu se mexicaniser, tu vois, par rapport à tel mec, deuxième. Non, mais tu vois, même s'il est meilleur, le fait que sur des critères qui sont pas forcément sportifs, hein, on est bien d'accord, mais
De toute façon, Peter Sauber est quand même encore à la tête de l'équipe.
Ouais, bien sûr.
C'est très très bien ce qu'il fait. Je pense que Peter Sauber va justement peut-être, c'est surtout ça qui est important, c'est que Peter Sauber, ce qui est important, c'est qu'il soit là pour fixer des limites. On sait très bien que Peter Sauber, c'est un dénicheur de talent. Il sait traiter des pilotes. Donc je pense qu'il laissera pas tel mec mettre son grain de sable, ostensiblement.
Ouais. On passe à la 7e place. Un autre de nos chouchous de l'année, entre guillemets.
Oh, c'est qui? Hein,
celui dont on parle plus dans l'émission que dans toutes les autres émissions de la F1.
Rosberg?
Mais oui, notre homme invisible. C'est vrai, hein, pour quelqu'un qu'on voit pas beaucoup, on en parle beaucoup quand même dans le SAV.
Oui, je nous remercie.
Le problème, c'est qu'on en parle beaucoup pour dire qu'on ne voit pas beaucoup. Généralement. Ouais. Je suis sûr que...
Moi, je l'ai mis 7e. Les auditeurs l'ont mis 6e.
Alors, finalement, quand je dis les auditeurs, c'est que moi, derrière, je l'en prends pour mon grade. Hein.
Et Dino, rappelle-toi quelle place tu m'as donné.
À 3e, je crois.
Oui, non, tu l'as mis 3e.
Ouais, je l'ai mis 3e.
Alors d'accord. Après tu dis oh on l'a pas vu, Rosberg, on l'a pas vu.
Oui voilà.
Mais justement je trouve que alors par exemple sur Schumacher, j'ai vu sur Schumacher, alors depuis le début de la saison, les duels finalement Schumacher Rosberg, on les a pas trop vus, ou on les a vus à distance, ou mais là on l'a vu attaquer Schumacher, quoi. On l'a vu en position de défense par rapport à Schumacher, il était derrière, il l'a attaqué, il a poussé Schumacher à la faute, ce qui
pour la vue ça a donné.
Et voilà, moi je trouve qu'il a fait une bonne course. Oui, une course à la Rosberg dans le déroulement, etc. Mais on l'a vu d'abord parce que tout comme Kubica et Petrov, il a joué un rôle dans le titre. Et j'ai décidé de promouvoir les trois pilotes qui ont en privé Alonso du titre.
Une Renault en premier?
Non. Oui.
D'accord.
C'est mon paradoxe. Hein. J'ai promu les pilotes qui finalement ont fait perdre mon chouchou.
C'est bizarre quand même.
Ah oui, toujours.
Mais c'est justement, c'est que eux ils y sont pour rien, tout comme beaucoup de Brésiliens s'en étaient pris à c'est Glock, c'est ça,
oui.
qui avait été dépassé par Hamilton, mais Glock il y est pour rien, lui il fait sa course. Ouais. Voilà, mais ces mecs-là ils ont fait leur course et ils ont fait d'excellentes courses.
Et Rosberg, on le voit pas beaucoup et je l'ai dit sur le site, le fait qu'il y ait Petrov, ça a privé Rosberg de beaucoup de minutes de télé quand même.
Oui.
Derrière lui,
parce que du coup, moi, Rosberg, je l'ai mis derrière Petrov. Parce que j'ai plus vu Petrov.
Comme d'habitude, on n'a pas grand-chose à dire sur Rosberg. On passe à la place suivante.
Non, Bilo, vas-y. Hey, Bilo, fais-nous plaisir. Essaye de trouver un truc à dire sur Rosberg.
À part qu'il a fait une course à la Rosberg.
Sort du placard, quoi. Je sais pas. Deviens fan de Rosberg.
Ouais, mais non, mais j'ai déjà dit, voilà, il aurait pu avoir droit à du temps de télé, quoi.
Non, mais exploser son temps d'antenne.
Meuble, je sais pas, trouve un truc, faut qu'on finisse la saison sur une bonne touche sur Rosberg, merde.
Et bien, bah, écoute, il y avait Enzo pour en parler, mais là, il y a plus personne pour en parler. Il finit mieux que Schumi, la saison.
Oui.
C'est une bonne façon de conclure.
En même temps, même passe-partout, il court plus vite qu'une momie, hein, donc c'est bon. Dit-il en étant un ancien fan accro de Schumacher.
Non mais t'as raison, hein, Massa a fini devant Schumi.
Oui c'est vrai.
Méchant. Voilà, les pilotes devraient écouter le SAV quand même, hein, pour voir les...
Quoi, c'est vrai, Massa c'est le plus petit pilote du paddock. Massa dans sa vie il avait pas 36 000 choix de carrière, il pouvait être jockey, gymnaste. Pilote de F1, gymnaste, président de la République, ou nain dans Fort Boyard.
Voilà.
Bon. Il a pris le truc qui payait le mieux quand même.
T'imagines Massa basketteur.
C'est comme dans la pub là sur les jockeys, tu sais.
Voilà. On va passer à la 6e place avec quelqu'un, je pense que ça va être la première fois qu'on le met aussi haut, c'est Rémy Alguersuari.
Ah oui, oui, ça c'est la première fois.
Mais en même temps, c'est mérité au vu de sa course. Sachant que Dino et les auditeurs l'ont mis d'ailleurs, alors 7e, et moi je l'ai mis 6e. À peu près, voilà, dans les mêmes eaux. Alguersuari qu'on a vu pendant la course, je pense que...
T'as mis Alguersuari devant Rosberg.
Ouais, mais franchement, c'est les dernières places, j'ai eu beaucoup de mal,
c'est le symptôme Rosberg, c'est quoi? Rosberg fait une meilleure course.
Voilà,
c'est une meilleure course.
Oui, au final, c'est même pas mérité, t'as tout à fait raison.
il se fait griller par Petrov, il se fait même griller par Alguersuari qu'on a moins vu que Petrov, mais plus que Rosberg.
Oui, mais très bonne course d'Alguersuari, je crois. J'ai pas souvenir même cette année d'avoir vu autant une Toro Rosso. Parce que faut dire, on les a pas beaucoup vus, hein.
Non, on l'a aussi beaucoup vu parce que, il a aidé, il a été en contact avec Weber. Et puis il a retenu Massa. Enfin, c'est aussi ça l'histoire du Grand Prix, c'est que on a Hamilton qui reste qu'un 15-20 tours derrière Kubica, on a Alonso qui reste à peu près 3 courses derrière Petrov, et on a Massa qui reste à peu près pareil, 3 courses derrière Alguersuari.
Ouais. Non, mais Gersoré, bien. En plus, il a la bonne stratégie. Il a, comme Rosberg et comme Petrov, il avait la bonne stratégie. S'arrêter tout de suite. Voilà.
Ils avaient une. Alors, c'est depuis quelques courses, apparemment, les Toro Rosso, elles masquent leur manque de performance par une grosse vitesse de pointe.
Ouais.
Et bah là, à Abu Dhabi, la grosse vitesse de pointe, vu que c'est quasiment, faut être honnête, le circuit, c'est dans. J'ai vu le début de l'émission hier de Autocritique et c'est Jackie X qui le soulignait. Enfin, le circuit, il est pas favorable au dépassement. Dans la mesure où t'as des faibles écarts en vitesse de pointe, les mecs derrière, ils peinent vraiment à faire la différence. Et ce qui est arrivé à Hamilton, à Alonso et à Massa, ils ont pas pu faire la différence. Même Weber, il s'est jamais rapproché à plus d'une seconde. Alors pourtant, Alonso, il était derrière Petrov. Parce que voilà, je pense qu'avec la vitesse de pointe, avec le fait que les virages de la fin du circuit sont quand même des virages, t'as une trajectoire, t'en as peu deux, tu peux pas faire la différence là-dessus. Voilà, je pense que c'est pour beaucoup, c'est là que la course se joue.
Je sais plus qui c'est qui l'a dit, mais c'est à propos de l'épingle avant la ligne droite, quoi. C'est vrai que c'est n'importe quoi. En sortant d'une épingle, on peut pas prendre la.
Mais moi, je pense que c'est Lafitte l'a dit pendant les essais ou la qualif. À l'origine, ils avaient pas prévu de faire la petite chicane avant la ligne droite. Ils avaient prévu qu'il y ait l'échappatoire par où ils sont passés au moment de la safety car.
En fait, il y a deux configurations de piste, quoi.
Mais en fait, au départ, ça devait passer comme ça tout droit, et c'était bien d'ailleurs que ça passe tout droit, parce que les voitures, elles arrivaient à fond. T'avais un gros freinage, et là, pour le coup, des vraies opportunités de dépassement. Le problème, c'est qu'apparemment, il y avait pas suffisamment de dégagement, parce qu'au cas où qu'un mec se rattrape au freinage, blablabla. Et donc du coup ils ont fait cette espèce de chicane où t'arrives honnêtement t'as pas pris suffisamment de vitesse ou pas suffisamment d'aspiration parce que tu sors de l'espèce de d'eau rouge inversée très très joli virage d'ailleurs les premiers virages et donc finalement tu passes l'épingle t'es pas doublé tu passes la chicane t'es pas doublé tu passes l'épingle t'es pas doublé si t'as pas la vitesse de pointe suffisante et une bonne sortie de virage au début de la ligne droite t'es mort pour le restant du tour.
Faut le mettre au chômage, Thaïs, hein, parce qu'il nous fait vraiment n'importe quoi.
Ça dépend, parfois, il a des fulgurantes, j'ai envie de dire.
Il y a des trucs intéressants dans le circuit, mais je pense quand même que, faire une grande ligne droite pour finir sur des chicanes qui se prennent très lentement,
je
suis pas sûr que ça soit vraiment des opportunités de dépassement.
Ouais, alors qu'une épingle, ça te coupe dans ton
lancement. Ouais. C'est ça le problème de Tilk, c'est qu'il envisage pas son circuit comme des portions. La Turquie, la Turquie, tu sors du numéro 8. À partir du moment donné où tu sors du numéro 8, chacun de tes gestes dans la voiture va conditionner le freinage de la dernière épingle. Et t'as 1 km, même presque 2 km de piste entre les deux. Tu fais une erreur à ce moment-là, l'erreur elle peut te coûter cher. Là, c'est sûr, tu fais une grande ligne droite, mais à la fin, t'as une chicane. Si tu rentres bien dans la chicane, tout revient à zéro.
Ouais.
Donc c'est sûr que derrière dans la longue portion de pleine charge la ligne droite des stands GP2, t'as pas forcément le temps de faire la différence, de reprendre suffisamment de charge pour aller chercher à l'autre épingle. C'est ça, c'est des longues pleines charges et derrière une épingle.
Ouais, ça c'est
sûr. Un autre à rajouter sur Alguersuari?
En fait, on n'a pas parlé d'Alguersuari.
C'est pour ça.
T'en viens de dire, ça se trouve, ce mec, tu vois, il a commencé à 19 ans, avec du bol, et en continuant de progresser un peu, il pourra peut-être être le plus jeune champion du monde de l'histoire. Parce qu'il a que 20 ans.
Oui.
Voilà, et ce mec, il a que 20 ans, il a encore 3 ans devant lui, et qui sait ce qu'il peut faire en 3 ans, quoi. Tu sais, par un hasard, ou un coup du sort.
Weber, si Weber part d'ici 2 ans, Alguersuari.
Et voilà. Et imagine,
à terme, rien.
Rien
ne dit non plus que Vettel ne partira pas un jour de Red Bull. C'est encore une place.
Ouais.
Bon, ils vont le garder longtemps, on est d'accord, mais...
Ils vont devoir y mettre le prix pour le garder.
Oh oui.
Voulu Vettel champion...
Crois-moi que le contrat, ils vont déjà bien le bétonner. Hein.
Ils ont même pas encore signé le contrat jusqu'en 2015. Ça fait 6 mois qu'il est sur la table, il n'est pas encore signé. Ça veut dire que Vettel, il va arriver en disant « Écoutez, là maintenant, c'est plus Vettel qui signe, c'est le champion du monde 2010 qui signe. » Donc là, vous voyez, le petit 5 millions, vous rajoutez un devant. Hein.
Il y a plein de possibilités entre un Massa qui est fragilisé, peut-être un Button, je sais pas combien de temps il restera chez McLaren.
Moi, je pense à un après Alonso. Non, mais honnêtement, moi, je pense à un après Alonso. Je pense que si Red Bull assure bien, je pense que Vettel restera encore quelques années.
Moi, pendant longtemps, quand on disait Alonso chez Ferrari, je disais, mais pourquoi prendre Alonso chez Ferrari alors qu'ils peuvent prendre Vettel?
Ouais.
Dans l'idée que Vettel, bien évidemment, faut pas oublier que Vettel, en 2020, il aura que 33 ans.
Ouais.
Eh oui, ça pourrait laisser de la place pour Alguersuari.
Ah, le rêve, c'est un duo Hamilton-Vettel. Ah ouais, non, mais alors là, Hamilton-Vettel, chez McLaren, tu repeins les voitures en blanc et en rouge et c'est bon, tu y es.
On va passer à la cinquième place par un pilote Renault.
C'est lequel?
Lequel? D'après toi, c'est lequel?
Non, c'est Kubica.
Ouais.
Eh ben oui, raison, c'est Kubica.
Bah, vu où j'ai mis Petrov aussi,
Kubica.
Si, contrairement à Alonso, je fais des calculs, hein.
Que j'ai mis, d'ailleurs, quatrième Kubica.
Même chez lui, ça surprend qu'il ait mis quatrième.
Oui!
Putain, je l'ai mis quatrième.
Mais là, en fait, toi aussi, tu l'as mis quatrième et les auditeurs l'ont mis quatrième.
C'est un petit schlep.
Mais voilà, c'est un petit schlep, mais au final, il se retrouve une petite place en moins. Parce que bon, on va dire qu'il y a des fulgurances qui font que certains passent devant. Au final, on peut dire que c'est quand même une belle fin de saison pour Renault, enfin, sur cette course.
Renault, clairement, pour moi, c'était la quatrième force, quoi. Le problème,
oui, sur la fin de saison, oui.
Ils ont démarré très loin.
Même sur toute la saison, je pense que Renault aurait pu battre Mercedes si elle avait, au lieu d'un Petrov, un pilote un peu plus calibré, quoi.
Ah oui, oui, je pense aussi.
Sans faire de Petrov, qui a pas démérité, mais voilà, quoi.
Faut aussi tenir compte du fait que, mais depuis le mois de juin, Mercedes, ouais, ils en foutent pas lourd sur la W01. Hein, je pense que ils ont déjà commencé à bien y réfléchir au mois de juin et qu'au mois d'août ils se sont dit bon alors hop les mecs, la W01, on va la mettre dans le musée, d'accord, et on va s'occuper de la W02.
Et au mois d'octobre ils se sont dit bah mince, on a loupé la voiture, on va en faire une autre.
Oui. c'était qui avait fait ça? Bah BMW.
Ouais.
C'était arrêté, qui avait sacrifié Kubica sur l'hôtel de on sait pas quoi. Il avait dit non mais t'inquiète pas, tu te bats pas pour cette année, tu l'auras l'année prochaine. Oui, bien sûr.
Bon. Donc alors, belle course de Kubica.
Bah oui, alors pour le coup, stratégie très différente des autres, hein, du coup.
C'est généralement c'est la stratégie du 11e, hein, il part en dur et puis il espère que ça passe.
Ouais. Ah,
il a dit, hein. Il avait dit voilà, c'est la première fois que je vais pouvoir choisir mes pneus, c'est ce qu'il fallait faire. Bien joué. En plus, belle résistance. Ça qui m'a étonné, c'est qu'il a résisté à Hamilton. Et quand j'ai vu Hamilton attaquer quand même, il a quand même attaqué plusieurs fois Kubica. Et je me disais, ouais, Kubica, c'est dommage, parce que voilà, Hamilton l'attaque, donc du coup, il perd du temps, il peut pas faire une stratégie. Et en fait, il a quand même roulé plus vite que Rosberg, Petrov. Voilà. Voilà.
C'est vrai que moi, c'est terrible, Kubica. Pourtant, on l'a vu, hein, mais là, même là, c'est insensible. Ah, j'ai du mal avec ce mec.
Ah, mais l'an prochain, tu verras, ça se trouve, l'an prochain.
Pour peu que la voiture soit bonne, ouais.
Ah, mais c'est ça le truc, c'est qu'il est très bon, enfin. Mais je ne suis pas du tout sensible à ce pilote, enfin, c'est. Y a pas de magie dans ce qu'il fait, enfin, moi, selon moi, de mon point de vue, y a pas d'éclat, c'est très professionnel, c'est un peu comme Hedfeld, moi, ouais. pour moi, c'est un peu le même sentiment.
Mais peut-être y a pas les armes pour lutter finalement. Si on lui donne une Ferrari, c'est qu'il va aller lutter contre Alonso, Hamilton.
Parce que même au moment où par exemple il était chez BM et que la BM était vraiment très bonne, t'avais pas forcément non plus cette impression.
Ouais, c'est vrai.
On va passer à la suite et on va passer à des ex-aequo.
Ouais, donc la troisième place.
Ah, la troisième place.
Putain, qu'est-ce qu'il y a comme mec sur le podium, dis donc. Ils sont moins quatre.
Oui, c'était fort.
Au moins, j'ai dit au moins. Ils sont cinq.
Non. Ils sont quatre.
Donc on a un deuxième et un premier.
Oui.
Ah non. Je trouve qu'il y a deux premiers ex aequo.
Ouais, mais non.
Ah oui.
Ouais, mais non. Arrête, tu dis. Fais pas de suspense, arrête. Tout le monde l'a mis premier.
Donc, et troisième, celui qui a fini troisième, Jenson Button.
J'avais oublié celui-là, dis donc.
Course à la Button.
Button, que j'ai mis troisième, que Hamilton a mis troisième. Et toi, Dino, tu l'as mis que sixième. Mais en même temps, t'as mis beaucoup de monde devant aussi.
Bah, là, vu que j'aime bien les, c'est mon paradoxe, c'est que j'aime bien les courses de défenseurs. Je me suis tombé avec quatre mecs qui ont bien défendu, et je les ai mis devant. Enfin, au moins pour trois d'entre eux.
Quelque chose à dire, Bilo, sur Button?
Bon départ, et puis.
Ouais.
Il a été à son aise ce week-end, voilà. Mais bon, c'est un peu trop tard.
Certains ont dit dans les commentaires, je crois que j'ai lu, certains ont mis, il était libéré.
Ouais.
Ah,
un peu
ouais.
Comme l'an dernier, finalement. L'an dernier, le titre était dans sa poche, il s'est libéré, il a fait une belle course à Abu Dhabi. Là, ouais, le titre était, il pouvait plus jouer le titre, il s'est libéré.
Ouais, c'est, oui.
Puis nous a fait du Button, quoi. Il nous a fait le mec, il a quand même, avec ses pneus tendres et la tenue,
oui. Voilà.
15 tours de plus que Vettel, quoi.
Oui.
30 tours de plus qu'Alonso.
Le truc, c'est que, tu vois Kubica, il s'arrête super tard, 45e tour, il a des pneus durs, et Button, il s'arrête quasiment en même temps, mais lui, il a des tendres. Voilà.
C'est ça qui m'a énervé en plus, tu vois. C'est, tu te dis, voilà, on te dit que Alonso, il économise bien ses pneus. C'est avec Button, c'est le deuxième derrière. Et là, tu vois, putain, il ravitaille 15 tours avant avant Vettel et Hamilton. Et Vettel et Hamilton, ils ont ravitaillé 15 tours avant Button. Il aurait pu jouer. C'est vrai que, non, mais c'est vrai que quand tu y repenses, t'as raison, Bilou. Il aurait pu jouer la deuxième place. Putain, je me refais la course.
Espérant qu'il garde son avantage l'an prochain avec les nouveaux pneus, ce serait con parce que c'est quand même le grand truc de Button, quoi, l'économie de pneus. Ah, vous imaginez si les grilles à une vitesse folle l'an prochain?
Ça, mais ça pourrait être ça.
Ça peut tout à fait. Voilà.
L'intention de Pirelli, la première intention, c'était de faire des pneus qui assurent le spectacle. Donc des pneus qui tiennent pas forcément aussi longtemps que les Bridgestone. Et l'année prochaine, ça pourrait être de la même manière que la consommation a été un atout cette année. Les voitures qu'on peut consommer, les Red Bull, avaient un petit avantage parce qu'elles partaient plus légères. Mmh. Je pense que le mec qui saura économiser ses pneus l'année prochaine aura sa carte à jouer.
Ouais, pour Button, ouais.
Bah déjà, on avait vu dans l'autre sens, ça fait en 2007 quand tout le monde est passé en Bridgestone. Ceux qui étaient des habitués des Michelin ont souffert au début. Ils ont eu des
débats.
Et je pense que l'an prochain, il y en a qui ont du mal avec les Pirelli.
Ouais. Parce que c'est vrai que sur la saison, Button, souvent quand il s'est distingué, c'est par rapport à ses pneus.
Mais de ce point de vue-là, le duel Button-Hamilton l'année prochaine sera super intéressant.
Oui, il y a plein d'autres choses. Il y a le fait aussi que peut-être la voiture lui conviendra mieux.
Parce que c'est un pilote que je vais suivre l'année prochaine.
Ouais, pourquoi pas.
Ça reste une des plus belles paires, hein, quand même, du paddock, hein.
La plus belle.
Ouais, la plus homogène, ouais, on peut.
La plus complémentaire.
Ouais.
C'est voilà, la plus complémentaire parce que bon, bah chez Ferrari ils sont complémentaires mais à leur manière.
Ouais. C'est pour ça aussi que je parle d'homogénéité. Et donc je vous ai dit qu'il était ex aequo avec quelqu'un d'autre.
Ah, je sais qui c'est. C'est pas son coéquipier.
Non, voyons. Alors, est-ce que c'est vraiment par rapport à sa course ou parce que le fait qu'il était devant, vous savez qui? Mais c'est Petrov. Petrov qui fait quand même place sur le podium, je crois aussi que ça va être son meilleur résultat au SAV, hein. Troisième.
Ouh, non, je suis pas sûr, je crois qu'il a fait une deuxième.
Une deuxième?
De Malaisie. Oh, je suis pas sûr.
J'ai un doute.
Oh non, il a jamais été sur le podium, je pense pas.
Ouh, j'ai un doute.
J'ai regardé le classement du SAV.
Oh, putain, il y a des gens qui regardent.
Oh, bah oui, mais quand tu sais pas quoi faire sur le site, voilà.
Oh, on s'occupe tout le temps sur le site. Ah non, effectivement, ça, c'est la première fois qu'il est.
Il a fait des quatrièmes quand même.
Quatrième place en Chine, quatrième place en Hongrie.
Ouais,
et sinon, deux cinquième place et une neuvième place.
Petrov, que j'ai mis cinquième, que les auditeurs ont mis cinquième, et toi, Dino, tu l'as mis deuxième.
Ouais.
Ben, tu t'aimes te faire du mal, hein.
Non, mais encore une fois, je suis logique par rapport à mon discours, j'aime bien les pilotes qui défendent, il a magnifiquement.
Ah bah oui. Ça,
voilà, c'est l'argument que j'avais donné aussi pour Hülkenberg la semaine dernière. Il a magnifiquement défendu, il a fait sa course. Alonso l'a lui-même reconnu, il a dit, il a très bien piloté, il a pas fait d'erreur, il a joué chaque tour comme si c'était les derniers tours du championnat du monde et qu'il se battait pour être champion du monde. Oui, pour moi, il a fait une excellente course, et il confirme un petit peu, moi, ce que je pense depuis le début de saison. Je pense qu'on est sévère avec lui, notamment Nick Heidfeld.
Ouais.
Ah oui.
Il a dit que, on savait pourquoi il était en Formule 1. Voilà, je pense que effectivement, c'est un pilote payant, mais je pense qu'il a, il est pas mauvais. Voilà, c'est pas un pilote transcendant. Je l'avais dit donc au cours de la saison. Je pense un pilote qui restera quelques saisons en Formule 1, dans le ventre mou du peloton. Voilà.
On l'avait dit. C'est pas forcément un pilote qui va gagner des courses, mais par rapport à son niveau, il a tout à fait sa place en F1. Voilà.
Est-ce qu'il pourrait se battre pour le titre l'an prochain? Bon, c'est une question ouverte. Hein.
Non. Voilà.
D'accord.
Non mais c'est vrai, parfois toilette.
Tu sais que par exemple pour une équipe petite ou moyenne, ils sont un peu verts, mais un duo Petrov-Hülkenberg, je trouve que ça a de la gueule.
Ah bah tout à fait, oui.
Ouais.
Mais je trouve même cette année, alors on dit que Vettel c'est l'illustration d'un pilote qui est extrêmement jeune et qui a une maturité assez impressionnante, même si il a montré des hauts et des bas cette saison. Et je trouve que c'est aussi un fait qui caractérise les nouveaux, hein, Petrov, oui. Kobayashi, Hülkenberg, c'est des mecs qui ont une maturité qui est assez étonnante. Et je pense que le GP2 est décidément une très bonne école.
C'est ça, je pense que c'est ça, c'est le côté GP2. Il y a une marche, mais la marche est moins haute qu'avant. Il y a une vraie formule de préparation à la F1.
Voilà, il y a des mecs qui se révèlent au contact de la Formule 1. Je pense que maintenant, avec le GP2 qui est quasiment l'antichambre de la Formule 1, je pense que les mecs, ils se révèlent vraiment vraiment avant. Dès le GP2, tu fais déjà le tri entre le bon grain et l'ivraie.
Ouais, En effet, on fait le tri, mais faut pas non plus, comme justement un bon pilote de GP2 fait pas forcément un bon pilote de F1 et vice versa, faut pas non plus exclure forcément complètement ceux qui sont, on va dire, un peu moyens en GP2, parce que ça peut parfois être juste des graines qui n'attendent qu'à éclore, en fait.
C'est Kobayashi, c'est Alger Suari.
Voilà.
On a la preuve, Alger Suari, il a jamais fait de GP2, il est venu de la Formule Renault 3.5, je crois, il avait même pas...
L'an dernier, il a fini la saison de F1, et il a fini
la saison de Formule 3.5.
3.5. Il était 6e du championnat 3.5 en 2009, ouais. Donc
oui.
Franchement, on pensait pas qu'il allait faire, qu'il ferait ça, quoi.
Voilà, quand on a enfin des professionnels à la tête des écuries, je trouve qu'on laisse plus de temps aux pilotes.
C'est vrai que il faut les bonnes personnes pour aider les pilotes, quoi. Sinon ils sont détruits.
Ah, tout à fait. On passe à la seconde place.
Oui.
Vous en doutez.
Tu pourras parler, Bilo.
C'est Lewis Hamilton que j'ai mis deuxième, que les auditeurs ont mis deuxième. Bon, Dino, tu l'as mis que cinquième. Mais bon, on connaît ton classement.
Et après, tu dis que les auditeurs, ils crachent sur Hamilton, ils le démontent et tout. Voilà,
ah non, mais là, j'ai pas démonté, c'est je l'ai juste, j'ai juste promu d'autres pilotes devant. Ouais. C'est vrai que quand même, au début de saison, bah, c'est pareil, je suis pas fan d'Hamilton, mais au début de saison, faut quand même reconnaître que parmi les auditeurs, il y avait, c'est pas un critique que je fais, c'est juste un constat. C'est vrai que Hamilton, dans le classement du SAV, il est pas forcément là où il devrait être.
Bah oui.
C'est, il a quand même dans le classement du SAV, il a quand même été très très rapidement largué par Alonso, Vettel et Weber, alors qu'il fait aussi une très très belle saison.
Bah c'est une polémique aussi qui ont fait.
Ouais, c'est ça, hein, c'est le début de saison avec tous les trucs qu'il a fait.
Oui, voilà, oui, mais ouais, il y a ça aussi. Puis je pense aussi qu'il y a, qu'on le veuille ou non, comme tous les grands champions, comme Alonso et comme Vettel à un moment donné, il y a aussi un coefficient de, il y a 50% des gens qui les aiment et il y a 50% des gens qui l'aiment pas.
Mais après,
et forcément, bah, ça crée ça renforce aussi, les sentiments.
D'ailleurs, on peut saluer le fait qu'il a fait beaucoup de conneries dont on s'est plaint en début de saison. Alors, je sais pas si c'est un rappel à l'ordre de son équipe ou est-ce qu'il s'est calmé. Mais vous remarquerez qu'après, sur le reste de la saison, il n'y a plus rien eu, hein, pour Hamilton.
Alors que pourtant, avant la course, Abu Dhabi, il a déclaré, oh, ben, moi, j'ai pas de pression, moi, je vais prendre tout et risque et tout. Et finalement, ben, il n'a pas foutu le...
Il m'a énervé sur ce coup-là, d'ailleurs, parce que, je trouve qu'il a essayé de se donner une image, enfin, il a fait de l'intox, puis il a essayé de se donner une image qui est pas la sienne, en plus, parce que c'est...
Non.
Je savais très bien, en lisant ses propos, qu'il allait pas faire ça, puis il a essayé de jouer les petits caïds en conférence de presse, ça m'a fait rire. Je dis ouais bon écoute Lewis c'est pas forcément nécessaire non plus.
Qu'il soit dans une position d'attaquant c'est bien mais voilà. Qu'ils disent bon ben voilà je vais essayer de gagner, faut que je gagne, puis après on verra, oui c'est plutôt ça qu'il aurait dû dire.
Mais je pense que la présence de Button lui a apporté beaucoup.
Ouais voilà, ça lui a rappelé que...
Ça lui a mis un vrai repère.
C'est vrai qu'on s'est beaucoup moqué d'eux, hein, sur les trucs Vodafone et tout. Faut avouer que ouais ils s'entendent bien. On se moque, mais est-ce que ça va durer? C'est vrai que bon, même si Button a joué le titre jusqu'à Osco Brésil, il a quasiment toute la saison été derrière Hamilton.
Oui.
C'est-à-dire puis qu'il il a été devant, puis quand Hamilton vraiment s'y est mis, au début de l'été, c'était fait.
Même le fait que McLaren ait passé sa saison à courir derrière Red Bull, puis derrière Ferrari, voilà, on l'a vu chez Red Bull, hein, les conflits, ils éclatent quand tu domines et que t'as vraiment deux voitures qui sont là et que les deux sont seuls sur Terre.
Comme McLaren en 2007.
Oui, ou même comme McLaren à l'époque Prost-Senna, hein, ça éclate pourquoi? Bah, ça éclate parce que c'est les seuls, parce qu'il y a personne d'autre. Donc forcément, les sentiments sont exacerbés. Là, il n'y avait pas de raison que ça éclate puisqu'ils étaient pas en train de se battre. Donc voilà, ils ont plus travaillé ensemble qu'autre chose. On verra effectivement s'ils sont dans la position, si l'année prochaine la McLaren elle cartonne et que effectivement on sent que le pilotage plutôt coulé correspond bien aux pneus Pirelli et que Button fait vraiment jeu égal en termes de performance avec Hamilton. Là, on verra comment ça tourne.
Vous pensez qu'Hamilton avait ne serait-ce qu'une chance de rattraper Vettel, ou de toute façon Vettel devant c'était foutu dès le départ?
Je pense que Hamilton aurait pu mettre la pression sur Vettel, mais si Vettel avait gardé sa marge, une petite marge de 2 secondes comme ça, je pense qu'Hamilton serait dit, ça sert à rien que j'aille vraiment interférer dans la bagarre, voilà.
Ce qui est un peu mon regret, c'est que finalement, on a beaucoup parlé de Ferrari, mais finalement, oui, ils sont allés chercher leur titre Red Bull, mais avec les écarts qui ont été faits par les mecs en stratégie décalée, ils ont jamais finalement vraiment été menacés. Enfin, Vettel, en dehors du départ, il a jamais vraiment été menacé. Alors que moi, je pense effectivement qu'Hamilton, il aurait pu mettre la pression Je pense que ça aura peut-être changé la course.
Je pense que Red Bull aurait dit à Vettel, voilà, tu fonces, parce qu'une deuxième place, ça permet à Alonso de finir hors du top, de finir neuvième en étant titre. Donc je pense qu'ils auraient dit, voilà, 7 points, c'est quand même assez important.
Ils auraient dû, alors, ouais, y aller.
Il y aurait eu la question.
Ah oui, oui, ça, oui.
Ouais, je pense qu'il y aurait eu la question. C'est là où on se rend compte finalement que le titre de Vettel, il tient pas à grand chose. Il tient à 4 points et on les voit où ils sont les 4 points. On voit que ils sont dans Petrov, Rosberg et Kubica et qu'ils sont aussi dans le fait que Hamilton n'a pas pu être le challenger qu'on le voyait être au départ. Moi j'avais dit, pour moi une victoire d'Hamilton c'était le titre garanti pour Alonso et là ça aurait été intéressant justement de voir la réaction de Red Bull.
D'un accrochage.
Oui c'est ça, c'est surtout ça, c'est le risque de l'accrochage.
Oui.
Est-ce que voilà en se disant virtuellement on sera peut-être plus champion mais on sait jamais s'il arrive un problème à Alonso ou si à ce moment-là on demande à Weber vraiment d'attaquer d'essayer de gagner une place ou voilà enfin à ce moment-là il y aura peut-être une stratégie d'équipe enfin c'est ça je regrette finalement on s'est un peu arrêté à la boulette de Ferrari et le titre se résume un peu à ça. Ça manquait un peu de dramatique sur la fin et je pense que Hamilton s'il avait été derrière il y aurait eu un peu plus de dramatique.
On va passer à la première place au grand gagnant hein. Au grand chelem, puisque tout le monde l'a mis à la première place.
J'ai dit.
Même toi.
Bien sûr, t'es fou, je l'aurais pas mis à la première place, moi, jamais de la vie.
C'est Vettel qui nous a fait, j'ai presque envie de dire une course à la Vettel. Il part devant. Voilà, il fait partie de ses pilotes. On l'avait dit d'ailleurs au Brésil. On avait dit, quand on l'avait vu partir devant, on savait que c'était quasiment cuit. Là, j'ai envie de dire, c'est presque pareil. À partir du moment où, justement, Hamilton pouvait pas vraiment le suivre.
Moi, il m'a impressionné, c'est face à Button.
Ouais.
Quand Vettel ressort des stands et direct, il claque le meilleur tour.
Ah oui.
Et là, j'ai trouvé le Vettel que j'adore, quoi.
Ça, c'est le truc des grands champions, ça, claquer des tours.
C'est et je me suis dit y a pas de suspense. Et ça fait partie des choses qui m'ont fait peu à peu me sortir de mon état très énervé par rapport à Ferrari et commencer à apprécier le titre de Vettel.
Mais Vettel, c'est quand même incroyable la différence entre le Vettel des toutes premières courses et des toutes dernières courses au Vettel de durant l'été, quoi.
Cet été, ouais. Il y a eu un peu trois phases. Il y a eu la première phase. Les toutes premières courses où c'était la voiture qui avait des pépins.
Ouais. Lui, il a été très fort sur le début de saison.
Fort, hein, ouais. C'est la voiture qui a pas suivi. Puis c'est vrai qu'il y a tout ce printemps, été, avec la montée en puissance de Weber, le retour de Ferrari et tout, où on en a parlé, mentalement, il y avait un truc qui allait pas, quoi.
Mais moi, je pense que les larmes qu'il a eues dans le casque.
C'était très beau, d'ailleurs.
Et c'était magnifique, mais je pense que ces larmes-là, elles datent pas ce week-end. Hein. Je pense que ces larmes-là, elles datent du mois de mai. Je pense que depuis le mois de mai, il se dit « Mais je suis champion du monde. Ça me tend les bras. Tout le monde le dit. Voilà. J'ai la meilleure voiture. Aujourd'hui, j'ai la meilleure équipe. Tout le monde le prédit. » Et je pense qu'à ce moment-là, je pense que dès le mois de mai, il se dit « Merde, je suis en train de le perdre, ce titre. Je suis en train de le perdre. » Et je pense que...
Soulagement.
Je pense que c'est vraiment un soulagement, mais je pense vraiment que ça remonte à très loin. Et je pense que déjà, dès le mois de mai, il s'était lui-même mis la pression. Parce que c'était quand même étonnant qu'il se mette à craquer comme ça face à Weber. Je pense qu'il a perdu les boules en plein milieu de saison. Qu'à un moment donné, il s'est dit, de toute façon, le titre, il est perdu, je joue ma carte, j'y vais à fond.
On l'a dit toute la saison, et même hier, d'ailleurs, autocritique, je crois que c'est Moncé qui l'a dit, Vettel, il aurait pu... On a eu une saison formidable avec 5 pilotes qui jouent le titre, c'était génial. Mais on aurait pu avoir une saison à la Ferrari avec Vettel, avec 50 points d'avance sur tout le monde pendant toute la saison. Comme l'an dernier.
Ça avait été le grand échange de mots avant le Brésil entre Red Bull et Ferrari. Hein. Ferrari qui avait dit, mais nous, avec cette voiture, ça fait longtemps qu'on aurait été champion du monde. Enfin, quand on voit Abu Dhabi, on en doute. et Ferrari qui a dit, oui, mais avec le moteur, et Red Bull qui a dit, oui, mais avec le moteur Ferrari, nous aussi, on aurait été champion du monde.
Renault.
sur plein de sites de sport, des commentaires qui disaient, oui, Alonso, ou Hamilton, sur la Red Bull, ils auraient été titrés tout de suite, non, ils ont fait autant d'erreurs que Vettel.
Oui.
Voilà, Vettel, il a fait. Comment on remarque que Vettel a fait plus d'erreurs? Parce que c'est lui qui est le plus rapide intrinsèquement cette saison. Voilà.
Mais je pense que Vettel, il a connu au mois de mai-juin ce qu'a connu Hamilton au mois d'octobre, octobre-novembre, en 2007. Je pense que, voilà. Le seul truc, c'est que Hamilton, il c'était en fin de saison et il a fallu du temps.
Mais Hamilton, le truc, c'est que Hamilton en 2007, c'était peut-être vraiment tôt. C'était sa première saison.
Non, mais c'est, disons, sur la comparaison, je pense que Hamilton, c'est seulement dans les dernières courses que on s'est dit, le titre peut pas lui échapper. Mm. Sauf que, faut être honnête, dès le début de la saison, au bout de 3-4 courses, on se dit, la Red Bull, mais le mec, Vettel, il doit être champion.
Oui.
C'est même plus, il peut être champion, c'est que ce mec-là, il va être champion, il y a plus de suspense. Parce que la voiture, on voit bien qu'elle domine, on voit bien qu'elle est la plus rapide. Et voilà, c'est quand même le chouchou de l'équipe, on le sait dès le début de la saison. Et on sait qu'intrinsèquement, il est un peu plus fort que Weber. Et je pense qu'à un moment donné, les boulettes qu'avait fait, Hamilton en fin de saison, qui lui ont coûté le titre en 2007, je pense que Vettel, il a fait pareil, mais en plein milieu de saison. Ce qui lui a laissé le temps de se poser, au moment des vacances, de se poser, de regarder la situation, de se dire, j'arrête de faire le con, et je me reprends.
Mais les quatre dernières courses, il fait le truc parfait, quoi. Je veux dire, à chaque fois, c'est le meilleur en qualif, et le meilleur en course des prétendants au titre. À chaque fois, il a été devant. Sans ta panne en Corée, il aurait été encore plus devant. Ouais. Et c'est fou, comme depuis le Japon, il est là, quoi.
On est quand même sur des fins de saison un peu énormes pour Vettel Alonso. C'est pas étonnant d'ailleurs qu'au final, soit.
La fin de saison, ça a été un duel. Mais deux mecs qui avaient tellement de retard il y a trois mois que c'est devenu un quintet. Mais voilà.
On est champion du monde sur une saison, pas sur quelques courses. Voilà, Weber a connu son moment de gloire.
C'est pas passé loin. C'est pas passé loin quand même pour Weber au final.
Ouais. Mais c'est là où il y a la question du mérite souvent qui revient. Je crois que c'est Alex Manner qui dit que pour lui ça Vettel qu'il le mérite moins par exemple que Weber, je crois. Le truc c'est qu'il faut pas se rappeler, c'est qu'une course, celui qui gagne à la fin, c'est celui qui passe la ligne d'arrivée en premier. La ligne d'arrivée, elle a été dépassée par Vettel. Un championnat, c'est 19 courses. Oui, ils ont tous eu leur petit moment de creux. Celui qui s'en est mieux sorti, qui s'en est sorti le plus fort, ça a été Vettel.
Les 5 auraient fait de beaux champions, faut le dire, sur la saison. Après, on le sait parce que ça a été dit, et on sait que si ça s'était passé, ça serait ressorti, qu'avec Alonso, il y aurait eu, on va dire, quelque chose.
Surtout avec moins de 7 points d'écart.
Voilà.
Oui, non, mais c'est pareil. Moi, c'est 7 points d'écart, ça m'a toujours fait rire parce que...
Non, mais on est d'accord, mais t'es d'accord que ça serait ressorti.
Oui, ça sera sorti, mais ce genre de raisonnement, c'est ridicule de parler 7 points d'écart parce que la gestion de la fin de championnat avec... ou sans les 7 points aurait été différent de la part d'Alonso.
Mais t'es d'accord que ça serait ressorti?
Oui, ça serait ressorti, mais...
bien qu'il le mérite, bien qu'il l'aurait mérité.
Mais moi je pense que honnêtement ça serait ressorti. Donc, moi je reste convaincu que les 7 points qu'il a gagnés en Allemagne, il les a perdus quelque part ailleurs.
Je sais pas, parce que Italie, Singapour, Corée, déjà ça fait 3 victoires, donc déjà il peut pas faire mieux. Japon et Brésil... il aurait pas pu faire mieux non plus, parce que les Red Bull étaient quand même au-dessus du lot.
On n'en sait rien. Voilà, on sait pas ce qu'il aurait pu faire. Peut-être qu'il aurait pu déchirer sur la fin de saison. Peut-être qu'il aurait pu ne rien foutre. Certes, il avait peut-être pas les moyens de faire mieux, mais je pense sur certaines qualifs ou dans certaines courses, il y a des décisions qu'il aurait prises qui auraient été plus offensives, ne serait-ce que sur le final.
Ouais,
c'est ça. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on peut pas ensuite dire oui, il aurait pu faire mieux là, etc., etc. On sait pas ce qui serait devenu de la fin du championnat sans ces 7 points.
Ouais, tout à fait.
Peut-être que même ça se trouve, ça aurait relancé Massa, qui serait devenu un vrai rival d'Alonso en interne et que ça aurait fait pchit Alonso, quoi.
Ouais, mais voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire aussi, c'est la manière dont il a gagné les 7 points. Quoi. Je pense pas que le fait que qu'Alonso ait tout de suite été bombardier numéro 1 tout de suite à la mi-saison, ça aurait pas pu. C'est pas tant les 7 points, mais c'est le fait la manière.
On est bien d'accord, c'est sur l'image et que ça aurait d'une certaine manière terni. Maintenant, je pense aussi que derrière, si on creuse un petit peu, et je pense que les gens qui suivent la F1 depuis longtemps savent très bien que la saison, elle ne se serait pas jouée sur ces 7 points-là.
Ouais, mais moi, ce dont je parle, c'est pour l'image, c'est vrai.
C'est ça.
Pour avancer dans l'émission, je voulais revenir sur un autre événement de la course. Et en plus, Dino, c'est par rapport à un pilote que tu as mis dans ton classement, que tu as mis 10e, qui est en fait Schumi. En fait, c'est pour revenir sur l'accident qu'il y a eu, parce que, n'empêche, on s'est pas focalisé sur ça, parce qu'il y a eu le titre et tout ça, on n'est pas passé loin d'un drame.
C'est là où vraiment, et c'est assez rigolo parce que ça arrive à la dernière course, donc ça permet de faire le bilan aussi sur Schumacher, et de se dire, quand on voit ce qui s'est passé à Abu Dhabi, est-ce qu'il a raison de faire son retour ou pas?
Moi, je dis oui, il faut... faut pas qu'il parte sur une mauvaise note.
Ouais.
Moi, c'est ça, justement, c'est le truc, c'est-à-dire que, oui, maintenant, il a plus le choix, maintenant, il peut plus partir sur mauvaise note. Est-ce qu'il avait besoin de revenir pour faire ça?
Il avait envie, on peut rien faire, il avait vraiment envie, voilà.
Voilà, moi, c'est, honnêtement, sur ce coup-là, il m'a fait peur, et ça serait dommage de...
C'est d'ailleurs, il y a un côté un peu hypocrite, hein, parce que, vous remarquez que, quand il y a un vrai accident grave, prenons celui de Massa, tout de suite, on avait, faut qu'on ait des F1 fermés, des choses comme ça, et là, parce que ça s'est bien fini, finalement, on n'en parle pas. Alors que ça aurait pu être dramatique. C'est quand même rare hein, ce qui s'est passé. Hein. Le fait qu'on ait deux voitures de face, l'une faisant un peu rampe hein, pour ouais. l'autre, c'est pareil. Hein. C'est comme pour Massa. Oui, le cockpit, je crois pas que ça soit une solution. C'est peut-être un truc qu'on reverra pas en 50 ans, hein, ce qu'on a vu dimanche. Hein.
Ah bah non.
Voilà, c'était quand même pour revenir. D'ailleurs, même sur Stat F1, la photo, pour la photo du Grand Prix, il a pas choisi Vettel, par exemple, vainqueur. Non, il a mis le crash.
Ouais, j'ai pas vu.
Ouais.
Et d'ailleurs, on peut peut-être comment ça s'appelle, un peu spoiler, mais il y aura le crash de Soumy avec Ludy dans les SAV d'or.
Oui. Ah. On a commencé à y travailler dès dimanche soir.
Ouais.
D'ailleurs, ça a bien avancé.
Ouais.
Très bien avancé. Mais n'en disons pas plus.
Non.
C'est assez intéressant. Enfin, je dirais pas que c'est drôle parce que les circonstances. Je peux pas dire ça, mais. On voyait Shumi et Ludy, après, ils étaient tous sourires, ils en rigolaient presque. Ouais.
Enfin, oui, alors à un moment, les commentateurs ont dit que, enfin, tu sais, sur le coup, hein, évidemment, Shumi avait eu un geste énervé. Alors moi, je l'avais pas vu, je me suis dit.
Mais non, mais moi, je suis pas sûr qu'il ait eu un geste énervé.
Alors,
quoi.
Alors écoute, alors, après.
C'est pas le temps d'avoir foncé, mais ils se sont pas disputés, hein.
Alors, apparemment, après, c'est ce que TF1 rapporte, hein. Voilà. Justement, ils ont posé la question et Shumi aurait dit oui, c'est vrai que sur le coup, je me suis énervé. Donc si lui il confirme, c'est qu'a priori il l'aurait fait. Mais bien sûr, on a tous vu après que oui, je crois qu'après ils se sont rendu compte surtout que les deux allaient bien et c'était le plus important.
Ouais.
Et je pense, en fait, Shumi s'est énervé contre lui-même parce qu'il fait une erreur à la base. Enfin,
ouais.
Voilà,
c'est il fait lui-même l'erreur. Il l'a dit après. Voilà, tout est de ma faute.
On va passer au classement. Les classements finaux de la saison.
Yes.
Alors attention, j'ai fait les choses en grand.
Ah oh bah de toute façon ce soir on fait tout en grand.
Ah. Alors pour les pilotes, j'ai pas compté les 24, 27.
Ouais.
J'ai fait le classement des 12 premiers. Et bien évidemment, pour ménager le suspense qu'il n'y a pas, mais je vais quand même le ménager. Hein, je vais partir de la 12e place et je vais remonter jusqu'à la première.
Bah la 12e place c'est encore plus un suspense la 12e place que la première.
Eh bah ouais. Oui, tu vois, oui, il y a des coups. Donc en 12e place, on a Barrichello avec 46 points. À la 11e, on a Petrov.
46 points par kilo.
Non, ça, c'est les points qu'il a marqué.
Non, 54, excuse-moi. Non, parce qu'en fait, c'est Sutil qui en a 46, c'est pour ça que j'ai mal lu. Voilà. Donc oui, Barrichello, c'est 54. Ensuite, en 11e place, Petrov avec 71 points.
Pas mal.
Kobayashi, 76. Schumacher, 89. Massa, 99. Rosberg, 119.
Ouh.
Kubica 120, Button 180, Weber 216, Hamilton 219, Alonso 258, et bien évidemment, vous vous en doutez, faut dire, c'était chaud avant la course, mais forcément vu la course qu'on a eue, c'était prévisible, Vettel avec 287 points.
Ah oui, 2000.
Qui conserve son titre.
Oui, il conserve son titre, il est double champion du monde chez nous. Ouais. Faut pas l'oublier.
Il a quand même 70 points d'avance sur Weber, quand même,
ouais.
Dans le classement.
Ouais.
C'est un problème.
Mais il a toujours eu un peu de retard, Weber. Hein. C'est vrai que même quand il gagnait, enfin, il a peut-être été moins flamboyant.
Ouais.
Même si on lui a donné beaucoup de points.
Pas quand il gagnait, parce que il me semble que dans votre classement, à chaque fois qu'il a remporté la course, il l'a remporté aussi chez vous.
Oui, voilà. Oui. Il a 4. Mais le truc, en fait, c'est que en dehors de ses victoires, Weber.
Ouais, il a pas fait.
On n'a pas l'impression qu'il ait fait une super saison, enfin.
Bah, on se rend compte sur le classement du SAV, le gagnant de la course finit premier, sauf à une exception près qu'on connaît tous, mais bon. Et en fait, c'est souvent sur les places intermédiaires que ça se joue.
Ouais.
Au classement des équipes, Red Bull finit quand même avec 505 points devant.
Encore un record à mettre à l'heure active, hein.
À l'heure active.
Qui tiendra peut-être pas longtemps, mais
McLaren 399. Ferrari 362, Mercedes 203 et Renault 191. Et malheureusement, ils étaient pas loin. Hein.
Ouais.
Sauber 93, merci Kobayashi.
Ouais, qui saute Williams au dernier moment.
Williams 87, Force India 77, Toro Rosso 27, alors là encore la marche est grande, Lotus 4.
Et attention.
HRT 2. Ah oui. Et Virgin 0.
Ah oui, c'est vrai, HRT, ils avaient pas de points.
Ouais. Ils avaient pas de points. C'est parce que Dino voulait que HRT fût 10 devant Virgin.
Ouais.
Voilà.
J'avoue, c'est un push.
Ça va, à ce niveau du classement, tu peux te permettre un push.
Oui. Ah, je le saurai à l'avenir.
On va passer au fait marquant de la course.
Oui. Alors attendez, j'ai. Alors est-ce que je peux faire une petite rubrique? Parce que j'ai travaillé dessus ce week-end.
Ah, oh, oui. Voilà. Oui.
Il était même pas sûr de participer à une rubrique.
Ouais, c'est courageux.
Ah ben, je me suis dit, au cas où, si je gagne... Bon, alors, ça vaut pas le 153, le club 153. C'est une petite statistique sur les remontées des pilotes. Alors, comment j'ai fait pour calculer? Ben, j'ai additionné... Enfin, ouais, j'ai fait la moyenne des remontées des pilotes.
Ouais.
Et quand un pilote avait abandonné, j'avais compté 0 place de gagné, 0 place de perdu. Voilà. Il y a des places gagnées, des places perdues. Mmh. Alors le point que j'ai est intéressant. Enfin voilà, c'est à différents niveaux parce que comme bah, les pilotes des petites équipes ont quand même fait des meilleures remontées puisque ils partent de plus loin, au gré des abandons.
Alors, à un moment Red Bull ils sont à la fin quoi vu qu'ils partent souvent en pôle.
Ouais, oui, ça paraît logique. Ouais.
On va commencer alors parmi les 27 pilotes donc qui ont participé à un Grand Prix, il y en a 3 qui sont en moyenne négative, c'est-à-dire qui ont perdu des places en moyenne sur la saison. Est-ce que vous saurez me dire lesquelles?
Moi, je dirais bien Vettel.
Eh ben, bravo, c'est le dernier.
Ah bah ouais, pour le coup, j'irais aussi Weber.
En moyenne, 1,37 positions de perdu. Ensuite.
Donc, tu disais Weber, toi, Cindy.
Weber, ouais, pour le coup, parce que c'est pareil. Ouais,
et Weber avant-dernier, une position de perdu en moyenne.
Peut-être Button.
Alors, c'est pas dans un top 10.
Hülkenberg?
Non, pas loin.
Barrichello?
Voilà. Rubens Barrichello. Ça peut paraître étonnant.
Ouais.
Et
Barrichello a plus perdu de position en moyenne qu'il en a gagné, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'il ait aussi atteint la Q3 très souvent. Voilà.
Par exemple, au Brésil, hein, il part 6e, enfin, il est 6e et il finit 14 ou 15e, je crois.
Voilà, et, bah, les Williams en fait font un tiers groupé puisque Hülkenberg est 24e. Donc voilà, les Williams se qualifient souvent en Q3, mais en course sont un peu plus loin, enfin sont un peu plus au niveau des Force India, Sauber et tout
ouais.
Ça. Alors en qualification, ils sont meilleurs. Alors ce que je peux vous dire, c'est que dans le top 7, enfin, 7 premiers, il y a 5 pilotes qui font partie de petites équipes. Alors qui est premier selon vous?
Alonso.
Ah non, j'ai dit de
petites. Non, des petites équipes.
Ah non, le
mais
premier.
Petite, dans le sens nouvelle ou
ah
c'est
oui,
plus large que ça? D'accord.
Kovalainen.
Kovalainen, 6e. 2,5 positions gagnées.
Ah bah, c'est peut-être des pilotes acharnés, mais comme ils partent tout le temps de la dernière place.
Bien vu. Alors, qui?
Bah, dans le coup, parce que c'est une moyenne.
Ouais, c'est une moyenne.
Bah, peut-être Shandok, dans ce cas.
Voilà, parfait. Shandok premier avec en moyenne 5 positions de gagné. Ce parcours, c'est pas mal.
Ouais.
Et deuxième, son comparse Yamamoto avec 4 positions de gagné en moyenne.
Elles vont pas vite, mais elles sont solides.
Ah oui.
Ouais, mais c'est vrai, en plus, je compte, Shandok n'a connu que 2 abandons cette saison. Yamamoto n'en a connu qu'un. Et Christian Klien n'en a connu qu'un. C'est-à-dire que sur la voiture de Shandok, elle a connu que 4 abandons. C'est très peu.
Ah oui.
Donc évidemment, ça favorise. Voilà, Senna est 4e. Mmh. Et donc j'ai dit les 3 HRT donc dans le top 5, qui sont les 2 pilotes qui ne sont pas dans des écuries nouvelles, qui sont dans le top 5, selon vous.
Moi, j'ai dit je pense Alonso et Hamilton. Ou Sutil.
Moi, je dirais bien Kobayashi.
Alors Kobayashi est 5e avec 2,63 de moyenne.
Peut-être Kubica.
Alors non. C'est un pilote dont l'an dernier on n'aurait pas pu prévoir qu'il ait cette statistique.
Alguersuari.
Voilà.
Alguersuari. En même temps, ils sont tellement une fois partis en 17e place, enfin
ouais.
En 18e.
Ah, mais Alguersuari, en plus, il fait quand même de bonnes remontées, parce que bon, c'est vrai. Alors, en plus, cette saison, il s'est qualifié plutôt bien par rapport à son coéquipier, et c'est vrai qu'à chaque fois, il fait des courses solides, ce à quoi il nous avait pas habitué l'an dernier. Et son haut fait d'arbre, c'était à Abu Dhabi, avec 8 places de gagné, 2,89 en moyenne. Et alors, pour les top teams, Button est le meilleur d'entre eux, 9e, avec 2,16. Hamilton, 12e, avec 1,89. Ensuite, on a Rosberg, 18e. Schumacher, 19e, avec 1,5, 1,3. Kubica, 20e, avec une position gagnée en moyenne. Et les plus mauvais sont les deux pilotes Ferrari, à part les Red Bull, ce sont les deux pilotes Ferrari. Alonso et Massa, 22e et 23e. Avec moins
de... alors qu'on parle du rythme en qualification des Ferrari qui est plus faible. Finalement, quand ils sont en qualification, ils sont toujours derrière les Red Bull ou derrière les McLaren. Et ouais. Donc, ils gagnent pas beaucoup de positions, en fait.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Et puis, il y a aussi des courses où ils sont ratés, lamentablement.
Oui.
Alors, et puis, aussi, à noter que Button, Hamilton et Di Grassi, partagent le point commun que, sauf abandon, évidemment, ces trois pilotes n'ont jamais perdu de position par rapport à leur position sur la grille de départ en course cette saison.
Ah d'accord.
Et Button a perdu des places en Corée, pardon, j'avais pas vu. Et Hamilton Hamilton par contre, aucune position perdue de toute la saison.
C'est dingue parce que tu vois, moi ouais. j'aurais pensé plutôt ça me semblait normal Button parce que vu qu'il part souvent dans la deuxième moitié du top 10. Et que bon, après, avec le rythme de course de McLaren, il peut remonter. J'aurais pensé qu'Hamilton, au moins une fois, il aurait perdu des places par rapport à sa position de départ.
Ouais.
Et alors, quelle est selon vous la meilleure remontée en nombre de places?
Alonso à Monaco?
Bravo, Shinji. 18 places de gagné pour Alonso.
Ouais.
Deuxième. Allez, on va faire le top 3.
Oh, on a eu des plus 12 ou des plus 13, hein.
Alors, deuxième.
Plus 16.
Oh, il y a eu un plus quelque chose il n'y a pas longtemps. Pas Kobayashi?
Non.
Alors Kobayashi est troisième, non?
Alors Kobayashi partage la troisième place avec de nombreux pilotes aussi, avec 14 places de gagné.
Plus 16? Sutil?
Non. Un pilote, je veux dire sous-estimé. On pense pas que c'est son point fort de remonter.
Rosberg?
Non.
Button?
Non. Un pilote il part mieux vers l'avant, mais qui, en peloton, il est pas exceptionnel.
Trulli? Non, mais trop non, je suis con. Non, j'ai rien dit.
Bah, c'est Massa à Singapour.
Ah!
Ah, oui.
Il avait gagné 16 places à Singapour?
Eh oui. De 24e à 8e.
24e. Pourquoi partait 24e, lui, déjà?
Changement de moteur?
Ah oui, c'est vrai.
Ah oui!
Ah oui, bah, j'avais oublié, tu vois. Pourtant, Massa, s'est fait remarquer, cette.
Ah oui, carrément.
Surtout en Allemagne. Et puis ensuite, il y a beaucoup de pilotes qui aiment bien le chiffre 14. Enfin, le nombre 14. Je sais pas si c'est un truc avec les hétéros et tout. Je sais qu'il y a 254. Alors, on a notamment Hamilton et Massa en Malaisie. Plus 14.
Ah bah, c'est pas hétéro, ça.
On a Schumacher en Belgique. Tout comme Petrov, d'ailleurs. 14 places.
Ouais.
Kobayashi. Et là, fait plus impressionnant, puisque c'est quand même sur un circuit où c'est difficile de dépasser. C'est en Hongrie. Kobayashi en Hongrie. Qui a gagné 14 places. Selon vous, on va passer au plus mauvais. Qui a fait la plus grosse dégringolade?
Plus grosse dégringolade?
Hors abandon.
Ouais, bien sûr.
Barrichello, non?
Non.
Qui ça pourrait être un cas justement de mauvaise stratégie, quelque chose comme ça.
Alonso?
Non, mais il n'en a pas perdu au final tant que ça.
C'est combien de places qu'il a perdu?
Alors, il est parti troisième.
Dino, bravo, tu as raison. Alonso, moins 11. Mais il est ex aequo avec quelqu'un d'autre. Alonso, moins 11 en Grande-Bretagne à cause de ce dépassement litigieux sur Kubica qui lui a valu une pénalité.
Ah oui, c'est vrai.
Tard, donc ça l'a bien réussi.
Pourrait pas y avoir Vettel aussi à cause de tu sais, la pénalité de safety car, là.
Alors, pas en Hongrie. Non, mais...
En Hongrie, il avait fini 3e.
Ah ouais.
Mais en Belgique, à cause de ses accrochages avec Button, ses pénalités...
Ah oui, putain, j'oublie ce Grand Prix-là. Là.
Voilà. Ils avaient le vertige, ils voulaient redescendre. Voilà.
Ouais. Ah, c'est Spa en même temps.
Ah ben oui. Donc voilà,
c'était intéressant.
Ouais, voilà, c'est bien, ça fait bilan. On va passer au fait marquant.
Oh oui.
Pour le fait marquant du Grand Prix de Brésil, hein, donc est arrivé troisième, un grand prix plutôt plat pour un grand prix du Brésil. Pourtant, l'intitulé était marrant. Enfin, il y avait un côté comique.
Oui. 10% par Fab 007.
Le titre constructeur de Red Bull Renault. 30% 9 votes.
Ouais.
À noter que ça m'a énervé, il y en a certains, bon, pour pas dire Mercedes et d'autres, disant oui, c'est pas un vrai constructeur, Red Bull, oui. Mais d'autres ont rappelé que, il y a eu Benetton. Voilà. Oui, Mercedes a même dit qu'il fallait renommer le.
Oui, oui. Je sais pas comment ils auraient renommé.
Mais non, mais en plus, voilà. Parce que, ils disent, Red Bull n'est pas un constructeur automobile. Mais en même temps, le championnat constructeur, c'est pas constructeur automobile. C'est constructeur de F1.
C'est à l'époque où il y avait Benetton qu'il fallait déjà se réveiller, hein.
Voilà. Non, puis de toute façon, ça a toujours été le sens, championnat constructeur de F1. Je veux dire, quand ça a été créé en 58,
voilà. En même temps, c'est ça qu'il faut aussi les comprendre, eux, en tant que constructeurs automobiles, se voir finalement battu au championnat constructeur par Red Bull qui n'est pas un constructeur, ça fait mauvais genre. Alors que s'ils sont battus au championnat par équipe ou en championnat par écurie, il n'y a pas le terme constructeur qui est si important pour les communicants. Ils sont pas battus en tant que constructeurs, ils sont battus en tant qu'écurie de Formule 1. C'est pas pareil.
Oui. Ouais. Et donc,
mais ce qui serait rigolo, c'est si l'année prochaine, donc cette année, on renomme le championnat, l'année prochaine Mercedes gagne, je suis pas sûr qu'ils soient contents de vendre des Mercedes en mettant champion du monde des écuries. Ils préféreraient mettre champion du monde des constructeurs.
Des constructeurs. Et donc, est arrivé premier, 60% 18 votes. Et c'est vrai que c'était quand même le fait du week-end.
Oh, arrête, tu dis. Il y avait bataille quand même. Les premiers jours, tu m'as fait peur.
Oui, mais après,
Et mon père, ensuite, après, avec la pole d'Hülkenberg, ça s'est monté en flèche.
Oui, il y a pas
après,
vraiment.
Après, j'ai rappelé tout pour toi et j'ai incité à voter Hülkenberg. Voilà.
60% 18 votes. Alors, comme c'est les auditeurs qui ont fini troisième,
et que tu es un auditeur,
traditionnellement. Tu es un auditeur, voilà. Bilo, tu as l'honneur de choisir en premier.
Ah donc vous voulez que je commence?
Bah oui.
Voilà. Là, tu as le choix, c'est-à-dire que t'es premier, tu peux choisir ce que tu veux, tu peux nous niquer, parce que en général, voilà.
Je vais me gêner. Je vais dire Edgar Suarez qui fait une belle course. Non, je plaisante.
T'as l'air, j'étais en train de commencer à écrire, si j'avais fait deux lettres, c'était foutu.
Non, je veux dire le titre de Vettel, bien sûr.
C'est pas assez piquant, ça.
Vettel qui pleure de joie à la radio.
Non, trop tard.
Eh bien, moi, je vais mettre la mauvaise stratégie de Ferrari qui coûte le titre.
Ça va être un rival. Il va falloir que j'appelle Enzo pour qu'il vote plusieurs fois, là. Sinon...
Et moi, je mettrai Michael Schumacher qui a bien failli perdre la tête. Voilà.
C'est vrai que c'est un fait marquant. Un vrai fait marquant.
Il y a un beau match ça pour la dernière.
Ouais, un beau match, ouais.
Oh non, je vais gagner.
On passe au drive-thru.
Aha.
Le service après-vente de la F1 vous présente les drive-thru of the weekend. Quand les animateurs disent que franchement, c'est pas bien.
Alors, c'est drive-thru. Moi, je vous le dis tout de suite, hein, mon drive-thru, c'est le drive-thru qui est partagé par plein de monde.
Oh, ouais. Bah, ce que je vous propose, c'est je fais le mien. Si je m'en rappelle, attends, c'était quoi mon drive-thru déjà? Ah oui, je vais faire le mien et puis comme ça après.
Voilà, je préfère prévenir, voilà, pour être sûr que voilà, il y a pas de. Même si après, on peut s'associer pour faire des super drive-thru et tout.
Alors moi, ce sera un drive-thru contre un drive-thru partagé avec Ferrari en fait. Ça sera un drive-thru contre les politiques italiens.
J'avais pensé en plus à ça.
Ils ont immédiatement demandé. Alors, je crois que c'est l'un des ministres membres de la Ligue du Nord qui est en coalition avec le parti de.
Un parti d'extrême droite, hein. Faut voilà.
Et qui, dès le dimanche soir, a demandé la démission de Luca Di Montezemolo. J'aimerais juste le rappeler qu'il y a encore quelques semaines. C'est bizarre, hein, ça fait quand même quelques mois que ces gens-là ne demandent pas la démission de Silvio Berlusconi alors qu'il est accusé dans des affaires de prostitution de mineurs, de mœurs plus ou moins douteuses, voilà, d'abus de biens sociaux et ce genre de choses. Donc voilà, ça me fait toujours un petit peu rire, et d'ailleurs Ferrari y a très bien répondu, qu'on reproche à Ferrari de ternir un petit peu l'image de l'Italie en perdant. Alors que on aurait très bien pu le dire il y a 4 mois au moment du Grand Prix d'Allemagne.
Non, puis en plus enfin demander la tête de Montezemolo, enfin bon c'est un truc qu'on connaît même en France hein,
oui,
mais
oui, Bah, et non, il a eu les claques du monde.
C'est quand même le dernier type responsable. Enfin, voilà, il a rien à voir avec ce qui s'est passé dimanche.
En plus, ce qui est terrible, c'est que ça profite de ces circonstances-là, surtout dans le cadre d'une campagne, parce qu'on sait que Montezemolo a aussi des ambitions politiques,
oui.
Qui fait partie de ceux qui demandent à Berlusconi de convoquer des élections anticipées. Voilà, voilà.
Sinon, c'est vrai qu'apparemment, dans les médias italiens, depuis dimanche et lundi matin, contre Ferrari, voilà, c'est pas vrai. Triste. Et j'ose imaginer les médias espagnols, AS, Marca, qui sont pas réputés non plus pour être détendre.
Les Espagnols ont critiqué Ferrari aussi. Oui, effectivement, ils ont bien réprimandé. Mais bon, ça, voilà, ils n'arrêtent pas les médias italiens. À chaque fois que Ferrari n'y arrive pas, ça y est, ça critique.
Mais c'est une vraie plaie, quoi.
Oui,
enfin,
c'est. Puis faut pas oublier, voilà. Ferrari fait une bonne saison par rapport à l'an dernier, voilà. Par exemple. Bon, d'accord, ils ont pas le titre.
Mais c'est d'ailleurs, moi, c'est aussi un truc que j'ai beaucoup apprécié chez Alonso, c'est qu'il a été team player derrière. Il a dit voilà, on perd en équipe. Il a défendu son équipe et ça m'a étonné parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il y descende. Voilà, et c'est là où il concrétise un peu sur la fin de saison, ce qu'on a entrevu depuis la mi-saison, à savoir que voilà, il a joué un peu plus corporate avec Ferrari.
Bilo, tu avais une idée de Drive-Thru?
Ah, moi,
d'accord. Oui.
Donc c'est le même que Shinji en fait.
Oui. C'est le même que Iceman Air et que bien évidemment ce drive-thru c'est contre Alonso, pas tant sur la course que sur l'image qu'on a vue après à la fin. Alors la déception on peut la comprendre. OK, c'est normal, après tout il espérait être titré, mais de là à s'en prendre, c'est pas aller plus loin que des gestes. Mais de là à s'en prendre à Petrov, c'est pas digne d'un pilote de F1, c'est même pas digne du champion qu'est Alonso.
C'est clair.
Voilà. Là, pour le coup, enfin, je veux dire, comment tu peux reprocher à Petrov d'avoir fait sa course, de l'avoir résisté, il va pas lui laisser un boulevard sous prétexte que Alonso, il joue le titre. Non. Il a été très propre Alonso pendant toute la course, il y avait aucune raison. Ce qui est aussi dommage, parce que ça a été très fugace, mais on a aussi vu que quand Vettel était sorti de la voiture, Alonso il est passé derrière. Ouais. Non, mais ça c'est plus secondaire.
Mais même le fait que tu le dises, ça m'énerve. J'avais prévu de rien dire, mais sérieusement ça m'énerve. Vous avez quand même pas demandé à Alonso qui vient de perdre le titre, alors qu'il se voyait gagner le titre, qui vient de perdre le titre, vous avez quand même pas lui demandé d'aller faire des sourires et des pincettes à tout le monde en faisant croire qu'il est heureux. Non, il est pas heureux.
Non, il est pas heureux.
Le mec vient de perdre le titre, il est pas heureux. Enfin, je sais pas. C'est des années d'investissement. Ce mec-là, ça fait 3 ans qu'il attend d'être champion. Moi, ça m'énerve d'entendre tout le monde faire des caisses autour de ça. C'est humain. Le mec, il s'est investi. Il a mis aussi cette saison une partie de sa crédibilité en doute. Il s'est investi pour le titre. Il y a cru. Il est déçu. Voilà.
Ce qui me choque pas, la deuxième image me choque pas, hein.
Alonso, il est passé derrière Vettel, il a pas serré la main.
Non. Voilà. Non, mais ça, à la limite, ça me
choque
pas.
Vous avez vu la déclaration d'Alonso après la course, quand il a dit que Petrov, il avait fait une très bonne course, qu'il avait été parfait, non, personne l'a lu, personne l'a noté. Pourtant, il l'a dit dans la course, il a reconnu le mérite de Petrov. Le seul reproche qu'il fait, c'est même pas un reproche, il dit voilà, il a fait sa course, comme s'il était en train de se battre pour le championnat du monde. Voilà, c'est une différence de point de vue, mais, sous le coup, sous l'énervement, il s'en est pris à Petrov. Voilà, moi quand je perds sous l'énervement, je m'en prends à certaines personnes parce que c'est pas être mauvais joueur, mais c'est juste que c'est humain à un moment donné. Oui, t'es énervé, tu sais pas à qui t'en prendre. Le premier venu, tu t'en prends à lui. Tout le monde voudrait. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on reproche aux pilotes d'être corporate, d'avoir un discours lisse, et dès qu'ils vont pas serrer la main à un tel ou à un tel, on leur dit t'as vu, il a pas serré la main, il fait sa tête de con, etc. C'est lourd.
non, mais c'est pas digne de. D'un pilote, Massa, alors qu'il a perdu le titre, et pourtant il a quand même perdu le titre encore plus durement qu'Alonso, il n'est pas allé voir Glock en disant ouais Glock c'est un salaud et tout. Non,
oui, mais dans ce cas-là, je suis désolé, mais voir un mec pleurer, c'est pas digne d'un pilote de Formule 1.
Ah non, mais il pleurait de l'émotion, voilà, il y avait de l'émotion, c'est normal.
Oui, mais c'est une forme. Non, mais je suis bien d'accord, mais dans ce cas-là, s'énerver, c'est aussi une forme d'émotion. Il s'en prend à Petrov parce que directement, il s'en prend à lui, il s'en prend à son équipe. Voilà, le premier qui lui tombe sous la main, c'est Petrov. Voilà.
Non, mais regarde dans sa déclaration après, il dit pas ouais, j'ai eu un geste malheureux.
Mais il va pas nous. Mais arrêtez, oh là là.
Non, mais je suis désolé, mais Alonso, qui fait cette déclaration après dans la presse et qui voit bien qu'il a été mal jugé. Il a fait cette déclaration uniquement pour apaiser les esprits. Il ne le pensait pas vraiment.
Regarde ce qu'on disait avec Schumacher. Regarde
ce qu'on disait avec Schumacher. Il ne le pensait pas vraiment. Qu'est-ce que vous pouvez en déduire qu'il ne le pensait pas vraiment?
Attends, mais ce geste sur Petrov, je suis désolé, c'est pas quelque chose d'inné. Il a réfléchi, voilà, ce geste-là, franchement.
Mais non, il n'a pas réfléchi. Il est là, il est à côté de lui, il est énervé, comme à chaque fois quand c'est pas le seul qui fait. On a des pilotes qui ont fait des doigts d'honneur, qui ont levé des points. On a Senna qui l'a fait aussi. On a parlé des bagarres où voilà, Piquet un jour s'en est pris à Eliseau Salaire qui finalement n'était pour rien. Senna il s'en est pris à d'autres. Voilà, c'est des comportements d'humeur. Voilà, parce qu'on est aussi dans un sport où il y a des émotions. Si on accepte les pleurs de Vettel, si on accepte une émotion aussi belle que un mec qui pleure, un mec de 23 ans qui pleure parce qu'il est champion du monde, il faut aussi derrière accepter un mec quelque chose qui est moins joli, qui est moins beau, mais qui tout. Moi, ça m'a touché finalement la réaction d'Alonso parce que je me suis dit voilà, c'est un mec qui est désœuvré, qui est en colère contre lui-même et qui bah oui, qu'elle a bêtise, c'est la bêtise de s'en prendre à un autre, mais que finalement c'est profondément humain. Oui, c'est pas un pilote, et heureusement qu'il a pas une réaction de pilote à ce moment-là. Voir Alonso perdre le titre et le voir débarquer dans le paddock, serrer la main à Vettel et venir devant les caméras avec le sourire en disant bah écoutez, oui j'ai perdu, c'est triste, etc. Ça m'aurait fait chier parce que ça veut dire bah oui, il en a rien à foutre. Moi j'étais content, moi j'ai vu un pilote qu'on avait quelque chose à foutre, qui était en colère d'avoir perdu, en colère contre lui, en colère contre Ferrari, en colère contre Petrov, et sa colère elle passera. Bien évidemment qu'il a tort, bien évidemment que c'est pas beau à regarder, mais c'est humain.
C'est une réaction humaine de la part des deux, franchement, je comprends la colère et la tristesse d'Alonso, mais faire ce geste, je suis désolé, ça ne peut pas passer pour moi. C'est un geste qui est... Franchement, je ne pardonne pas ça. Quoi.
C'est pour ça que je dis que c'est pas digne du champion qu'il est, parce que justement.
Oui, mais
il vaut mieux que ça. Enfin voilà.
Dans ce cas-là, vous rentrez dans le discours corporate. Voilà, c'est-à-dire que vous rentrez dans le discours que un champion doit avoir un comportement de champion, doit être digne. Non, un champion, bah, par moment les champions ils sont tristes. Par moment les champions, bah ils sont décevants. Par moment les champions, ils sont misérables. Bien, franchement, moi, je me mets au défi n'importe qui. Quand on pose la question aux gens, bon, oh, non, mais moi, quand je perds, je suis toujours beau joueur. Non, moi, je le dis. Quand je perds, je suis pas beau joueur. Mais quand je perds à n'importe quel jeu, je suis très mauvais joueur. Après, au bout d'une demi-heure, ça me passe. Et généralement, je m'excuse, etc. Malheureusement, le geste qu'on a vu, c'est le geste de mauvaise humeur. On n'a pas vu derrière. On sait pas s'ils se sont parlé. On sait pas s'il allait voir Petrov. Si c'est excusé, on n'en sait rien.
C'est ça qui est dommage.
Il aurait dit après si
non, il l'aurait pas forcément.
Pas forcément. Dit.
Pas forcément. Faut pas croire que tout se sait en Formule 1. Puis même à la limite, moi j'ai pas besoin de le savoir. Tout comme le coup Schumacher dit oui, je me suis excusé par SMS. Moi qu'on l'apprenne pas, c'est pas grave. Moi je pense qu'il va en parler peut-être pas cette semaine, qu'il a pas vu Petrov cette semaine. Mais s'il le revoit, bah, il lui dira peut-être écoute, excuse-moi en fait pour Abu Dhabi, j'ai fait con, mais tu comprends. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a entendu Petrov se plaindre?
On n'a pas entendu Petrov.
Ah si, on a vu la réaction de Petrov.
Oui, attends.
Sur le coup.
On a vu la réaction sur le coup. Est-ce que derrière, on a vu la réaction de Petrov dire, vous avez vu Alonso, il s'en est pris à moi. Non, parce que je pense que tout simplement Petrov, il a compris. Il a donné un coup de roue pour dire, écoute, ça y est, c'est bon.
Peut-être un peu plus mature qu'Alonso, autant dire.
Non, c'est pas une question de maturité, mais c'est question que c'est des pilotes qui savent aussi par quel sentiment ils passent et que voilà, que c'est un sentiment de détresse. Ce qui m'énerve dans, je comprends votre assou et je suis tout à fait d'accord. Mais ce qui m'énerve derrière aussi, c'est que voilà, c'est comme si c'est le seul truc qu'on allait garder et on retire totalement le contexte qu'il y a autour.
Ah non.
Et on ne donne pas à Alonso le bénéfice du doute de se dire, bah peut-être qu'il s'est excusé après. Et qu'on n'en a pas parlé parce qu'on n'a finalement pas en parlé. Ou peut-être que, il va s'excuser. Ou peut-être que, sur le coup, peut-être que lui, il regrette son geste. Sincèrement.
Ah bah, pourquoi il le dit pas à ce moment-là?
Pourquoi il irait le dire?
Je sais pas, moi,
quand je m'en prends à quelqu'un et que je le regrette, je le dis à la personne. Je vais pas le dire à tous mes amis. T'as vu, au fait, lui, je me suis pris de tête avec lui tout à l'heure. Et ben, en fait, je me suis excusé, on s'est arrangé, on n'en parle plus. Non, c'est entre lui et moi, c'est une affaire d'homme.
Mais mon sentiment à moi, c'est que ça m'a déçu et que franchement, en voyant ce geste, en voyant aussi toutes les déclarations, en ajoutant en plus son comportement durant la saison, je me suis dit, cette saison, Alonso, il n'a pas été à la hauteur du double champion du monde qu'il était. Voilà. Il n'a pas montré qu'il était un double champion du monde.
Mais c'est pareil, moi, c'est ça aussi qui me fait rire. C'est une sorte d'hypocrisie. Tout le monde se surprend du comportement d'Alonso. Oui, enfin, en même temps, Alonso, il a toujours été comme ça. C'est son caractère intrinsèque. Il a toujours été comme ça, tout comme on peut pas comparer à la manière dont a réagi Massa en 2008 parce que voilà, Massa, il réagit comme Felipe Massa. Alonso, il réagit comme Felipe Alonso. Comme Fernando Alonso. Moi, finalement, la réaction d'Alonso, elle m'a pas surpris. Moi, je m'attendais à ce que dans la presse, il pousse un coup de gueule. Là, il m'a surpris, c'est que dans la presse, il a pas poussé de coup de gueule contre Ferrari, il a pas tapé sur son équipe. Alors pourtant, il se gêne rarement.
Oui, voilà, c'est vrai.
Donc il y a pas de quoi être surpris ou d'être déçu par Alonso. C'est ça qui est étonnant, c'est on a l'impression que vous êtes déçu par Alonso.
Mais non,
il a toujours été comme ça Alonso.
On n'est pas déçu, mais là on trouve que c'est nul quoi. C'est pas un comportement c'est pas un comportement acceptable. C'est tout ce qu'on dit.
Ouais, je suis pas d'accord.
Bah t'as qu'à pas supporter Alonso, voilà. T'as qu'à
supporter. Non, c'est même pas parce que Shinji me connaît.
Je te connais, oui.
On est amis depuis longtemps, c'est même pas parce que je suis fan d'Alonso.
Pour le coup, c'est peut-être pas décevant, le bon terme, c'est peut-être juste triste.
Oui, c'est triste, voilà, c'est triste.
Triste.
Dommage.
À noter, en totale opposition, même si tu l'as dit, c'est complètement différent. On a eu un joli podium, je trouve. Très sympathique.
Ouais.
Bon, on l'a dit, hein. Ça n'a rien à voir. Et puis, voilà. Hamilton.
J'ai dit sur le site, hein. Voilà. Vettel avec, au pied du podium, Weber et Alonso, c'est plus le même podium.
Voilà, c'est plus le même podium. Mais, c'est vrai que pour le coup, alors qu'ils ont été adversaires toute la saison, hein. Faut pas l'oublier, malgré tout. C'est vrai que le podium était très sympa. On a même eu un vrai moment cocasse, hein. Avec le faux champagne. Parce que, c'est là où d'ailleurs, justement, ça aurait pu être encore plus sympa parce qu'on a bien vu qu'en fait les deux pilotes McLaren, au passage on avait un podium avec les trois derniers champions du monde, oui. Voulaient, voilà, dans la grande tradition, asperger Vettel, sauf qu'on est à Abu Dhabi, et à Abu Dhabi il n'y a pas d'alcool. Parce que c'est ça, hein, c'est ça, hein, c'est pour ça, et d'ailleurs eux-mêmes ont été surpris parce que pendant quoi, 3 secondes, ils se sont regardés parce que justement il n'y avait rien de giclé.
C'est le Wizard, je crois.
Le Ward.
Ouais, voilà. Ce qui remplace l'alcool à Bahreïn et à Abu Dhabi.
Une eau gazeuse à la rose ou un truc dans le genre, je
crois. Ouais, voilà. Qui pareil n'est pas super bon d'ailleurs.
Bah en tout cas de la part de Kimi Räikkönen, oui. C'est pas bon. Oui. Mais bon, c'est Kimi Räikkönen, hein, il a des goûts
particuliers. En tout cas, ça mousse pas beaucoup, c'est dommage.
C'est dommage, ils auraient pu le faire au Red Bull, ça aurait été drôle. En NASCAR, il fait ça au Coca.
Oui, c'est
les
vrai.
Les mecs sont tout collants derrière. Là, ça aurait été chouette au Red Bull.
Donc voilà, quand même, un podium sympa, un dernier podium sympa.
Un très beau podium, ouais. Puis, globalement, les pilotes McLaren sont toujours très très altruistes sur les podiums. Ils sont sincèrement heureux, enfin, il n'y a pas de...
C'est ça, je crois que c'est le bon mot. Il y avait vraiment de la sincérité, voilà. C'était le podium, puis bah voilà, bah, Sébastien, il avait son premier titre. C'était le moment de faire la fête, quoi.
Parce qu'ils savent aussi, en tout cas Hamilton, lui, c'est aussi que son tour va revenir, enfin, il va... Ouais, tu vois très mal Hamilton rester simple champion du monde. À moins que Vettel devienne le Schumacher des 10 prochaines années, mais...
Alors, c'est ce que je me posais, la question. J'espère qu'il va pas dominer quand même les prochaines années, Vettel, parce qu'avec la voiture qu'il a et le fait qu'il soit quand même en progression... Ah, c'est un peu peur. C'est une petite parenthèse.
Ce qu'on note, quand même, cette année, même l'an dernier, même depuis 2-3 ans, même si c'est vraiment cette année, on a plusieurs équipes, et comme les équipes ont, cette année il y a eu beaucoup de transferts et les équipes se sont les meilleurs pilotes étaient plus disséminés. Là bah voilà, on a Alonso chez Ferrari, voilà on a les 5 champions du monde, on les a sur 3-4 équipes, pas plus.
Ouais.
C'est très
ouais.
Concentré. Il y a aussi le phénomène post qu'on retrouve dans beaucoup de sports qui est que bah voilà, il y a une équipe, un pilote, un joueur qui domine, et quand il part à la retraite, même quand il revient, mais quand il part, ça lâche les chevaux.
Ouais. Voilà.
C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on vit globalement une époque assez géniale. Parce que je crois que ça a été noté sur 6 ans, on a eu 5 champions du monde différents.
Ouais.
Bah, voilà. Les 5 dernières années de voilà. 2006, on a un champion différent. Sur une écurie différente, à chaque fois.
Sur une écurie différente. Voilà. Donc,
si on est dans ça à 15 ans.
Voilà. Oui, oui. Bien sûr. Après, c'est les statistiques, hein, si tu les prends comme tu veux. Donc, on a la chance quand même d'être dans une très belle époque. Il y a aussi, on se dit aussi que 7 titres, c'est beaucoup. Donc, déjà, si on a des pilotes triple champion du monde, ça sera pas mal, hein.
Et puis même, enfin, faut regarder déjà cette année. Enfin, Red Bull doit dominer. Ils ont la voiture pour dominer. Ils n'ont pas eu trop de pépins techniques. Ils ont surtout fait des erreurs provoquées, provoquées par les autres, qui ont peut-être eu des moins bonnes voitures, mais il suffit pas d'avoir une moins bonne voiture. Il y a le talent du pilote qui rentre en compte. Il y a les circonstances. Il y a les faits de course. Il y a les émotions aussi qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Moi, je pense pas qu'on se dirige vers une domination de Vettel. Je pense qu'on se dirige vers une domination collective de, je pense, un truel entre Vettel, Hamilton et Alonso. Dans les 5-6 prochaines années, je pense qu'on va avoir du Hamilton, du Alonso et du Vettel.
Et on a du, enfin, et d'ailleurs, on se compare souvent avec les années 80. C'est génial en ce moment, on est dans une période riche de la F1. Faut vraiment en profiter.
Mais pour rebondir sur ce que tu dis, Bilo, t'espères qu'il n'y aura pas que. Derrière, il y a qui exactement qui est de l'envergure d'Hamilton, de Vettel ou d'Alonso? Bon, Weber, c'est joli sur la photo. Button.
Weber peut toujours avoir encore une chance ou deux, pas plus. Hein,
oui, mais honnêtement, c'est pas le même calibre que les trois, quoi. Même Button, c'est un beau champion du monde.
Sur une année, c'est pas sur une longue durée.
Oui, sur une année, voilà, dans les circonstances. Mais non, mais c'est ça qu'on est, on est bien d'accord. Il y en aura sans doute d'autres qui vont s'inviter, mais en fonction des circonstances. Mais aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui on a les trois, et qu'aujourd'hui il y a aucun pilote qui se présente avec l'aura de ces trois pilotes. Il y a pas, même en GP2 quoi, tu sens pas venir un pilote pour le moment qui soit de la trempe de ces trois là quoi. C'est moi ce qui me laisse à penser que ces trois là vont se partager les titres. Il y aura peut-être une erreur de parcours, il y aura peut-être un mec qui va se révéler.
Kobayashi peut-être.
Faut qu'il progresse encore beaucoup. Et puis pas chez Sauber.
Non mais même Kobayashi, oui c'est chouette ce qu'il fait. Attention, le comparer à Vettel, Hamilton et Alonso et en faire un champion en puissance. C'est comme en football, dès qu'il y a un mec qui marque deux buts en trois matchs en Ligue 1, ça y est, on veut le voir en équipe de France. Laissons-les mûrir. Moi, je pense que Kobayashi, il a un bel avenir en Formule 1. De là à se battre pour le championnat, tous les pilotes de Formule 1 sont pas là pour devenir des futurs champions de puissance.
Non, mais Kobayashi, depuis qu'il arrive en F1, c'est du sans faute pour l'instant, son parcours. C'est vraiment un truc énorme. Je pense que peut rivaliser avec les trois que
tu as. Ah non.
Il en a la carrure. Enfin, si.
Ah non.
On passe au concours.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Opposition. Un concours sans musique qui fait flipper, ni question à la con, quoique.
A-t-on eu des réponses?
Alors oui, nous avons eu des réponses. 4. Oh. Et donc, la question de la semaine dernière était, quelle était l'utilité première du terrain sur lequel aujourd'hui est construit le circuit d'Interlagos? Et la réponse était, Shinji?
Donc, à l'origine, c'était un projet immobilier. Hein, donc c'était des immeubles ou des maisons, je sais plus.
Je sais pas.
Des immeubles, voilà. Et le problème, c'est que le projet a été arrêté à cause de la crise de 29, je crois.
Ouais. C'était prévu, le projet date de 1926, je crois.
Voilà.
Il n'y a pas 8 jours à cause du... Il y avait aussi un centre sportif qui était prévu.
Et donc, le projet a arrêté donc en 36, enfin plutôt en 36, il est décidé de construire le circuit de sport mécanique à la place.
Alors donc, comme je le disais, nous avons eu 4 réponses, et donc 4 questions, et Shinji, tu devras choisir l'une de ces 4 questions, la dernière du concours Top Opposition.
Oui.
Alors je te dis les questions dans l'ordre suivant. Qui a écrit le livre Magic Circuit à propos de la conception et la réalisation du circuit Yas Marina et de son premier Grand Prix le 1er novembre 2009?
Oui.
Ensuite, nous avons, à l'occasion de quelle compétition les pilotes Ferrari se sont-ils opposés devant la presse? Depuis sa création, combien le circuit de Yas Marina a-t-il compté de propriétaires différents et lequel?
Ouais.
Et enfin, pourquoi le parc à thème de Ferrari a-t-il ouvert officiellement ses portes une semaine plus tard que prévu? Alors Shinji, quelle question, en sachant que Bilo sera très attentif à ta réponse.
Les questions sont intéressantes, sont variées. J'hésite en fait entre Ferrari World et Magic Circuit.
Ouais.
Bah faut choisir, Shinji, hein. Faut choisir, choisis.
D'accord.
Dit-il de tout à fait les intéressés.
Allez, j'ai envie de conforter les pauvres tifosi. On va partir sur le Ferrari World.
Donc vas-y, Bilo, tu peux éclater. Parce que, faut savoir que Bilo, ça fait à peu près 2 minutes qu'il se retient de dire « Ouais, j'ai gagné !» Parce que les deux questions étaient de Bilo. Je sais même plus pourquoi il y avait deux questions.
Bah en fait, l'émission de Hongrie, t'avais pas reçu mon truc du
coup. Ah oui.
Donc t'avais droit, voilà.
C'est pour ça que quand j'hésite entre ça et ça, j'ai dit « C'est bon, j'ai gagné !»
Donc imaginez Biello qui était pendant une minute, ouais, mais en se taisant, vous voyez.
Voilà. Et alors, on ne va rien dire sur les autres et on va les mettre dans le trivia.
Oui, voilà.
Et oui.
Donc, je rappelle la question proposée par Bilo, la dernière question de la saison, et qui était « Pourquoi le parc à thème de Ferrari a-t-il ouvert officiellement ses portes une semaine plus tard que prévu ?» Pour nous répondre, vous allez sur le site du SAV, rubrique Contact, vous choisissez bien, attention, concours tape pas position, ou pour certains qui ont directement l'adresse directe, vous envoyez un mail direct, vous faites pas chier. Et vous répondez à la question, et là, cette semaine, petite originalité, il y a juste à répondre.
Bah oui, on va pas vous donner.
Pas besoin de poser de questions. On va vous donner jusqu'à, allez, jusqu'à samedi prochain? Jusqu'à vendredi prochain?
Ouais.
On vous laisse une petite dizaine de jours pour répondre. De toute façon, on remettra la date dans l'article de l'émission. Ouais. Donc voilà, vous envoyez juste la réponse, et nous ferons un peu, là, cette fois-ci, on choisira pas la question, on fera un petit tirage au sort. Et on fera le tirage au sort général avec tous les tickets gagnés toute l'année.
Donc c'est le gain de la dernière place, voilà, du dernier ticket.
C'est votre dernière chance. Si vous voulez être tiré au sort à la fin de saison, c'est maintenant ou jamais. D'ailleurs, c'est maintenant. Allez-y, mettez pause, répondez tout de suite à cette question. Pourquoi le parc à thème de Ferrari a-t-il ouvert officiellement ses portes une semaine plus tard que prévu?
Alors, pour vous aider, la réponse est...
Bip. Oh, Bilo, t'as tout gâché, là. Je vais devoir mettre un bip derrière.
T'as même mis... Mais pourquoi vous faites pas maintenant le tirage au sort? Je comprends pas.
Parce qu'il faut
laisser le temps aux gens de répondre.
Voilà.
Pas besoin.
Bah oui. Puisqu'on vient de poser une question sur Abu Dhabi.
Bah oui, mais c'est moi qui gagne Abu Dhabi.
Il y a un décalage à chaque fois.
Bah oui, il y a un décalage. Le temps que vous répondiez. La question du Brésil, tu la gagnes, mais on ne donne la réponse que à Abu Dhabi.
Le gars qui a gagné au Bahreïn, il a eu la réponse que la semaine d'après.
En fait, les auditeurs, ils sont aussi paumés que nous dans le jeu.
Oui. Pourquoi on se fait chier à faire des règles compliquées à chaque fois?
Parce qu'il faut dire que Shinji m'a dit, mais pourquoi tu poses la dernière émission, hein, j'ai coupé, mais pourquoi tu poses une question sur Abu Dhabi? Ben, je fais, écoute, faut bien une question sur Abu Dhabi puisqu'on pose une question sur le Brésil.
Oui, parce que justement, j'étais comme toi dans l'idée, mais ça rien qu'il pose une question puisqu'après, voilà.
C'est tout est étudié. Faites-moi confiance.
Oui.
Bon, en règle générale, on finit sur les pronos de la prochaine course. Ça va peut-être être un peu compliqué de faire des pronos sur Bahreïn. Donc sur ce, avant de nous quitter, parce que c'est la fin de la saison, c'est l'hiver.
Ouais,
hein, on part entre guillemets en vacances.
Ça va être triste.
Mais le SAV, ça continue quand même un peu.
Oui, hein, un tout petit peu.
Alors quel est le programme de ces prochains mois?
Oh, bah, de ces prochains mois, j'ai dit d'abord on va aller en vacances. Hein.
Ouais.
On va aller, je sais pas, à Fécamp, à Dieppe. En quoi par ce moment
à des villes.
Ouais, par ce temps c'est pas terrible.
Ouais.
Donc bien évidemment c'est la dernière mission, donc on se reverra pas avant le mois de mars de l'année prochaine.
Oui.
Mais on peut déjà vous donner quelques rendez-vous pour l'intersaison. D'abord sur le site, comme toujours. On maintiendra, on va pas hiberner, même si on est des gros ours, enfin, même si je suis un gros ours, on va pas hiberner. Le site va continuer de vivre, et on espère que vous le ferez vivre avec nous. Voilà. On va se donner rendez-vous dans une dizaine de jours déjà minimum pour avoir le résultat du concours top opposition de l'année.
Oui.
Et puis on va bien évidemment vous donner rendez-vous pareil dans quelques semaines pour les SAV d'or.
Mmh. Alors, on vous l'a dit, hein, on a conseillé de travailler dessus, voilà, ça avance bien. Dessus.
On vous proposera bientôt les différentes catégories que nous allons mettre en jeu dans le SAV d'or. Vous pourrez voter, vous aurez quelques semaines pour ça. Et ensuite on fera pas une émission, mais on fera plusieurs petites émissions. Qu'on vous dévoilera à raison d'une rubrique par jour ou tous les deux jours en fin d'année pour colorer en beauté cette année 2010 qui fut ô combien exceptionnelle. Et après, on partira en vacances. tant que 2010 n'est pas fini, nous ne serons pas en vacances.
Oui. Alors juste, je voulais vous demander en cette fin de saison, alors est-ce que vous avez une envie, un souhait pour l'an prochain? Moi, je vais en dire un, c'est très con. Je sais que même statistiquement, c'est pas possible. C'est tout simplement que les top teams de cette année restent des top teams. Et que si possible, Mercedes et Renault, raccrochent le wagon.
Ouais.
Pour qu'on ait finalement un truc encore plus dingue que 2010.
C'est pas impossible, hein.
C'est pas impossible.
Mais disons que, statistiquement, j'ai envie de dire, sur le gros, sur le groupe de 6, hein, que je mets, c'est quasiment presque assuré qu'une des équipes va foirer sa voiture. C'est juste pour ça.
C'est sympa.
Voilà.
C'est pas Ferrari.
Voilà, c'était ça. Et vous?
Bah, je veux Vettel chez Ferrari dès 2011.
Et pourquoi pas?
C'est mon rêve, c'est mon souhait. Père Noël, rapporte-moi ça.
Et toi, Bilo?
Moi, je veux juste gagner le concours top position, en fait.
attends, t'as déjà gagné le Fantasy F1, t'es gourmand, toi.
Je veux tout casser, moi.
Mais en plus, c'est le même cadeau.
D'accord.
Non, on a prévu le coup.
Non, alors, oui. Alors, j'aimerais que Massa se batte pour le titre.
Ouais.
Quoi? C'est bon.
C'est aussi réaliste que Vettel chez Ferrari de 2011.
C'est pas grave, on est là pour rêver.
Non, mais c'est ça qui est bien.
Sur ce, on vous remercie, tous les auditeurs, hein, pour cette très belle année.
Oui.
Merci Dino.
Merci Shinji. Merci Dino. On te remercie. Tu représentes les auditeurs pendant cette émission.
Voilà. Merci à toi.
Je te remercie fortement, toi et tous tes camarades auditeurs.
Ben, au nom des auditeurs, nous vous remercions pour cette belle saison et pour cette bonne humeur que vous avez instaurée dans vos émissions.
Merci. Voilà. Enfin, bonne humeur. Shinji, bonne humeur. Tu vas en baver en 2011. Là, j'étais encore gentil cette année. L'année prochaine, je vais être débridé, là.
Je te laisse pas faire Shinji.
Je suis sur l'écran, là.
Je vais demander à ce qu'on crée un groupe pour Shinji.
C'est pas grave, je le piraterai. Tu viendrais tout le temps parler dessus.
Allez. Sur ce, comme d'habitude.
Non.
Bonjour, bonsoir. Non, oui, parce qu'il dit non, vous allez comprendre pourquoi.
Non.
Bonjour, bonsoir, hein. En fonction de l'heure où vous nous écoutez, hein. Et surtout, bah, je vais pas dire bonne course, parce que c'est dans longtemps. Alors, bonne intersaison.
Oui, bonne intersaison.
Voilà.
Et exceptionnellement, nous ne finirons pas sur un, un dicton.
Ce qu'il n'a pas préparé.
Shinji,
voilà.
Shinji, après, à la fin de l'émission, il dit bonjour.
Oui. Mais non, mais c'est Shinji.
Mais non, mais, le gars, il nous écoute, il est 8h du mat. Je vais pas lui dire bonsoir.
Ah, on pourrait faire, si tu veux, Shinji, un final digne du SAV. Chers auditeurs.
N'oubliez pas, attention aux poteaux.